Fraîcheur et la vie. À ta santé, à tes amours, à ta folie. Je vais tenir mes rêves au chaud et le champagne au froid.
Champagne au froid.
Car je t'aime. Et n'oublie pas l'anniversaire de Nicolas.
La grand-messe du rock avec Jackie Bob. Tout le week-end au FM 93.
Ça me parle.
Ça me parle de ce qui m'intéresse, ce qui se passe dans ma ville.
93.
Ça me parle avec Sylvain Bouchard, Doc Mailloux, José Arsenault, Myriam Segal, Luc Lavoie, Éric Duhem, Dan Pou, Paul-Raphaël Charon, Marc Boilard.
93.
C'est mes enjeux, mes intérêts, ma vie. Ça vient me chercher, ça m'interpelle. Ça me parle.
FM 93. Ça me parle.
Le Québec se lève, présenté par les orthésistes du pied de Québec. Vos pieds vous font souffrir? C'est simple, rapide, efficace et sans frais. 375 rue Soumande ou piedquebec.com.
La planète n'arrête pas de tourner parce que c'est le week-end. Restez informés en écoutant Que Québec se lève avec Paul-Raphaël Charon et Marc Boilard. Jusqu'à 10h, vous écoutez Que Québec se lève.
Que Québec se lève au FM 93.
FM 93, ça me parle.
Une minute. Oui, bonjour mesdames, messieurs, nous sommes samedi le 12 janvier 2019. Tranquillement, pas vite, mon cœur recommence à battre. Il y a des petites surprises comme ça, hein? On se dit, c'est le mois de janvier, il fait à peu près moins 3000, on arrive au travail, la mine un peu basse, et là, hop, il y a toujours un petit quelque chose pour nous remettre, nous asseoir sur le bord de notre siège. Hein?
Exact, pour s'assurer que t'es réveillé.
Isabelle Lacasse, bonjour.
Bonjour.
Ce n'est pas Marc Boilard que vous entendrez ce matin avec moi.
Non, j'ai des cheveux, moi.
C'est Isabelle Lacasse, dit Lacasse-Noisette.
Exact. Selon M. Boilard.
Oui. Qui est en train de se faire dorer à Couen sur les chaudes plages de la Floride pendant que nous, on se les gèle.
Oui.
Ici à Québec.
C'est le cas de dire.
Avant de faire le tour de la question, bien sûr, parce qu'on va le faire. Quelques nouvelles avec notre ami Kevin Dupont.
Ouais, ben un triste incident hier, Paul, à Ottawa. Il y a 3 personnes qui ont été tuées et 23 autres qui ont été blessées lorsqu'un autobus à Impérial à destination de Canada a heurté un abribus. L'accident s'est produit vers 15h50 en pleine heure de pointe à la gare de Westboro en banlieue ouest de la capitale. Deux des victimes étaient dans l'autobus, l'autre était dans l'abribus. Hier en soirée, le centre de traumatologie de l'hôpital d'Ottawa disait avoir reçu 9 patients dans un état grave. La police enquête sur la cause de l'accident. D'ailleurs, la chauffeuse d'autobus a été arrêté et interrogé par les enquêteurs. Il a été relâché en fin de soirée et ne fait face à aucune accusation pour l'instant. Une automobiliste de 26 ans a été arrêtée à la suite d'un délit de fuite survenu hier en Beauce dans la région de Chaudière-Appalaches. L'événement s'est produit à l'intersection de la 25e rue et de la 30e avenue à Saint-Georges-de-Beauce. Selon la SQ, la jeune femme est au volant d'un camion qui aurait percuté une automobile, blessant le conducteur de la voiture grièvement. Un des passagers du camion a subi des blessures mineures. Et un multirécidiviste en matière de violence conjugale veut punir Facebook qui refuse de lui transmettre des données. L'avocat de Steve Genet a plaidé hier matin au Palais de justice de Québec dans le but que le géant du web soit condamné à payer 50 000 $ pour outrage au tribunal après avoir omis de se présenter en cour hier matin. Facebook ne répond pas à une ordonnance du tribunal qui l'oblige à fournir les commentaires, partages et réactions à une publication faite sur le réseau social par un dénonciateur.
C'est un froid glacial ce matin à Québec. Vraiment, là, il fait pas froid, il fait frette aujourd'hui. Avec le refroidissement éolien, là, on est déjà presque à moins 30, là, quelque chose comme ça, en ce moment. Le maximum qu'on va atteindre n'est que de moins 15. Il va venter. La bonne nouvelle à travers tout ça, c'est que c'est un ciel variable. J'aurais aimé vous dire plein soleil, mais c'est du soleil avec des nuages. La nuit prochaine, c'est guère mieux. Moins 20 le minimum au courant de la nuit prochaine. Passage nuageux. Demain, c'est plein soleil, mais c'est aussi très froid avec un max de moins 14. Et le temps froid se poursuit jusqu'à la prochaine bordée de neige, finalement. C'est le mois de janvier, on l'oublie pas. Puis ça, c'est mercredi prochain. Sinon, c'est des moins 10, moins 13 là, pour le début de la semaine. Donc, présentement, sans le vent, c'est moins 19. Avec le vent, moins 29 à Québec.
Hockey Junior, les Remparts ont eu le dessus 2-1 face au Tigre de Victoriaville. Alexei Sergeev et Pierre-Olivier Lacombe ont marqué dans la victoire. Le gardien Kyle Jessamyn a stoppé 27 des 28 tirs dirigés vers lui. Dans la Ligue nationale de hockey, le Canadien de Montréal va tenter ce soir de renouer avec la victoire lorsqu'il accueillera l'Avalanche du Colorado. Le tricolore qui a connu des matchs difficiles cette semaine contre le Wild du Minnesota et les Blues de Saint-Louis. Et au baseball, le receveur québécois Russell Martin a été échangé des Blue Jays de Toronto aux Dodgers de Los Angeles. L'athlète de 35 ans avait commencé sa carrière dans les ligues majeures avec les Dodgers en 2006.
J'avais déjà, juste pas un stress, une petite inquiétude, mais je me disais, OK, bon, nouvelle co-animatrice pour le week-end, c'est trippant, hein? Isabelle Lacasse, on se rencontre un peu, super fine, on a bien du plaisir. Mais ça a été complètement éclipsé par ce moment, mais quelle horreur, quand tu ouvres le micro, tu parles. T'entends rien, puis tu fais « Ah oh non, encore. Ah, oh, pas encore. »
On a
oh
eu
non.
chaud.
À moins 30, on a eu chaud,
oui,
nous autres.
Oui, exact.
Malgré tout. Bienvenue pour ce week-end un peu spécial, Isabelle.
Ben, ça me fait plaisir. Merci de m'accueillir dans votre studio, les hommes.
C'est un grand plaisir. Vous reconnaissez peut-être la voix d'Isabelle, parce que c'est pas la première fois que tu fais de la radio.
Non, oui, j'en ai fait pendant 15 ans de temps, mais dans une autre radio, oui, oui.
À Montréal.
À Montréal.
Maintenant, tu fais de la télé aussi, un peu à gauche, à droite.
Oui, ben je suis tous les jours à l'émission Entrée principale à Radio-Canada depuis 6 ans.
Et là, qu'est-ce que tu fais à Québec, donc, ou donc?
Ben, c'est parce que...
Es-tu venu juste pour nous?
Ben non.
OK.
Je pensais sans le dire, ouais, je venais faire du tourisme de même, puis j'ai vu Paul, fait que je l'ai intercepté comme ça.
Non, mais Québec est ma ville depuis 7 ans quand même, parce que j'ai, pour la petite histoire, mais c'est l'amour qui m'a amené à Québec. Oh. Hein, c'est cute.
Fait que là, tu fais la navette Québec-Montréal.
Oui, je partage ma vie. Je dis souvent que ma vie de famille est à Québec et pour l'instant, ma vie de travail est pas mal à Montréal, mais je connais beaucoup les sorties sur la 40 et sur la 20 presque par cœur.
C'est ça que j'allais dire, je pensais que tu t'en allais dire, je partage, mais avec l'autoroute directement.
Ah oh oui, pas mal, okay. Mais c'est rendu que des fois, je dis à mon chum, mais je suis au kilomètre, lui, il dit, moi, je le sais pas par cœur, les sorties, mais moi, je les connais.
Bon, ouais, tu sais, quand ton chum te dit, coudonc, Isabelle, ouvre les yeux, elle dit, non, pas besoin, je connais la route.
Exact.
Il y a un auditeur qui a toujours le juste mot, qui dit, est-ce que c'est-tu le fret qui a fait geler votre thème?
c'est possible.
C'est un peu l'impression qu'on a eue, mais écoute, je pensais que je savais qu'il allait faire fret, je fais un peu une fixation sur la météo, là. Et sur d'autres affaires, d'ailleurs, j'ai beaucoup de fixations,
ah,
Isabelle.
Oui, d'accord.
Ça, tu vas apprendre ça au courant du week-end. Donc, sur la météo, là, je me disais, bon, ben, il y a au moins un avantage à ce que ces temps-ci, mon char surchauffe. Parce que, ça, c'est une de mes fixations aussi, mon vieux bazou, mon auto. Chauffe un Camry 96.
D'accord.
Donc, une vieille voiture.
Ah, je pensais que c'était un auto de 1942.
Non, mais attends, j'ai choisi le moment pour vous en parler.
Okay.
C'est-à-dire samedi matin à 7h, parce que je le sais qu'il n'y a aucun garage qui est ouvert. Donc, ça se peut pas, ou presque pas, qu'il y ait des radios ouvertes dans des garages en ce moment avec des gars qui connaissent ça, qui travaillent. Ouais. Parce que, écoute, ils m'appelleraient pour me traiter de niaiseux, là. Parce que mon auto surchauffe depuis un petit bout de temps, pas vrai. Fait que là, je trouve ça inquiétant. Hey, à un moment donné, je suis sur Henri IV vers le sud, mais je suis encore sur la rive nord. Mais je dépasse là la dernière sortie. Là, mm-hmm. S'il y a un pépin, je peux plus sortir. Puis là, la jauge de température du moteur commence à monter. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé. Là,
oui,
mais c'est
stress.
Inquiétant, là. C'est affreux comme inquiétude, là. Là, ça commence à monter. Je me dis, ça va arrêter. Ça arrête pas. Puis là, ça commence à aller frôler le rouge, là. Hey. Oh oui, oui.
Okay,
non, je suis ultra inquiet, là.
Mais ça, faut-tu que tu mettes ton chauffage dans le tapis?
Alors, mon chauffage fonctionnait. Moi, mon réflexe a été de fermer le chauffage puis de baisser les fenêtres. C'est pour ça que je te dis que j'ai attendu qu'il n'y ait pas de garage qui nous écoute pour dire des choses, parce que les gars d'un garage doivent se taper à la tête d'un mur d'entendre ça, là.
Est-ce qu'il y avait de la fumée qui sortait du capot?
Non. Et mais ça a l'air qu'il y a des gens qui m'ont écrit pour dire, parce que je n'ai parlé aussi de cette anecdote-là hier dans le retour, puis des gens qui viennent pour dire t'es niaiseux, il faut que tu partes le chauffage.
Oui.
Ça a l'air que quand ton moteur chauffe, tu pars le chauffage, ça fait sortir l'air chaud, en tout cas.
Ah, il baisse ses fenêtres.
Ce serait ça le truc. Écoute, je te jure que j'ai baissé les fenêtres. Mais pourquoi j'ai fait ça? C'est que quand je l'ai fait, la jauge a commencé à descendre. Fait que je me suis dit, bravo champion de trouver la solution. Ça fait que là, puis je fais genre rarement des longues distances, sauf que maintenant, je monte des côtes. Là, j'ai même plus besoin d'aller sur l'autoroute. Je monte des côtes, ça surchauffe. Fait que là, je baisse les fenêtres.
Mais tu sais, aller au garage peut être une option aussi. Hein?
Alors, je suis allé au garage.
Ah, j'avais,
t'es allé. Oui. Okay. Mon char surchauffait en attendant mon rendez-vous au garage parce qu'il y avait une fuite d'huile sur mon auto.
Ah bon?
Puis là, le garagiste m'avait prévenu. Il m'avait dit ça va te coûter entre 5 et 800 $. Mon auto vaut comme 1000 $ à peu près, là, tu sais, ça fait que c'est vraiment loin d'être un bon investissement. Mais je me dis, non, je calcule, puis je me dis, ouais, allez, mais c'est mieux qu'un paiement de char, puis là, je me convainc que je suis pas si niaiseux que ça. Au garage cette semaine, fait réparer la fuite d'huile, puis là, je me dis, bah, l'huile à moteur qui chauffe, l'arbre est dans ses feuilles, Marie, là, tu comprends? Ça fait que je me dis, mon problème va être réglé. Non, il est pas réglé. Ça m'a coûté 700$ de garage et mon char surchauffe encore. Alors devinez quoi, j'ai un autre rendez-vous la semaine prochaine là, pour une affaire de Prestone, de thermostat, puis de vidange de Prestone. Puis...
Ça va peut-être te coûter entre 500 et
700 $. Non, ça c'est inacceptable. Non, mais écoute, si c'est ça, là, c'est les pièces d'auto, puis je m'en débarrasse.
Ouais, mais le problème, Paul, c'est peut-être parce que t'as pas ouvert les fenêtres en arrière.
Ouais, mais le problème, c'est que les fenêtres d'en arrière, je te mens pas, il ouvre pas.
Hey, ça va bien, ton affaire?
Hey, ça y est, on peut-tu partir comme une espèce de GoFundMe pour aider Paul à se trouver une nouvelle voiture?
Non, je refuse. J'ai pas besoin de charité.
Et là, ce matin, ta voiture, au froid qu'il fait, elle a parti.
Oui, la batterie étrangement, bien. C'est quelque chose qui fonctionne vraiment bien.
Bon. Ouais, le moteur est plus bon, mais la batterie est bien.
C'est ça, exact. Ça fait que j'avais bon espoir que mon char ait le temps de surchauffer entre Saint-Sauveur puis Montcalm. Puis finalement, non, il était encore bien frais quand je suis arrivé. Ce matin, c'est vraiment...
Ouais.
C'est un froid glacial à Québec.
Hey, en plus, c'était la première fois ce matin que je mettais une espèce de cagoule. T'sais, moi, je viens à pied à la station.
Oui.
Puis c'est la première fois. Ce matin, je suis comme sorti. J'ai fait, oups, là, je pense je vais mettre une couche de plus. Honnêtement, pour tous ceux qui vont braver le froid aujourd'hui, là, habillez-vous chaudement parce que c'est vraiment très frette.
Mais il y en a beaucoup qui vont braver le froid. En tout cas, nous, chez nous, c'est le début des cours de ski et c'est la date de tous ces groupes-là d'enfants. Alors, je me posais la question, là, comment je vais habiller la petite aujourd'hui? Puis j'espère qu'ils vont rentrer quelques fois parce qu'il va faire froid. Vraiment.
Ça, c'est le genre.
Quel âge, par curiosité?
5 ans.
Des petits pieds de rien.
Ben, j'allais dire, c'est le genre de moment où le visage, t'as comme des glaçons sur le bord du nez, puis pour la barbe, là, Paul, toi, tu aurais comme une espèce de gros amas de glace sur le menton.
Moi, j'ai décidé des stalactites.
Ouais, c'est ça.
Fidèle à nos bonnes habitudes, on va se plonger dans les principaux quotidiens. Il y a toujours des nouvelles qui retiennent notre attention plus que d'autres. J'ai envie que tu commences, Isabelle, parce que tu m'as dit, je vais te parler de poubelle. Et c'est une autre de mes fixations, ça.
Ah oui? Oui. Ben, écoute, on en parle aujourd'hui, ce matin, dans le soleil, parce que on titre vers la fin de la saga des poubelles. Alors, des poubelles un peu partout dans la ville de Québec. Et je trouve que chaque grande ville au monde a toujours un dossier de poubelles. Je pense que l'être humain, à la base, est pas bon avec ses poubelles. Parce que visiblement, on le sait, à Québec, il y a eu des projets pilotes. Alors, une portion recyclage, une portion déchets. Les gens jetaient ça un peu de façon aléatoire. Je vais dire ça comme ça. Parce qu'on dirait que parce que c'est pas chez nous, on se dit, on s'en fout. On va mettre ça, même ça va se mêler dans le fond de toute manière de la poubelle, ils le recycleront pas.
C'est les genres de poubelles compartimentées, publiques, là. Même dans certaines institutions, moi je me souviens, à l'université, il y avait comme des grands. C'était la Cadillac de la poubelle.
Absolument.
Là, t'as les produits, les poubelles, là, qui se recyclent pas. Mais t'as aussi différentes catégories de recyclage. T'as le carton, t'as plastique. Là, t'as comme ton petit verre en carton plastifié. Pis t'es comme, oh, carton plastique, carton plastique, carton plastique. Là, tu saignes un petit peu du nez, là, avant de jeter ta vidange. Puis finalement, ben, t'ajoutes des fois à mauvaise place. C'est ça qui arrivait. Les gens jetaient pas tout le temps les poubelles.
Oui, puis je pense comme c'est quelque chose que, tu sais, on passe vite sur le trottoir, par exemple. On faisait pas l'effort, je pense. Là,
ça peut arriver,
ça peut arriver encore à ce jour. Et là, on pense avoir trouvé la solution, la bonne poubelle qui va faire en sorte qu'on va être capable de prendre les déchets et les jeter et prendre ce qui est dans la portion recyclage, par exemple, et les recycler. Alors, on verra si ça va fonctionner.
Il y avait aussi tout un enjeu qui était... les intempéries, parce que c'est des poubelles qui sont comme un peu partout dans la ville, là, les poubelles dehors. Puis quand il pleut, quand il neige, ben, ça s'accumulait dans les poubelles, forcément. C'est-à-dire que c'est un peu normal.
Ouais.
Alors là, moi, écoute, le mandat, c'était... faut trouver absolument un moyen que les intempéries arrêtent de s'accumuler dans les poubelles. D'ailleurs, il y avait une formulation qui m'a fait rire dans le journal ce matin.
C'est laquelle?
Écoute, j'essaie de retrouver la phrase exacte parce que j'ai vraiment trouvé ça bon, mais c'était genre les fonctionnaires se sont remis au travail. Ils se sont-tu remis au travail?
Et pense
aujourd'hui avoir réussi l'impossible. Un nouveau modèle de duo de corbeille de rue. Dans mon souvenir, c'était écrit, peut-être que je l'ai romancé dans mon esprit, mais c'était genre, les fonctionnaires se sont retroussés les manches. Ne reculant devant rien, n'ayant pas froid aux yeux, les fonctionnaires ont baissé la tête, se sont remis sur la table à dessin.
Incroyable. Mais pourquoi c'est une fixation pour toi?
Ah, ben parce que moi, je viens de Lévis. À Lévis, il y a du compost.
Oui.
Mais pas à Québec.
Pourquoi?
En fait, c'est pas vrai. Il y a moyen de faire du compost à Québec. Oui. Mais à Lévis, c'est la ville qui s'en occupe. Il y a des bacs spécifiquement pour le compost. Le gros bac dehors, le petit bac que tu mets en dessous de ton évier ou peu importe dans la maison sur le comptoir avec les sacs. Puis la ville a pris en charge le compost à Lévis. Mais pas à Québec.
Mm.
Parce qu'à Québec, il y a dans les boîtes un projet de centre de biométhanisation.
Ouais.
Puis je pense que c'est pour 2022 de mémoire, là, cette patente-là. Mais bref. Pour revaloriser, ça c'est le terme qu'ils utilisent, là c'est pas le mien, mais pour revaloriser ce type de vidange-là.
Mm-hmm.
Mais, comme mon foyer, pour ne pas dire ma copine, mon foyer est un foyer dans lequel, mesdames, messieurs, toutes, la conscience zéro déchet fait fureur.
Extraordinaire, je m'entendrais bien avec elle.
Oui, très bien. Alors, moi, écoute, je suis un employé de cette...
Ah oui,
de,
OK.
Oui, moi, je suis...
De cette coop.
Oui, exact, je suis un employé de la coop familiale. Et puis, donc, ma blonde a trouvé un endroit où on peut faire du compost là en basse ville, où il y a comme des bacs à compost communautaires, si tu veux. Et tout ça fait en sorte qu'il faut trouver un moyen de prendre notre compost, de l'accumuler jusqu'à un certain point, puis d'aller le porter à l'autre bout de l'arrondissement pour le mettre dans les bacs communautaires. Sauf que du compost... ça sent l'enfer, ça pue.
Oui.
Tu sais, je veux dire, c'est des coquilles d'œufs, c'est puis des pots de bananes, c'est vraiment épouvantable.
Mais sors-tu ton compost à l'extérieur, Paul?
Ben alors, non. Parce que lui, il sait ce que je fais avec mon compost. Et les auditeurs aussi, les auditeurs qui écoutent souvent, savent ce que je fais avec mon compost.
Si je pouvais écrire un film sur la vie de Paul Raphaël, je pense que je le ferais. Je suis en train de me faire un script dans ma tête, un scénario.
Ça s'appellerait probablement... Paul, l'homme qui congèle ses vidanges.
Ah, okay.
Parce que le gros plat de plastique qui nous sert de plat de compost, de bac à compost, finalement, prend de la place dans le congélateur parce que quand c'est congelé, ça pue moins.
Bien sûr.
Alors, je congèle mes vidanges.
D'accord.
Et ça, pour moi, ça a été une étape importante, ça.
C'est dommage qu'on n'ait pas le numéro de téléphone de Claude Meunier parce que tu pourrais aller le rencontrer, pourrais faire la prise 26 de la petite vie avec...
Oui.
Du compost congelé.
Oui, probablement que le personnage de Papa serait bien impressionné par le fait que...
Il adorerait ça.
Que je congèle mes vidanges.
Au moins, le reste de ta famille t'a accepté, c'est ça l'important. Tes amis t'ont pas encore renié, ça va?
Ah, ça, tu le sais pas.
Okay.
Non, mais quand l'émission finit, tu le sais pas si j'ai encore des amis. c'est loin d'être convaincu, ça. Je veux vous parler d'une histoire. Écoute, c'est pas une histoire de milliards de dollars, c'est pas une histoire de gens qui meurent, mais j'en revenais pas que en 2019, il y a encore des endroits au Québec où on se retrouve comme à Sainte-Adèle d'un pays d'en haut là, tu sais. C'est à Saint-Bernard-de-Beauce où il y a des gens qui ont appris là qu'il allait encore passer un an sans eau potable.
Eh oui, j'ai lu ça ce matin.
Mais c'est pas parce qu'ils ont pas de réseau d'aqueduc ou de traitement d'eau. C'est que pour une raison obscure, on comprend pas pourquoi, en juillet dernier, ils ont déclaré qu'il y avait eu plus de 300 cas de gens qui ont été malades après avoir consommé de l'eau. c'est pas mal tout ce qu'on sait. C'est-à-dire, là, on est dans un village où il y a 800 personnes qui sont desservies par le système d'aqueduc, ouais. Là, ouais. Donc, 800 personnes. Et de ces 800 personnes-là, il y a exactement 317 cas de gastro-entérite. Mais on est pas mal sûr que c'est à cause de l'eau parce que depuis qu'il y a un avis d'ébullition, les gens ont pu la gastro. Mais, on sait rien d'autre. Ouais, on le sait pas si c'est parce que quelqu'un qui déverse des produits chimiques. On sait pas si c'est parce que l'usine de traitement qui est là fonctionne pas ou les techniques de traitement d'eau fonctionnent pas. On sait rien. Alors là, moi, je regardais ça puis, ben là, j'ai pensé à plusieurs affaires. D'abord, je me suis dit, bon, là, le Journal de Québec en parle ce matin, en page 3. Et heureusement, mais là, c'est quand même 317 personnes sur 800, là.
C'est beaucoup.
C'est
là.
Énorme.
Oh,
là.
Oui, c'est énorme.
Mais s'il y avait eu, mettons, 45 cas, ça aurait pas été vraiment moins grave, à mon avis. Ça veut dire qu'il y a quand même un problème important. Alors, ma réflexion, c'était d'abord, c'est peut-être un défaut de journaliste, là, mais je me suis dit, ça rappelle un peu l'importance des médias régionaux qui sont en déclin partout. Là, dire, les hebdos régionaux ferment parce qu'il n'y a pas d'argent à faire avec ça. Le papier coûte une fortune. Fait. À force de couper tous les postes de journalistes parce que y a pas de revenus publicitaires, les compagnies, grosso modo, là, j'en refais pas l'histoire, mais les compagnies achètent beaucoup plus de pubs maintenant sur Internet.
Oui.
C'est les hebdos régionaux qui sont les premiers à écoper de ça. Mais les hebdos régionaux, là, c'est des affaires comme ça qui traitent.
C'est clair.
Nous, on en entend parler aujourd'hui, le 12 janvier, parce qu'il y a 300 cas sur 800 puis que c'est épouvantable. Ça date de juillet passé, ça, là.
Puis, ce qui est inquiétant en lisant l'article, c'est qu'on sent qu'il n'y a pas tant de solutions présentement. On y va à tâtons, on cherche, on essaie de comprendre. Mais ces gens-là, on parle d'un an, mais est-ce qu'on leur souhaite que ça dure pas plus longtemps? Déjà, un an, c'est énorme, là.
Ouais, absolument.
Mais je trouve que c'est effectivement nébuleux. En tout cas, selon l'article, on n'a pas beaucoup de solutions, là, pour ces gens-là.
Ben non, puis il y a eu un avis d'ébullition qui a été émis quand ils se sont rendus compte à la santé publique qu'il y avait eu 317 cas de gastro patente. Mais à un moment donné, l'avis d'ébullition a été levé. Puis là, la municipalité dit « Hey, un instant, là, y a rien qui a changé, vous avez bien beau. » En fait, c'est qu'ils ont fait plus de tests sur l'eau qu'ils en faisaient avant. Mais à modeler le volume de tests, c'est bien beau, là, mais c'est pas en soi une solution. C'est correct, il faut étudier comme il faut ce qui se passe, faut comprendre les causes du problème, mais comprendre les causes du problème, ça fait pas d'emblée qu'il y a une solution qui est imposée, qui est implantée.
Ouais, ouais.
Alors là, ces gens-là se retrouvent un peu devant le néant. Ça fait que, bon, pour l'instant, c'est encore faire bouillir de l'eau. Puis, je suis pas nutritionniste ni médecin, là, mais faire boire de l'eau qu'on a fait bouillir, là, de l'eau, juste de l'eau stagnante dans la tête, mais c'est pas ça, là, mais de l'eau distillée, c'est pas mauvais à court terme. Mais techniquement, il faudrait pas boire que de l'eau distillée. Parce que ça fait qu'il n'y a plus de minéraux dedans, il n'y a plus rien.
Alors, ils doivent acheter tellement en plus d'eau embouteillée.
Ben, ils n'ont pas le choix.
Qu'est-ce
que tu veux faire? C'est sûr que tu achètes de l'eau. À un moment donné, c'est bien beau les vidanges puis la planète.
Ouais,
mais
ouais.
Quand tu as besoin d'eau, tu as besoin d'eau. Là.
Absolument.
Mais c'est quand même hallucinant. Là. T'sais, je veux dire, c'est à Saint-Bernard-de-Beauce. Là, c'est pas.
Non, c'est pas si loin. Là.
J'aime beaucoup Lebel sur Quévillon. Mais Lebel sur Quévillon, là, c'était à 8 h d'ici, à 2 h à l'ouest de Chibougamau. C'est loin en tipère, là.
Oui, mais même si c'est loin, ils ont le droit d'avoir de l'eau potable.
Oui, non, mais en plus, je pense à ça parce que j'ai un ami qui travaille là, à Lebel-sur-Quévillon, puis il revient à Québec, écoute, presque à toutes les semaines. Là.
Ah oui?
Mais au début, il apportait de l'eau parce qu'il travaillait dans une usine, puis ils ont construit des appartements pour le monde qui travaille là, puis il n'y avait pas encore l'eau courante dans l'appartement patente. Fait que là, il apportait de l'eau. Je disais, ah, c'est hallucinant, mais il disait, non, ça va se régler, inquiète-toi pas. Les gens de Saint-Bernard-de-Beauce, eux autres, là, ils viennent de se faire dire, inquiétez-vous pas, la gang. Juste un an de plus à faire bouillir votre eau.
C'est énorme.
Ils sont pas en camping, là. Mm. Ils sont à la maison.
Ouais.
Tu sais, ça arrive des fois qu'il y a des avis d'ébullition, puis on se dit, mon Dieu, faire la vaisselle, ça va être un chiard. Imagine.
Ouais. Et moi, dans ma paranoïa, un petit peu de tous les jours, parce que j'ai ça aussi, tu vas apprendre à connaître ça, mais de juste prendre sa douche aussi, tu dois être inquiet d'avaler de l'eau, tu sais, tout ça, là.
Surtout que c'est des cas de gastro-entérite. Fait que, j'imagine que ça prend pas nécessairement 3 tasses d'eau pour être infecté, j'imagine. Si tu veux. Au 25226, un auditeur nous dit, pas besoin d'aller bien loin. Dans Portneuf, il y a encore des centaines de personnes qui ont pas d'eau, qui ont encore des puits creusés ou des puits artésiens. Mais je pense que des gens à Saint-Bernard-de-Beauce, en ce moment, qui seraient bien contents d'avoir des puits artésiens, des puits creusés. À moins que ce soit la nappe phréatique qui soit infectée, je sais pas trop. Je vous rappelle qu'on connaît pas la cause de ces infections-là à la gastro. Mais là, c'est parce que c'est le réseau de distribution publique qui semble être le problème. Mmh. Le maire dit, ben là, on attend qu'il nous... on aimerait ça qu'il nous installe une usine de traitement au chlore, tu sais, parce que c'est comme ça que ça fonctionne maintenant. Mais là, c'est pas... C'est, le problème, c'est pas qu'il y a des gens qui ont des puits puis d'autres qui sont sur l'aqueduc, là. C'est que l'aqueduc infeste les gens à gastro.
Exact.
Écoute, c'est pas comme si... t'as l'impression... En fait, je me suis dit, soit c'est l'usine de traitement qui marche pas, ou soit... Il y a un délinquant quelque part qui respecte pas les règlements, qui déverse quelque chose, de, je sais pas moi, de, du purin qui se déverse dans la... Parce que ça doit être des...
Mais on l'aurait su, il me semble, jusqu'à...
Probable.
Jusqu'à présent, mais en tout cas, bref.
Écoute, ça donne l'impression que qu'on est à Sainte-Adèle, d'un pays d'en haut, puis que là, Bidou Lala, j'ai pogné à gastro, parce que Séraphin a mis de quoi dans l'eau, puis que la belle Donalda va partir avec Alexis. En tout cas, qui veille sur notre assiette pendant qu'on peut pas boire de l'eau.
Ben oui, hey, c'est vraiment un dossier intéressant. Trois pages complètes dans Le Devoir ce matin où on parle du dossier de l'inspection des aliments. Vous avez été nombreux à ne pas acheter de la laitue romaine. On n'en a pas beaucoup acheté dans les derniers mois parce que...
J'ai vu sur les réseaux sociaux qu'il y a des gens qui disaient « Ah, il y a eu des rappels sur la laitue romaine. J'ai pas vu de rappel sur le bacon encore. »
Oui, c'est ça.
Ouais, ça, c'est chien pour les résolutions du Nouvel An, en passant.
Oui, en passant. Et donc, bon, avec cette éclosion d'infection à la bactérie E. coli. Mais là, on fait un dossier pour nous parler de, avec ce qui se passe aux États-Unis, le shutdown, etc.
Oui.
Donc, il y a des gens qui ne sont pas payés. Il y a des gens qui décident, parce que je ne suis pas payé, je ne vais pas rentrer travailler.
Oui.
Donc, il y a des choses graves qui peuvent arriver avec ça.
Il y a des services qui sont délaissés.
Exactement.
Oui.
Puis la Food and Drug Administration, là-bas, a stoppé ses inspections alimentaires préventives pour se concentrer sur ce qui pourrait être des crises sanitaires éventuelles.
Okay.
Et donc, on sait que nous, évidemment, on achète beaucoup fruits, légumes, pièces de viande. Des États-Unis, il y en a vraiment beaucoup. Et évidemment, là, on se comprend, là, on peut pas tester chaque fruit, chaque légume qui va rentrer chez nous, mais il y a des tests aléatoires qui se font pour s'assurer de notre sécurité, dans le fond, alimentaire.
Oui, mais... Puis en plus, la quantité de rappels qu'on peut voir passer dans une année, parce que évidemment, la laitue romaine, ça a marqué beaucoup l'attention,
ben oui,
là. Mais écoute, des fois, c'est une sorte de croquette, puis une autre fois, c'est une sorte de telle affaire congelée, puis il y en a quand même beaucoup des rappels au courant d'une année, là.
Oui, oui. Mais dans l'article, on parle que c'est pas juste à cause du shutdown. Depuis quelques années déjà, semble-t-il, que les inspections alimentaires sont en baisse aux États-Unis. Donc, il faut peut-être être un petit peu vigilant. En tout cas, je vous invite à lire le dossier. C'est vraiment intéressant. En tout cas, moi, je m'intéresse beaucoup à ça, l'alimentation. On dirait qu'on parle de plus en plus à acheter local, etc. Mais quand tu lis des articles de même, tu dis, ah, ben, je vais acheter encore plus local.
Ouais, mais d'un autre côté, c'est parce que moi, j'ai toujours une espèce d'opposition dans ma tête. C'est vrai que j'aime ça acheter local quand il y a le marché Saint-Sauveur. Le samedi, l'été, on va acheter, ma blonde puis moi, on va se chercher des légumes, des fruits de saison patente. Mais en même temps, l'hiver au Québec, si tu veux manger d'autres choses que carottes, du navet et des patates,
t'as
pas
de
ben bel choix de prendre des fruits puis des légumes qui viennent du sud, tu sais, ça, c'est à peu près inévitable, là, tu sais.
Puis là, ben, on nous dit comment faire, mettons, la prévention. Évidemment, rester informé, c'est le point numéro un. Mais après ça, moi, j'ai des amis qui ont acheté, tu sais, l'espèce de petit savon pour laver tes fruits et des légumes, là.
Pardon?
Oui, ça existe.
Hey,
pour
dis
vrai.
Pas ça trop fort. Je pense que ma blonde écoute, là, ça serait son genre d'acheter ça du savon.
Oui, mais elle l'achètera pas parce que c'est recommandé délaver, mais juste à l'eau claire. On dit que c'est inutile d'ajouter. Il y en a qui mettent du vinaigre, du sel, le nettoyant, un désinfectant, etc. Mais il n'y a pas, semble-t-il, il n'y a pas d'études scientifiques qui ont permis de confirmer que c'était mieux que l'eau. Mais il faut quand même laver nos fruits, nos légumes, parce qu'il y en a qui vont prendre une pomme, par exemple, puis ils vont pas la laver. C'était peut-être pas le meilleur exemple, parce que vous êtes mieux d'acheter des pommes d'ici, là, mais en tout cas, on se comprend.
Puis je vous rappelle, en tout cas, en 2018, puis je souhaite qu'il n'y en ait pas en 2019 non plus, j'ai pas vu de rappel national sur aucune sorte de bacon.
Que Québec se lève. On prend une petite pause. On vient ensuite. Restez là.
Que Québec se lève. Présenté par les orthésistes du pied de Québec. Vos pieds vous font souffrir? C'est simple, rapide, efficace et sans frais. 375 rue Soumande ou piedquebec.com.
Le Québec vibre au rythme du Canadien.
Ce soir, 18h, le Canadien reçoit l'Avalanche.
Il passe au centre, il attaque, il se déploie. Voilà Tatar maintenant. Il est au cercle gauche, il s'arrête. Chassé croisé, Robert Petrie tire de l'enclave et bon!
Jeff Petrie!
Le hockey du Canadien vous est présenté par Essor Assurance. Essor et les Canadiens de Montréal, le tandem parfait.
Le réseau Cogeco, radiodiffuseur officiel du Canadien de Montréal. Au FM 93.
Durant la vente du million d'ameublement Tanguay, obtenez vous aussi plusieurs chances de devenir millionnaire. Plus vous achetez tôt, plus vous augmentez vos chances d'être l'un des 8 finalistes. Un seul achat suffit. Nous payons les 2 taxes ou vous payez jusqu'à 50 versements sur tous les mobiliers Enron et Relaxon, comme une causeuse inclinable Relaxon à 1 519 $. Livraison gratuite partout au Québec. Pendant la vente du million chez Ameublement Tanguay, tout devient possible.
Vous cherchez un emploi? Le ministère des Transports recherche des conducteurs de chasse-neige et de machinerie lourde, copilotes d'avion, évaluateurs agréés, arpenteurs géomètres, mécaniciens. Avec plus de 6500 emplois stimulants et remplis de défis répartis partout au Québec, il y a fort à parier que vous trouverez le poste qui vous convient. Pour postuler, rendez-vous sur le site bâtisseurrecherché.gouv.qc.ca. Un message du gouvernement du Québec.
Maboutiqueradio.ca. Toujours des rabais de 50%.
50% sur l'équipement, les accessoires et les services chez Sport Maguire Sillery.
50% chez Infinima Spa, Mega Fitness Gym et 1-800-GOT-JUNK.
50% sur les refroidisseurs à vin de Béton Multisurface.
En vedette cette semaine, la fine cuisine italienne du restaurant La Scala Trattoria. Musique, gastronomie, ambiance et piano bar. Offrez-vous une carte cadeau de $50 à $25.
Maboutiqueradio.ca.
Il n'a jamais été aussi simple de se déplacer. Voici le Lyft, votre application de transport par excellence. Le Lyft vous connecte à un taxi, une ligne d'autobus, une ligne de métro. Vous choisissez comment vous rendre à destination. Vous y allez et vous en revenez facilement. Utilisez tout simplement l'appli Le Lyft et c'est parti. Téléchargez gratuitement Le Lyft, l'appli pour les déplacements au Canada, en association avec Éducalcool.
Courez la chance de gagner la maison Fondation Maurice Tanguay Novo Climat ou $500 000 en argent. Il vous suffit simplement d'acheter votre billet au coût de $10 seulement chez Ameublement Tanguay, Normandin, Les Brunets participants, chez La Tulipe ou sur maisontanguay.com. La maison Fondation Maurice Tanguay Novo Climat est présentée par Mercedes-Benz de Québec pour le bonheur des enfants handicapés. Une collaboration de TVA, Journal de Québec, J5 et Salut Bonjour Week-end.
93. Le 93 pourrait faire de vous un gagnant.
Salut, c'est le Jackie Pop. Ce week-end, dans la grand-messe du rock, je souligne le passage de Def Leppard le 15 juillet au Centre Vidéotron. Pour l'occasion, je vous tourne les plus grands hits du groupe légendaire et vous courez la chance de gagner votre paire de billets. Écoutez la grand-messe du rock ce week-end.
Restez branchés au FM 93 pour votre chance de gagner. Jusqu'à 10h, vous écoutez Que Québec se lève.
Que Québec se lève au FM 93.
FM 93, ça me parle.
7h31 en ce samedi 12 janvier 2019. Voici vos nouvelles avec Kevin Dupont.
Mais Paul, il y a une célébration citoyenne qui va avoir lieu le 29 janvier prochain à l'Université Laval pour souligner le 2e anniversaire de l'attentat de la Grande Mosquée de Québec. Pour éviter de longues heures passées au froid comme ce fut le cas l'an dernier, les organisateurs ont préféré tenir l'événement à l'intérieur. Ça aura donc lieu à l'atrium Jean-Guy Paquet du pavillon Desjardins dès 19h. Les organisateurs attendent des centaines de personnes, dont le maire de Québec, Régis Labeaume. François Legault et Justin Trudeau ont également reçu une invitation. Un nouveau joueur pourra offrir des services de covoiturage à Québec, Montréal et Gatineau. Le ministre des Transports du Québec, François Bonnardel, a annoncé avoir autorisé la coopérative québécoise EVA à intervenir sur le même territoire que la multinationale Uber. En ce sens, il a modifié le projet pilote actuellement en cours qui encadre les pratiques d'Uber face aux traditionnels taxis. Comme le géant américain, EVA permet de lier des conducteurs et des passagers à l'aide d'une application. Et la paralysie partielle des administrations fédérales américaines est entrée aujourd'hui dans sa 22e journée, ce qui bat le record établi sous la présidence de Bill Clinton en 1996. L'adoption du budget par le Congrès est toujours dans une impasse, alors que les démocrates rejettent catégoriquement la demande de financement du président Donald Trump pour construire un mur à la frontière mexicaine.
J'allais dire attachez vos tuques avec la broche, je pourrais pas mieux dire. Ou attachez vos manteaux comme il faut, parce que le maximum aujourd'hui, c'est moins 15 à Québec, sous un ciel variable. Minimum la nuit prochaine, moins 20 avec des passages nuageux, pas de précipitation de neige. Demain, plein soleil, mais c'est encore froid, moins 14, c'est le maximum. Température semblable pour le retour au travail lundi. En fait, ça va s'adoucir seulement mercredi, alors qu'on attend de 5 à 10 cm de neige. Souvent, c'est là que le mercure remonte un petit peu quand il y a de la neige. Ça sera moins 5 à l'occasion. Présentement, c'est moins 19 au mercure et moins 29 avec le vent.
Dans la Ligue nationale de hockey, aucun joueur du Canadien de Montréal ne va participer au match des Étoiles de San Jose en Californie le 26 janvier prochain. La Ligue a annoncé hier les derniers joueurs élus pour participer à la classique annuelle. Il s'agit de Gabriel Landeskog, Jeff Skinner, Leon Draisaitl et Christopher Le Temps. Rappelons que le gardien du Canadien, Carey Price, a déclaré forfait lundi en raison d'une inflammation au bas du corps. Dans le baseball, les Blue Jays de Toronto ont fait signer un contrat d'un an à 8 joueurs qui auraient pu être admissibles à l'arbitrage, dont Marcus Stroman, Aaron Sanchez et Kevin Pillar. Le joueur vedette des Red Sox de Boston, Mookie Betts, a accepté un contrat d'un an d'une valeur de 20 millions de dollars avec l'équipe. Et au basketball, les Raptors de Toronto ont gagné 122-105 face aux Nets de Brooklyn.
Que Québec se lève!
Que Québec se lève! FM 93, ça me parle.
Il y a plusieurs dossiers dans le monde de la sécurité, la cybersécurité surtout, pour nous inquiéter, pour nous renseigner. Évidemment, on parle souvent avec Steve Waterhouse, qui est un ancien officier de sécurité informatique au ministère de la Défense. Bonjour, M. Waterhouse.
Bon matin à vous deux.
Alors, M. Waterhouse, c'est drôle parce qu'Isabelle, tantôt, me parlait du shutdown américain puis de la paralysie de l'administration américaine puis de l'impact que ça peut avoir sur les agences de contrôle des aliments. Ça peut aussi avoir des incidences très importantes sur la sécurité des systèmes informatiques aux États-Unis?
Ben oui, parce qu'ils veulent pas, malgré que c'est des machines qui sont supposées de travailler tout seul une fois qu'ils sont programmés, imagine-toi que il y en a de ces systèmes informatiques-là, des sites web où ce qui avait besoin d'entretien, renouvellement de certificats électroniques, mise à jour, etc., ce ne sont pas considérés des services essentiels. Et de ce fait, il y a des sites qui ne sont plus en ligne présentement, alentour d'une centaine,
ah ouais,
qui, à ce moment-là, laissent les gens en manque d'informations. Parce que aussi, ça, c'est qu'est-ce qui va toucher de plus en plus de gens dans les prochaines années, même à partir de maintenant, c'est que tout le monde se fait pointer vers des sites pour aller chercher de l'information, alors qu'avant, c'était distribué différemment, ben, pour ne pas dire en papier. Alors, des sites web, c'est vu comme une ressource essentielle, pour surtout, ben, si on prend l'exemple tantôt de contamination de l'eau, ben, les ministères vont diffuser l'information, à informer la population via principalement ces médiums électroniques-là. Et s'ils ne sont pas disponibles, ben, là, les gens se retrouvent en absence d'information.
OK, c'est comme si, par exemple, le site de telle ou telle municipalité n'était pas accessible parce que les gens sont, l'administration est paralysée. Ou par exemple, le site de la Société de l'assurance automobile du Québec, tu as besoin d'avoir des informations concernant tes plaques, mais le site est planté?
Oui, exactement, parce qu'il y a des éléments techniques qui ne sont plus disponibles parce qu'il y a besoin d'un opérateur, il y a besoin d'un intervenant, et celui-ci, ben, il n'est pas payé. C'est pas qu'il est en grève, il n'est pas payé, fait qu'il ne rentre pas, il n'y a personne qui s'interpose pour être capable de garder ça à jour, parce que c'est pas, encore là, c'est pas du point de vue du travailleur, c'est pas nécessairement essentiel, mais du point de vue de la population, ça l'est. Et c'est ça qui, à un moment donné, va peser beaucoup dans la balance, au même titre que quand on parle qu'il y a des attaques qui dérangent, des attaques de denis de service qui dérangent les services bancaires, ben, on se rend compte aujourd'hui, en 2019, qu'il n'y a plus de services au comptoir, mais bien souvent disponibles. Mm. Alors, donc, on se revient vers les plateformes numériques, mais les plateformes numériques, il faut qu'ils demeurent disponibles, et c'est souvent là que le bas blesse.
Puis après ça, le citoyen va être pointé du doigt s'il peut pas, par exemple, aller payer ses comptes ou des choses comme ça. C'est lui qui va être la victime là-dedans, ouais, dans le fond.
C'est ça. Voilà le singe, c'est lui qui l'a sur les épaules. Quoique, dans certains cas, que c'est arrivé, si je prends l'exemple des revenus Canada, il y a quelques années, quand il y a eu un bug qui a été découvert, ben ils ont été conciliants et ont laissé 2 semaines de plus pour que les gens puissent à ce moment-là s'ajuster. Parce que les services informatiques avaient été mis hors ligne pendant 2 jours et demi pour régler le problème potentiel. Et après coup, ils ont mis ça en fonction, puis oui, ils ont extensionné la date. Fait que s'ils sont intelligents dans l'approche, ils vont être conciliants, plus flexibles, ça c'est parfait. Mais il y en a d'autres qui vont dire non, ça a tout planifié des affaires. Fait que oui, ça peut apporter des arguments.
Il y a la compagnie Bell qui cherche à marchander les données personnelles de ses clients. Ça a fait de la manchette aussi beaucoup cette semaine, M. Waterhouse.
Oui, Paul Raphaël, puis ça, les cheveux m'ont dressé sa tête, puis tu sais que j'ai mangé beaucoup de shakers.
Vous avez la même coupe que Marc Boilard en passant, c'est ça?
Oui, exactement. On fait du froid de coco quand on se voit, là, ça, c'est pas pire. Mais c'est pour ces gens qui ont des idées en passant, pas plus que ça.
Okay.
Mais effectivement, quand je vois des choses comme ça, là, ça vient me chercher parce que aujourd'hui, les gens, ils s'en rendent pas compte, mais les compagnies, les grandes compagnies, puis ça, c'est pas juste Bell, je veux dire, toutes les compagnies de ce monde cumulent l'information des gens. Et, puis je le redis souvent, c'est la monnaie d'échange du 21e siècle. C'est pas le pétrole, c'est plus l'or, ça, c'est fini. C'est vraiment l'information personnelle. Et pour ce faire, Bell, il y a quand même une bonne portée, là, je veux dire. Aujourd'hui, ils travaillent avec quoi, les données personnelles chez Bell? Ben, je veux dire, c'est les habitudes de consommation télévisuelle, cellulaire, et tous les autres services connexes qu'il peut y avoir. Puis ça, c'est les échanges de textos, les échanges de boîtes vocales, combien de temps que la personne reste au téléphone. C'est vraiment, qu'est-ce qu'on se doute pas, puis qu'on fait à chaque jour? Eux, ils vont prendre ces données-là, et après ça, ils font juste, selon la loi, ils enlèvent le nom de la personne, et ils peuvent, à ce moment-là, normaliser les données, et ça devient des données échangeables envers toutes sortes de compagnies. Ce qui est fatigant là-dedans, ça peut être recoupé avec des données à l'extérieur, et ce qui, à ce moment-là, peut pointer vers l'identité d'une personne très spécifique dans l'exploitation ça, des habitudes ou peu importe le profil cognitif de la personne.
Mais je lisais dans le journal que, à quelque part, Bell offrait la possibilité à ses clients de partager ou de ne pas partager avec eux leurs informations personnelles. C'est sûr que tout est dans la façon qu'ils le font, là, tu sais, les fameux normes de conditions patentes, le super longues de 30 pages qu'on lit jamais.
Ouais.
C'est un peu croche, mais il demeure que tout d'un coup, ça devient un peu la faute de l'utilisateur s'il accepte de partager ses données avec Bell, non?
Ah ben oui, ils vont formuler ça comme ça. Puis tu sais, quand on parlait tantôt, c'est la faute à rien qui, là. Les entreprises, ils ont les ressources, le temps et la motivation de pouvoir s'en dégager. Puis oublie jamais une affaire, quand tu utilises le service, ben c'est ta faute s'il arrive quelque chose de pas correct. Mm-hmm. C'est pas eux autres qui ont mal programmé leurs histoires. Puis je me suis heurté bien souvent avec des compagnies technologiques de même pour leur faire comprendre, mais non, mais c'est ton staff qui a fait une mauvaise programmation, puis ton service, il rend ça pas correct. Mais ça, c'est évidemment pointu quand tu vas aller prouver ça.
Puis ce qui finit par arriver aussi souvent, c'est qu'après, si t'acceptes pas les conditions que t'imposes, tu peux pas faire la moitié tu perds la moitié des possibilités. Là, tu sais, je me chic avec un téléphone cellulaire. Si t'acceptes pas les termes et conditions de ton fournisseur, je veux dire, tu peux pas l'utiliser, ton téléphone, là, tu sais.
Et tu me fais penser justement, quand on veut utiliser des applications XYZ sur nos téléphones portables, souvent on prend pas le temps de lire, comme tu disais, les petits caractères de l'entente de confidentialité, mais je sais pas si tu l'as vu aussi celle-là, mais t'as beaucoup d'applications qui documentent davantage ce que l'utilisateur se doute pas. Et comme tu dis, quand tu acceptes, tu lui donnes permission de prendre toute l'information, ta géolocalisation, partout où tu vas, puis ils peuvent s'en servir à leur fin. Fait que oui, faut comme consommateur, on est pogné avec le fardeau de se documenter, de lire davantage et de voir à ce moment-là si c'est correct ou pas, qu'on accepte ou pas. Et si on a des doutes, puis si on n'est pas content de la façon que ça se passe, ben il y a toujours des recours pour porter plainte, soit au commissaire de la vie privée du Canada ou bien au commissaire d'accès à l'information du Québec, qui vont prendre votre plainte et vont être capables d'établir si on a été dupé ou bien si on n'a juste pas lu comme faut les dites ententes qui sont présentes.
Parce qu'en plus, en tout cas, moi, j'ai toujours un doute si j'accepte pas. Est-ce que vraiment ils vont pas utiliser mes données? Ça, c'est une autre question peut-être, mais on dirait que la bonne foi là-dedans, je suis pas toujours certaine, en fait.
Ouais, la question se pose. D'ailleurs...
Ah, t'as raison, Isabelle, parce que aujourd'hui, là, assume qu'ils vont le prendre. Ils vont prendre l'information parce que c'est à leurs avantages, puis eux autres, c'est lucratif.
Ben oui.
C'est ça. Quel recours un petit utilisateur peut avoir contre une compagnie comme Bell ou comme... D'ailleurs, on reste dans le partage de données parce que moi, j'ai été bien surpris de voir ça. Il se tenait cette semaine le CES 2019, le grand congrès de nouveaux gadgets, nouvelles technologies. C'est pas mal le plus grand congrès de nouvelles technologies sur la planète. Là. Ça avait lieu cette semaine et des milliers de choses qui ont été discutées, là, il y a la collecte d'informations, de nos informations personnelles par les automobiles, M. Waterhouse.
Oui, puis on parle de d'automobile, on pourrait prendre le reste de l'avant-midi puis jaser de tous les cossins qui existent. Puis, on a parlé dans une autre émission sur les objets sexuels, rappelle-toi. Et malheureusement, au CES, il n'y a pas de catégorie parce qu'il y en a qui auraient mérité des prix parce qu'ils sont créatifs. Si on revient à la vol de données informatiques, ça n'est où ce que pas données informatiques, des données d'usage personnel. Ouais. Les véhicules automobiles aujourd'hui vont avoir beaucoup plus d'intelligence à l'intérieur. Parce qu'aujourd'hui, on peut plus juste dire, oh, on achète un véhicule automobile, quatre roues, un body, un volant, puis on s'en va. Non, non. Il y a beaucoup de télématique qui va être impliquée. Télématique veut dire toutes les données qui vont, à ce moment-là, aider à calibrer le véhicule, la qualité, etc., pour aller jusqu'au véhicule autonome éventuellement. Et tout ça, vu que ça va être des données en temps réel, qui est de plus en plus en temps réel, ben, les fabricants, eux autres, sont contents parce qu'ils vont dire, ça va être la couverture avec laquelle ils vont s'en servir. Ah, c'est pour améliorer le produit, c'est pour votre sécurité. Oui, jusqu'à un certain point. Mais le restant des données qui vont cumuler sur comment vite qu'on freine, comment qu'on accélère. Tu sais, un peu, il y a eu des annonces aussi pour les assureurs qui veulent à ce moment-là cette information-là parce qu'ils peuvent calibrer un peu la police d'assurance en fonction du type de conducteur qu'on est. On conduit tranquillement, on suit les lois, les règlements. OK, vous allez avoir 30 % de rabais. Ils réalisent qu'on conduit en fou furieux, ben, ils nous imposent des pénalités, des primes d'assurance plus élevées. Ben, le fabricant automobile va procéder de la même façon, puis à ce moment-là, il va pouvoir à ce moment-là dire « Désolé, tu as utilisé ton véhicule d'une telle façon, on ne reconnaît pas qu'est-ce que tu réclames comme étant un bris durant la garantie. » Ça va aller jusque-là, parce qu'à ce moment-là, ils vont avoir des données palpables avec lesquelles ils vont nous lancer ça dans le visage.
C'est pour ça que Paul Raphaël garde sa voiture 1996.
Voilà, c'est ça que c'est là que je m'en allais. Ouais.
Je suis démasqué, vous venez de dire au grand jour mon truc pour éviter d'être espionné par les différentes compagnies.
T'es incognito.
Ouais, en plus, des fois, je ferme mes lumières aussi pour être sûr que personne ne me voit. En terminant, M. Waterhouse, souvent, puis je m'amuse en ouverture presque à toutes les fois qu'on se parle à dire qu'à la fin de chacune de vos interventions en ondes avec nous, je finis plus inquiet qu'avant l'intervention en question. Mais là, vous avez une bonne nouvelle pour nous. La bonne nouvelle dans le monde de la cybersécurité, c'est que pour une fois, il y a un hacker qui a été puni par la justice.
Oui, puis je l'ai cherché celle-là pour la faire juste pour toi, parce que c'est important qu'on amène du positif à notre fin de semaine. Oui. Et c'est un événement qui est arrivé vraiment là dans là, quelques années, en 2014, où ce que il y a un hôpital, là, quelques hôpitaux à Boston, qui ont été impactés par une attaque de déni de service. Attaque de déni de service, ça veut dire qu'on gèle les services parce que on submerge les services de requêtes banales qui font en sorte que les services informatiques plantent et sont pas disponibles. Ouais. Pendant une semaine et demie, ces hôpitaux-là, ils n'étaient pas disponibles, le service informatique, il n'était pas. Et tout ça dans le cadre d'une petite fille qui a eu un mauvais traitement à l'hôpital et un hacker qui s'apprêtait d'être du collectif Anonymous s'en est pris à ces hôpitaux-là pour lui faire comprendre « Vous n'avez pas traité la fille correctement. » OK. Socialement, okay. C'est peut-être un geste qu'on peut saluer, mais de l'autre côté, c'est criminellement responsable parce qu'il y a beaucoup de recherches qui n'étaient pas disponibles pendant ce temps-là. Fait que plus tard, ce qui est ironique dans ce cas-là, le hacker il a voulu se sauver par un bateau qu'il a loué vers Cuba pour se faire pogner par la justice américaine. Ça n'a pas bien été son affaire. Il a lancé un SOS, s'est fait récupérer par un bateau de Disney, emmené en justice, puis là, ben oui, ils l'ont repéré le bonhomme, ils l'ont condamné pour 10 ans pour avoir commis ces méfaits-là.
Donc, c'était un bon criminel sur Internet, mais disons que quand il arrivait dans le vrai monde, c'était un peu un moins bon bandit, là.
Ben, c'est toujours interprétable, hein. C'est comme ça que souvent arrive. Pour un, ça va être un justicier fantastique, puis on se réfère à lui, puis à l'autre côté, il va violer des lois, puis
c'est
comme
ça
que... Non. C'est pas correct nécessairement, ouais. Toujours ça donner de même.
Oui, puis ce que je veux dire de toute façon, c'est surtout que il est habile comme bandit quand il est sur Internet, mais un peu moins habile quand il vient le temps physiquement de disposer de sa propre personne. T'sais. Merci beaucoup, M. Waterhouse, d'avoir pris du temps le samedi pour nous.
Ça me fait plaisir, bonne fête.
OK, à la prochaine. Bye-bye. Steve Waterhouse, expert en cybersécurité. On s'arrête pour une courte pause. En revenant, on va faire un tour à Ottawa où il y a vraiment une tragédie qui s'est produite hier. Les détails avec notre journaliste Caroline Scott.
Que Québec se lève.
De retour après la pause.
Que Québec se lève. Présenté par les orthésistes du pied de Québec. Vos pieds vous font souffrir? C'est simple, rapide, efficace et sans frais. 375 rue Soumande ou piedquebec.com.
Au FM 93, c'est la grand messe du rock. Les meilleurs bands. Tour de rock de tous les temps. Samedi et dimanche, dès 10h. Avec François Jacques. Alias Jackie Pop. C'est la grand-messe du rock au FM 93.
Notre métier, professionnel de la route.
À l'aide d'un programme rigoureux et d'équipements adaptés aux standards de l'industrie, nous sommes là pour vous l'enseigner. Notre formation en transport par camion du Centre de formation en transport de Charlesbourg vous permettra, à votre tour, de parcourir le monde autrement.
Séance d'information au CFTC le 16 janvier à 19h. Tous les détails au cftc.qc.ca.
C'est la foire du patin de loisirs à l'Entrepôt du hockey. Trouvez des patins de loisirs pour tous à des prix dérisoires. Comme des patins de loisirs pour hommes à seulement 59,99 ou pour juniors à 39,99. C'est jusqu'au 20 janvier seulement à l'Entrepôt du hockey Québec et l'ancienne Lorette.
Le XC60 de Volvo a été désigné véhicule le plus sécuritaire jamais testé en Europe. Il a également gagné le prix très convoité du véhicule mondial de l'année 2018. Et lorsque dans le confort de son habitacle de conception scandinave, vous affronterez sans effort nos hivers québécois, le XC60 gagnera aussi votre cœur. Le XC60 2019 de Volvo offert à partir de 49 500 $.
Détails chez Volvo de Québec. VolvoDeQuébec.com.
Ça mord! Ça mord! La pêche aux petits poissons des chenaux à Sainte-Anne-de-la-Pérade est à son meilleur et les pourvoyeurs vous attendent de jour comme de nuit pour profiter de l'ambiance unique du village sur la glace. Pour les enfants, une panoplie d'activités extérieures. Initiez votre famille ou retrouvez-vous entre amis le temps d'une partie de pêche dans le confort d'un chalet chauffé bien équipé. Aucun permis n'est requis. Tout le matériel est fourni. Les petits poissons des chenaux à Sainte-Anne-de-la-Pérade, un incontournable cet hiver. Programmation et réservation, lespetitspoissons.ca. Invitation, Cogeco Média.
Si la musique dans les pubs de 1-800 Got Junk met de bonne humeur,
c'est parce qu'on aime aller dans votre grenier
et dans les coins sombres de votre sous-sol.
On fait disparaître la junk
n'importe où,
n'importe quand.
Il vous suffit de pointer et ça disparaît. Et si nos camions brillent et nos uniformes sont propres,
c'est parce qu'on est fiers de ce qu'on fait.
On est les authentiques
et les leaders dans notre domaine.
Il vous suffit de pointer et ça disparaît.
Appelez au 1-800-GOT-JUNK ou visitez le 1-800-GOT-JUNK.com.
Et si votre prochaine salle de bain comportait un magnifique comptoir de quartz? Et si ce comptoir était un cadeau?
Eh bien, c'est exactement ce qui arrive chez Orléans Cuisine Design.
Pour tout projet de cuisine et salle de bain, signé avant le 28 février 2019, Orléans Cuisine Design vous donne le comptoir de quartz pour la salle de bain et 500 $ d'accessoires pour la cuisine. Vous faites faire seulement la cuisine, vous obtenez 500 $ d'accessoires.
Orléans Cuisine Design sur le boulevard Saint-Anne et sur orleanscuisinedesign.com.
Que Québec se lève.
FM
93.
Ça me parle. C'est hier à Ottawa que la tragédie s'est passée. Il y a au moins 3 personnes qui sont mortes, 23 blessés dans un accident. On semble croire qu'un autobus qui a dérapé pour une raison encore inconnue, qui est allé frapper un abribus. L'abribus qui a presque sectionné l'autobus, là, tu sais, c'est vraiment une scène sordide. Et notre collègue Caroline Scott, qui est journaliste pour Cogeco Nouvelles, est sur place. Bonjour, Caroline.
Bon matin, vous deux.
Alors, hormis les images que moi j'ai prises dans le journal ce matin, qu'est-ce que tu vois sur la scène présentement?
Je peux vous dire que ça a été une scène déchirante à voir hier, scène chaotique. Et ce matin, d'ailleurs, l'autobus qui est complètement sectionné est toujours sur place, semble qu'il sera dégagé au courant de la journée, mais là, évidemment, il reste là pour permettre aux enquêteurs de reconstituer la scène. Vaste périmètre de sécurité également qui a été érigé dans le secteur. Les policiers, services d'urgence qui sont encore nombreux sur place. On s'entend que la circulation est perturbée. Ce sont seulement les autobus qui peuvent accéder là, finalement au tram détruit. Donc, accident qui est survenu peu avant 16 heures là, du côté de la station Westboro. Et vous l'avez dit, on fait état donc de 3 morts et de 23 blessés. Et il y a 25 personnes au total qui ont été transportées dans les différents hôpitaux d'Ottawa. Et aux dernières nouvelles, il y en a 14 était toujours dans un état de
chute. Ah, hier, aux nouvelles, les images étaient effroyables. Les gens qui cherchaient leurs proches, c'était vraiment triste. C'était vraiment à glacer le sang. Puis là, j'imagine qu'il y a une enquête qui va avoir... Ben, en fait, j'imagine, il va y avoir une enquête qui va avoir lieu parce qu'on n'a aucune idée des causes pour l'instant qui ont pu être là, les raisons de cet accident-là.
Oui, puis on ne connaît pas encore la cause de l'accident, mais on s'entend que l'impact a été très violent. Lorsque l'autobus a heurté l'abribus, comme en témoigne, comme tu l'as dit, là, les images, les vidéos qui ont été publiées là, en grand nombre sur les réseaux sociaux. Autobus, d'ailleurs, qui était bondé, rempli, c'était en pleine heure de pointe. transportait environ 90 passagers. Et ce qu'on sait pour l'instant, c'est que la conductrice en question se serait mise à dévier de sa trajectoire et aurait heurté le trottoir avant de frapper l'abribus Westboro. Est-ce que ça serait dû à de la glace?
Ouais.
Ça, ce sont des hypothèses qui sont soulevées, mais rien n'est écarté pour l'instant. Il y a des personnes, évidemment, qui se sont mises à crier. Il y en a d'autres qui ont été prises sous leur siège. Il y en a d'autres également qui ont été prises dans l'autobus, imaginez-vous, pendant une heure de temps, le temps qu'on les extirpe pour qu'on puisse les transporter à l'hôpital. Donc, certains qui ont resté prisonniers pendant plusieurs heures. La façade droite, deuxième étage de l'autobus, qui a été complètement arrachée. Et d'ailleurs, la majorité des blessures sérieuses se sont produites de ce côté-là de l'autobus. Et ce qu'on sait également, c'est que la conductrice de l'autobus a été arrêtée sur place hier. Elle a été relâchée là, au cours des dernières heures. Il n'y a pas d'accusation qui a été déposée dans cette affaire-là, mais chose certaine, l'enquête sera très, très longue.
Est-ce qu'hier à Ottawa, les chaussées étaient vraiment glacées? Est-ce qu'il y avait beaucoup de glace sur les routes?
Ben c'est ça. L'enjeu, c'est que les premiers répondants ont dû travailler dans des conditions extrêmes parce qu'il fait très froid ici. Et effectivement, la chaussée était glacée à certains endroits. Si c'était le cas du côté du Transitway, là, évidemment, l'enquête va permettre de le déterminer, mais il semble que ce serait la cause la plus plausible pour l'instant. Évidemment, les enquêteurs aussi vont reconstituer la scène. Donc, on va permettre de déterminer aussi s'il y a peut-être eu une distraction, notamment le soleil aussi qui était très fort. Et sans période de pointe, on sait que le Transitway du côté de Westboro est très achalandé là, de ce côté-là. Donc, est-ce que aussi quelqu'un aurait pu se trouver dans la voie de la conductrice? C'est vraiment tous des scénarios qui vont être étudiés. Faut dire qu'il y a donc unité d'enquête là, qui travaille là-dessus aujourd'hui. Il y aura le ministère des Transports également qui va travailler sur l'enquête. Donc, tout le monde sera mis à contribution, évidemment, pour tenter d'expliquer tout ça.
Et donc, hier, aux nouvelles, on voyait des gens qui cherchaient leurs proches, qui n'arrivaient pas de, qui n'avaient pas de nouvelles. C'était vraiment, c'était à briser le cœur, là. Il y a des gens qui sont restés pris aussi longtemps dans l'autobus, comme tu nous disais. Est-ce que ces gens-là auront du soutien psychologique?
C'est certain. On a un centre d'aide aux proches des victimes qui a été érigé au centre des aînés Churchill. Et hier, effectivement, le centre était bondé de proches qui étaient en quête de réponse, qui cherchaient toujours des victimes, n'avaient pas de nouvelles de leurs proches. Donc, ils se sont dirigés à cet endroit-là pour tenter d'avoir des nouvelles. Évidemment, on ne peut même pas imaginer à quel point ces gens-là ont dû vivre dans l'angoisse pendant des heures, des minutes qui ont dû être interminables pour les proches des victimes, qui auront aussi l'aide de la Croix-Rouge aussi. Donc, une ligne téléphonique pour les personnes qui sont à la recherche d'informations sur des proches qui auraient pu être victimes de cette collision-là. Centre d'appel de détresse de la région d'Ottawa aussi, qui est à la disposition des proches touchés par l'accident, également des victimes et des témoins qui ont vu des images atroces également hier. Les premiers répondants qui se sont rendus sur la scène aussi vont avoir besoin de soutien psychologique pour en parler, pour parler de ce qu'ils ont vu. Faut dire aussi que c'est sans rappeler cette tragédie qui avait fait 6 morts en 2013 également lorsqu'un autobus est entré en collision avec un train de VIA Rail à la station Fallowfield de Barrhaven. On avait érigé la même sorte, si tu veux, de centre de soutien psychologique pour les victimes, les proches, les premiers répondants, parce qu'on sait que ce sera très douloureux, ce sera très difficile d'oublier cette journée-là pour les résidents d'Ottawa.
Caroline Scott, journaliste Cogeco Nouvelles, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin.
Grand plaisir.
OK, bonne journée. C'est vraiment, écoute, si vous avez pas vu les images, là, honnêtement, je vous invite, si vous avez le cœur sensible, soit à tenter de les éviter, là, ou sinon, faites une recherche parce que c'est très éloquent sur, sans dire long sur la gravité de cet événement-là. L'autobus, une espèce de d'autocar, finalement. Là.
Parce que c'était deux étages.
C'est ça.
Alors, c'est l'étage du haut, finalement, qui a vraiment été...
presque été sectionné.
Sectionné, ouais, vraiment.
On parle de 10 rangées d'autobus là qui ont été... C'est comme si l'autobus était rentré de côté dans un abribus, puis que le toit de l'abribus, tu sais, c'est tout le temps ouvert devant.
Exact.
Le toit de l'abribus était rentré dans l'autobus. Vraiment, c'est des images...
choquantes.
Ouais, c'est des images choquantes, absolument. On s'arrête pour une courte pause, on revient tout de suite.
Que Québec se lève.
De retour dans quelques instants.
FM 93.
Que Québec se lève, présenté par les orthésistes du pied de Québec. Vos pieds vous font souffrir? C'est simple, rapide, efficace et sans frais. 375 rue Soumande ou piedquebec.com.
FM 93. Pour être à la fine pointe de l'information, c'est Bouchard en parle.
Caroline Néron est au bord de la faillite. Et à un moment donné, Pierre-Yves avait écrit un texte questionnant un peu les dragons, comment ça marche. Il avait posé certaines questions tout à fait légitimes et il s'était fait ramasser. Pierre-Yves, bon matin!
Salut. J'ai écrit un article en 2016 pour expliquer que le modèle Lafert n'est pas la route. Et j'avais dit, si vous lancez ce modèle-là, faites pas comme ça. Faites autrement.
Bouchard en parle, du lundi au vendredi, dès 5h30, FM 93. Ça me parle.
Maboutiqueradio.ca. Toujours des rabais de 50%.
50% sur l'équipement, les accessoires et les services chez Sport Maguire Sillery.
50% chez Infinima Spa, Mega Fitness Gym et 1-800-GOT-JUNK.
50% sur les refroidisseurs à vin de béton multisurface.
En vedette cette semaine, la fine cuisine italienne du restaurant La Scala Trattoria. Musique, gastronomie, ambiance et piano-bar. Offrez-vous une carte cadeau de 50$ à 25$.
Maboutiqueradio.ca.
Salut, c'est Jackie Pop. Ce week-end, dans la Grande Messe du Rock, je souligne en grand le passage de Def Leppard le 15 juillet au Centre Vidéotron. Pour l'occasion, je vous tourne les plus grands hits du groupe légendaire. Et vous courez la chance de gagner votre paire de billets. Def Leppard avec artiste invité Tesla, le 15 juillet au Centre Vidéotron. Une production Evenco, Live Nation et Gestel. Collaboration FM 93. We can't touch fate.
Maison Adam.
C'est la grande vente de liquidation des surplus d'inventaire chez Maison Adam. José vous offre le grand téléviseur Dell 65 pouces 4K HDR de LG à seulement 901$ avec 522$ de rabais et payé en juillet 2019. Pour faire le bon choix et être bien servi, passez voir José Adam et son équipe d'experts à la Maison Adam au 710 rue Bouvier.
Maison Adam. Bienvenue dans la technologie.
Il n'a jamais été aussi simple de se déplacer. Voici le Lyft, votre application de transport par excellence. Le Lyft vous connecte à un taxi, une ligne d'autobus, une ligne de métro. Vous choisissez comment vous rendre à destination. Vous y allez et vous en revenez facilement. Utilisez tout simplement l'appli Le Lyft et c'est parti. Téléchargez gratuitement Le Lyft, l'appli pour les déplacements au Canada, en association avec Éducalcool.
Un ami m'appelle pour dîner? On va à l'atelier. J'ai quelque chose à fêter. Je vais à l'atelier. C'est pas compliqué. Je suis toujours rendu à l'atelier. Vous faites quoi mercredi? Moi, je profite du jazz et huîtres de l'atelier. Dès 17h, on s'installe bien confortablement. C'est ambiance trio jazz et on profite des fameuses huîtres de l'atelier à 1$. C'est tellement parfait. Vous comprenez pourquoi je suis toujours rendu à l'atelier. Le bistrot L'Atelier sur Grande Allée.
FM 93. Ça me parle.
Ça me parle de ce qui m'intéresse, ce qui se passe dans ma ville. 93. Ça me parle avec Sylvain Bouchard, Doc Mailloux, José Arsenault, Myriam Segal, Luc Lavoie, Éric Duhem, Dan Pou, Paul-Raphaël Charon, Marc Boilard.
93.
C'est mes enjeux, mes intérêts, ma vie. Ça vient me chercher, ça m'interpelle. Ça me parle.
FM 93. Ça me parle. La planète n'arrête pas de tourner parce que c'est le week-end. Restez informés en écoutant Que Québec se lève avec Paul-Raphaël Charon et Marc Boilard. Jusqu'à 10h, vous écoutez Que Québec se lève.
Que Québec se lève au FM 93.
FM 93, ça me parle.
8h01, nous sommes samedi le 12 janvier 2019. Bonjour à tous, bienvenue au FM 93. Correctif d'emblée. Correctif, parce que le jingle dit Paul-Raphaël Charon et Marc Boilard. Aucun nom, mesdames, messieurs. Notre ami Marc a décidé d'aller se faire chauffer la couenne sur les plages de la Floride. Alors, je l'envie beaucoup. Et c'est la seule et unique Isabelle Lacasse qui est avec moi aujourd'hui. Bonjour, Isabelle.
Allô, allô.
Isabelle Lacasse dit Lacasse-Noisette.
Oui. Écoute, ça, c'est Marc Boilard qui m'appelle comme ça depuis de nombreuses années.
Marc n'est pas là, mais il faut quand même perpétrer son héritage.
Absolument. Je suis bien d'accord avec ça.
Pas comme s'il était là. Je vais m'en tenir à Isabelle, si tu veux bien, quand même.
C'est correct.
Alors, mon ami Kevin Bridge, tu dois avoir des nouvelles pour nous.
Oui, bien, une nouvelle un peu plus sérieuse. Paul, à Ottawa, il y a 3 personnes qui sont malheureusement décédées. 23 autres ont été blessées lorsqu'un autobus à étage de dossier de transpo a abouti un abribus. 2 victimes étaient dans l'autocar, tandis que la troisième se trouvait sur la plateforme. La chauffeuse de l'autobus qui transportait 90 passagers a été arrêtée pour interrogatoire. Elle a finalement été relâchée en fin de soirée. Elle ne fait face à aucune accusation pour l'instant. Les détenus fédéraux bénéficient de cours déglacés, alors que la majorité des élèves de la grande région de Québec n'ont même pas droit à ce même traitement. Comme le révélait jeudi le FM 93, seule la commission scolaire des découvreurs a une politique qui permet le déneigement et le déglaçage des cours d'école si requis. Dans les autres écoles, on préconise plutôt de garder les enfants à l'intérieur lorsque les cours sont glacés. La direction du pénitencier de Donnacona nous a confirmé par écrit qu'un camion sableur était utilisé de façon exceptionnelle quand le risque de chute était trop élevé. Et le gouvernement du Québec compte élargir sa loi sur la protection des animaux afin de protéger davantage certaines espèces, dont les chevaux, le vison, les autruches et les dindons sauvages. Selon le projet des règlements publiés cette semaine, les fermes d'élevage de visons et de renards ainsi que les étables de 15 chevaux ou plus devront se soumettre aux mêmes normes que dans les élevages de chats et de chiens. Les propriétaires de ces fermes et étables devront également obtenir un permis du ministre de l'Agriculture, des Pêches et de l'Alimentation et ainsi subir des inspections fréquentes d'après le projet de règlement.
Il va falloir que quelqu'un m'explique pourquoi c'est presque systématique à 8 heures le matin, quand le soleil se lève, il fait tout le temps un petit peu plus froid qu'à 7 heures. je comprends pas. Le maximum aujourd'hui est fixé à moins 15 sous un ciel variable.
Puis on a perdu des degrés, là.
Ouais. Ah oui.
OK.
Écoute, j'hallucine. Qu'est-ce que tu veux? J'en suis pas responsable. Je m'excuse. C'est pas moi qui décide. C'est Météo Média qui décide, soit dit en passant. D'accord. C'est eux qui gèrent tout ça avec le piton. Ils montent puis ils baissent la température. Là. Alors, moins 15, c'est le maximum pour aujourd'hui. Ciel variable. Moins 20 la nuit prochaine, c'est le minimum de passage nuageux au courant de la nuit. Pas de précipitation. Pas de précipitation pour demain non plus. Demain, c'est moins 14 au maximum, moins 20 avec le vent. En fait, ça va ressembler à ça jusqu'à mercredi prochain, des moins 13, moins 14. Journée venteuse, des refroidissements éoliens là, qui font descendre ça autour de moins 20. Jusqu'à mercredi. Là, il y a de la neige, donc ça s'adoucit un peu au niveau du mercure. Moins 5 pour mercredi. Présentement, c'est moins 20 au mercure. Et avec le vent, c'est moins 31, mesdames, messieurs.
Dans la Ligue nationale de hockey, le Canadien de Montréal va tenter ce soir de renouer avec la victoire lorsqu'il va accueillir Nathan MacKinnon et l'Avalanche du Colorado. Le tricolore a connu des matchs difficiles plus tôt cette semaine contre le Wild du Minnesota et les Blues de Saint-Louis. Hockey junior, les Remparts ont eu le déçu 2-1 face aux Tigres de Victoriaville. Alexis Sergeev et Pierre-Olivier Lacombe ont marqué dans la victoire. Le gardien Kyle Jessamyn a stoppé 27 des 28 tirs dirigés vers lui. Et le comité olympique suédois a déposé sa candidature pour l'obtention des Jeux olympiques d'hiver de 2026. Les épreuves de luge auraient lieu de l'autre côté de la mer Baltique, soit en Lettonie.
Parlons cash. Parlons cash.
T'as eu ta paye jeudi, c'est ça?
Non, c'est
puisque
pas ça.
Puisque t'as fait beaucoup d'heures pendant le temps des
en
fêtes,
fait,
quand même.
En fait, c'est vrai, oui, j'ai eu ma paye de temps des fêtes, écoute.
Hey, ça dit bien?
J'ai tout mis au garage pour mon auto.
Ah oui, c'est vrai.
J'allais dire, comment on se sent millionnaire?
Ouais, non, on sent qu'aller au garage, finalement, ça bouffe beaucoup de... On sent que ça prend des heures, finalement. On calcule les heures que ça a pris pour... passer la carte une fois pour faire ouch. C'est autant que ça. Oui, OK.
On rappelle que le moteur d'auto de Paul Raphaël n'est pas fort ces temps-ci.
On rappelle que le garagiste, il charge 90$ de l'heure. Hein?
Aussi.
Fait que lui, ça monte vite. Tout ça pour dire, parlons cash. Parce que cette semaine, une des nouvelles qui a vraiment marqué la semaine, c'est les déboires financiers de Caroline Néron. Le fait que son entreprise soit là sur le bord de la faillite, puis en fait je dis sur le bord parce que je croyais comprendre ce matin dans le journal que il y a des chances qu'elle réussisse là à restaurer la business parce que présentement ça va pas fort. Écoute, elle doit au total 9 millions, elle a 9 millions de dettes, environ 1,5 million de TPS et de TVQ, 360 000 piastres en salaire à payer à ses employés. Caroline Néron doit à son mari, d'ailleurs elle est en instance de divorce, ouais. Là, mais son mari il est à la tête du réseau Sélection, les maisons, les résidences pour aînés Sélection. Elle lui doit 736 000, mais en fait c'est Néron Inc. qui doit 736 000 parce que Caroline Néron la personne et Néron Inc. l'entreprise, c'est deux affaires. D'ailleurs dans le journal ils disent, c'est drôle parce que Caroline Néron elle-même a avancé 710 000 à Néron Inc. Mais c'est sa business, en tout cas. C'est affaire que je comprends pas.
On n'est pas hommes et femmes d'affaires ici, c'est ça que ça veut dire.
Ouais, non, mais t'as raison. T'as raison parce que moi, essentiellement, tout ce qui se passe là, je le comprends pas. Tu sais, pour moi, tu sais, quand t'es juste une personne pis que t'es pas une business, là, ben, tu te fais un budget. tu sais, puis tu le respectes. Puis là, quand tu as des dettes, tu regardes tes dettes, puis tu dis, oh, faut soit que j'augmente mes revenus ou que je diminue mes dépenses, tu sais. Fait que.
Mais chaque homme ou femme d'affaires dit, qui ont du succès, vont dire vont avoir le même discours, c'est-à-dire que tu dois prendre des risques, je pense, pour faire grossir, avancer ton entreprise. Oui. Et, quand même, pour ça, elle en a pris, bien sûr, des risques, mais elle a fait grandir une entreprise. Il y a beaucoup de gens qui se sont acharnés sur elle, sur les réseaux sociaux, hier,
oui, c'est vrai.
À tort, à mon avis, dans le sens que ça ne veut pas dire qu'elle a bien ou mal géré son entreprise. On n'est pas dans ses livres, on n'est pas dans ses états financiers, mais ce n'est pas nécessaire non plus d'y aller de façon intense et de la taxer de plein de mots. Mais en même temps, c'est ça. Cette fille-là, elle a pris des risques. Je pense qu'il y a un côté d'elle qui a peut-être pas voulu s'entourer de gens, parce qu'on parle d'un roulement certain quand même dans son entreprise de gens mettons ses bras droits, etc. Ouais. Donc peut-être qu'elle a pas voulu écouter aussi les conseils des autres, puis elle a voulu se dire oui, on va en faire par exemple des sacs à main, on va aller dépenser à Edmonton ou ouvrir une boutique où ça a pas été heureux finalement parce qu'après quelques mois on a décidé de fermer boutique.
Moi j'ai un grand respect pour les gens qui partent de pas grand-chose puis réussissent à construire des entreprises, à créer de la richesse. Parce que c'est peut-être parce que c'est bien loin de ma personnalité, mais j'ai un peu une fascination pour ça. Ce que je comprends pas, par exemple, puis peut-être les gens qui ont des business vont me dire, ben c'est parce que tu le vois pas nécessairement venir, mais je comprends pas comment, dans le témoignage de Mme Néron, elle disait, ah là, tout d'un coup, je me suis aperçu que ça marchait pas, puis là, mon Dieu, je m'en veux pour mes employés, mais comment tu fais pour pas l'avoir vu venir? Ce que Caroline Néron semble avoir comme explication, puis ça se défend, c'est moi j'étais plus marketing, mise en marché, commercialisation, mais la comptabilité et les finances c'était moins mon fort. OK.
Mais c'est quand même ton entreprise.
Ouais, c'est quand même ta business là. Alors si c'est pas ton fort la comptabilité puis les finances, faut qu'il y ait quelqu'un de ferré qui s'en occupe puis qui soit un partenaire.
Ouais.
Il me semble. Alors tu peux pas vraiment construire une business de cette ampleur là sans avoir un œil sur les livres, il me semble ça tient pas la route. Tu sais, donc, puis parce que là, c'est comme si ça tombait du ciel comme ça. Ah, oh, mon Dieu, tout d'un coup, 9 millions de dettes. Le modèle d'affaires marche pas. Pis c'est drôle. En 2016, McSween, le comptable, écrivait dans la presse que ça tenait pas la route. Hier, en entrevue, il y avait François Lambert qui, franchement, lui, était un peu rough, là, avec Caroline Néron, mais qui disait, ça fait des années que je dis que son modèle d'affaires tient pas la route. Il semblait y avoir des signaux, là. Alors, s'il y avait un comptable dans la boîte, soit il est poche en mot à dit, ou soit Mme Néron n'a pas écouté les signaux, mais ça semble pas juste être là, la conjoncture économique qui a fait que, oh mon Dieu, tout a changé du tout au tout. C'est le modèle d'affaires, les grands espaces dans les centres d'achat qui coûtent une fortune, de son propre aveu, du 200 quelques mille par année de loyer pour chaque boutique. Des boutiques où, franchement, ça fait pas la file pour aller acheter des bijoux. Je dis pas qu'elle en vendait pas, ces bijoux avaient une très bonne réputation. Mais
non, mais il faut que tu en vendes beaucoup de bijoux pour payer un loyer comme ça, avec après ça les égéries là, tu sais, elle avait des porte-parole, des associations par exemple avec Éric Lapointe, tout ça se paye, mais évidemment là ça doit coûter quand même assez cher, je sais pas c'est quoi les chiffres, mais c'est sûr que il y avait beaucoup de, puis je veux pas le dire de façon péjorative, mais il y avait beaucoup de tape à l'œil. Puis là, on parle comme si c'était une compagnie qui était fermée aujourd'hui, elle n'est pas encore fermée, mais on va devoir fermer boutique à plusieurs endroits pour se ressaisir puis tenter de sauver ça. Puis elle a encore l'envie de percer dans d'autres marchés ailleurs qu'ici, comme par exemple aux États-Unis. Est-ce que c'est une lubie ou pas? Mais en même temps, je salue cette force-là en se disant, non, on va aller au bout de l'affaire, mais en même temps, je suis pas dedans. Il y a peut-être des employés qui m'entendent présentement puis ils disent, ben oui, mais vous savez pas de quoi vous parlez parce que nous, on le vit déjà depuis X nombre d'années et on n'est pas d'accord avec ce que vous dites, tu sais.
Puis d'ailleurs, dans le journal, il parle de 360 000 $ en salaire qu'elle doit à des employés. Je sais pas si c'est tous les employés qui ont des salaires impayés, mais la moyenne, ça reste 2000 piastres par tête de pipe que l'entreprise doit à ses employés.
Ah
là.
Oui, OK.
C'est des grosses payes, là, 2000 piastres quand même, là. Tu sais, puis d'ailleurs, j'ai pas pu m'en empêcher, mais tu sais, Caroline Néron, c'est vrai que c'est une spécialiste du marketing. Hein, elle, elle disait, c'est ça que c'est ce que j'aimais. La notoriété de la marque, je m'excuse, là, mais c'était pas rien. Là. Les bijoux Caroline Néron, écoute, en un claquement de doigts au Québec puis même au Canada, c'est devenu la grosse affaire. Les bijoux à la mode. Son marketing, il marchait hyper bien. Vraisemblablement, le problème, il provient des finances puis du modèle d'affaires. Mais on peut pas reprocher le marketing de l'entreprise de Caroline Néron. D'ailleurs, au 25226, il y a une personne qui nous dit le comptable de la compagnie aurait dû donner l'alarme. Soit il l'a pas fait, puis effectivement, il aurait dû. Ou soit il l'a pas fait, il a pas été écouté. Mais il en demeure que j'ai pas été capable de m'empêcher de penser, quand j'ai vu l'entrevue que Caroline Néron a accordée à LCN, là, bien que c'était très touchant, je me suis dit, puis c'est ce que les spécialistes disent, là, le besoin que quelqu'un croit en son projet et injecte des sommes importantes d'argent pour remettre l'entreprise sur les rails, la réorienter vers ce qu'elle veut faire, c'est-à-dire s'implanter dans d'autres marchés, puis distribuer différemment, laisser peut-être tomber les centres d'achat, puis avoir des concessions dans certains magasins, puis vendre en ligne et compagnie. Bon, puis là, je vous épargne les détails, parce que moi, je suis pas un businessman, mais il reste que je regardais l'entrevue, puis je me disais, on parle tellement de ça, parce que c'était quand même une figure connue, c'est une figure connue, Caroline Néron, puis les gens aussi connaissent cette compagnie-là, fait qu'on en parle, on en parle, on en parle. Ça donne quand même une visibilité extraordinaire. Et pendant que, plutôt que de faire faillite, par exemple, ou d'être sur le bord de la faillite, puis que les titres, ça soit juste Caroline Néron fait faillite, puis que ça soit juste du négatif, elle accorde beaucoup d'entrevues, puis elle dit « Oui, mais j'ai d'autres projets, là. Je veux investir tel marché. Je veux aller là. On a des gens à LA. On a des gens à New York. Il reste juste à signer à telle place. » Alors, elle réussit, malgré tout, à montrer que, mon Dieu, c'est très difficile, l'entreprise est sur le bord de la faillite, mais on a des projets. Elle envoie déjà un message à peut-être d'éventuels investisseurs, tu sais, que il y a encore un projet derrière ça et c'est peut-être la seule façon de sauver sa business.
Et tant mieux si ça fonctionne en bout de ligne. Mais effectivement, je peux comprendre qu'on ferme des boutiques. Maintenant, est-ce que tu achètes en ligne tes affaires en général?
Oui, malade. Oui, absolument.
Et je trouve que ce qu'on peut facilement acheter en ligne, ce sont des bijoux, entre autres. Donc, d'avoir moins de boutiques, c'est malheureux pour tous ceux et celles qui vont perdre leur emploi, par exemple. Mais c'est peut-être la marche à suivre. Puis après ça, pour les projets de grande envergure, on verra où ça l'amènera.
Elle va avoir besoin d'un dragon, nous dit un auditeur.
Ah, ben là.
Dans texto. Mais ça, c'est...
Radio-Canada, là, vraiment, dans le choix des dragons, ça va pas bien, là. Là, il faudrait repenser le recrutement puis la recherche, là.
Non, mais attends. Caroline Néron, il pouvait pas savoir que son entreprise allait mal. Donc, en soi, le choix est peut-être pas si pire que ça. Ils se sont dit, visage connu, spécialiste marketing. En tout cas, je les défends comme ça.
OK.
Gilbert Rozon, il pouvait pas vraiment le savoir non plus. Les accusations par la suite sont quand même tombées tard dans le processus, il y avait déjà les émissions de fête.
Okay.
Martin-Luc Archambault, ça c'est de la fraude, puis ça c'est de notoriété publique. Honnêtement, Martin-Luc Archambault, ça c'est vraiment pas top, là, qu'il soit pas rendu compte qu'il était impliqué d'une compagnie qui faisait de la récolte de données. Comme on parlait plus tôt ce matin avec M. Waterhouse, là, il récoltait des données aux utilisateurs d'une application de manière frauduleuse, puis après ça, il les marchandait. Ça, honnêtement, c'est vraiment pas fort.
D'après moi, sont à veille de rappeler Gaétan Frigon, là. Venez-vous-en, Monsieur Frigon, on a besoin de vous, là, dragon.
Pour tout ce qui est, parce qu'en plus, Gaétan Frigon, le running gag, c'était que tout ce qui était dans l'alimentaire, lui disait, moi, j'ai vraiment un bon carnet de contact dans l'alimentation, parce que lui, il a fait de fortune dans les épiceries, dans l'alimentation, mais je vais passer.
Il investissait pas.
Il investissait jamais. On a des prix pour vous aujourd'hui. Capitaine Cadeau, même si Marc est pas là, Capitaine Cadeau, lui, ne prend jamais de répit.
Okay. Il est toujours là.
Alors, comment on va fonctionner? Ça va être par texto 25226. Le prix, c'est deux paires de billets, pas une, deux. Deux paires de billets pour le Salon de l'habitation. C'est au centre des congrès de Lévis que ça a lieu, le Salon de l'habitation, du 18 au 20 janvier. Donc, c'est en fin de semaine prochaine, finalement, là. 18 au 20 janvier, Salon de l'habitation. Alors, tout ce qui est rénovation, de l'aménagement, se loger, puis que vous soyez en mode réno ou pas, hein, parce que si vous faites des réno, ben là, vous sautez là-dessus, c'est sûr, tu sais, il va y avoir des inspirations, des conférences, des spécialistes.
Moi, j'appelle ça le salon « On se crée des besoins ».
Exactement.
Tu t'en vas là-bas, puis tu fais « Oh, j'avais pas vu ça comme ça, ça. Dans ça, c'est
si vous n'êtes pas en réno, il n'y a pas de raison de pas réaménager le salon.
Ben oui, t'sais? Un petit objet, là, tu sais, une petite affaire à acheter, là, qui coûte 3 000 $, si peu.
Alors, ce que vous allez faire, c'est qu'au 25-226, pour mettre la main sur une des deux paires de billets pour le salon de l'habitation au Centre des congrès le week-end prochain, vous nous textez au 25-226 le surnom d'Isabelle Lacasse. Parce que Isabelle Lacasse, comme vous l'entendez depuis le début de la matinée, remplace Marc Boilard, qui est allé se faire chauffer la couenne sur les plages de la Floride.
Mm-hmm.
Je l'ai mentionné ce matin à 8h, puis à 7h. Ça fait que c'est les gens qui écoutent soit depuis longtemps ou qui sont très attentifs. Le surnom d'Isabelle Lacasse, au 25-226, vous nous écrivez dans quelques minutes. Je nomme les gagnants. Parlant d'Isabelle Lacasse, Isabelle, tu voulais revenir sur une nouvelle de la semaine. C'est cette nouvelle comme... l'archevêché de Montréal qui s'est comme un peu impliqué, sans que personne le demande,
ouais,
dans le débat sur les cours d'éducation sexuelle à l'école.
Moi, je considère que c'est la nouvelle choquante de cette semaine.
Okay.
Ça a fait couler beaucoup d'encre et je pense pas c'est pas terminé. Alors, l'archevêché de Montréal qui a décidé de nous inviter finalement à retirer nos enfants de leur classe d'éducation sexuelle pour que les parents donnent, dans le fond, ce nouveau cours-là obligatoire. Pour respecter, cette phrase m'agace profondément, respecter la pudeur naturelle des jeunes. Alors, quand on commence à lire la plupart des articles, on se rend compte que c'est surtout pour les heures obligatoires aux primaires qui chatouilleraient l'archevêché de Montréal, plutôt qu'au secondaire.
Mm-hmm.
Je vous rappelle que c'est 5 heures aux primaires, hein, par année, 5 heures.
Oui, c'est ça, pas 5 heures par semaine.
Par année.
5 heures par année.
Seulement. Et 15 heures par année au secondaire. Ouais. Alors, ce n'est pas énorme, on va se le dire. Et oui, ça devient obligatoire et c'est sous base volontaire pour les enseignants. Alors, les enseignants auront ou ont eu une formation et ils doivent dispenser ces heures-là au courant de l'année. Je suis allée voir quand même sur Amazon parce que, tu sais, on parlait de que ça coûtait 10 $ là, que tu peux l'acheter pour 10 $.
Ouais,
cette
ouais.
réflexion pour susciter le dialogue parents-enfants sur le programme Éducation à la sexualité du ministère de l'Éducation du Québec de la maternelle à la troisième année du primaire. Alors, c'est pour ça que je dis qu'ils s'attaquent davantage à ce qu'on propose finalement aux primaires. Alors, ils reprennent les thèmes de ce programme et c'est comme si tu achetais dans le fond ce feuillet-là et que tu décidais de faire l'école à la maison, donc comme tu le désirais. Ce qui me dérange beaucoup là-dedans, c'est que on parle qu'on est dans une société dite peut-être plus libérale, où on est capable d'aborder des sujets chez nous.
On essaie que ce soit laïque. Là,
on essaie, tu sais, en plus. Puis finalement, ça demeure des sujets tabous parce que il y a des gens qui ont quand même acheté ce feuillet-là. Et
moi, je dois dire qu'il y a quand même j'ai une nuance à apporter. C'est-à-dire... ce que disait, parce qu'il y a un cardiologue qui a été, qui est comme impliqué dans la rédaction du cahier.
Le docteur Raouf Ayas.
C'est ça. Lui, ce qu'il disait, c'est qu'il y avait un malaise à ce qu'on parle d'agression sexuelle puis de viol à des enfants de 6 ans puis 7 ans. C'est un exemple très précis. Cela dit, moi, qu'on remette en question certains détails du cours en disant, il y a peut-être un malaise à l'égard de tel thème pour tel groupe d'âge ou tel truc. Moi, je pas trop mal à l'aise avec ça, dans la mesure où il y a des gens dans la vie qui sont des spécialistes de la pédagogie et qui sont donc littéralement, qui sont allés à l'école et qui connaissent mieux que moi le développement des enfants, puis ce qu'on peut leur apprendre en fonction de l'âge. Puis, tu sais, à 6-7 ans, moi, j'en ai côtoyé des enfants de 6-7 ans, j'ai fait 10 ans de terrain de jeu, là. Puis à 6-7 ans, là, ce qu'il faut que t'apprennes aux enfants, là, c'est que le pénis du garçon puis la vulve de la fille, c'est des parties privées, puis qu'on garde ça pour nous, puis qu'à la limite, ça prend une hygiène, puis faut les laver à tous les jours. Tu sais, ça a l'air fou, mais pour moi, c'est un peu ça, le cours d'éducation sexuelle à 6-7 ans. Fait qu'on remette en question certains détails du cours, moi, j'ai pas trop de malaise avec ça. Ce qui m'agace, c'est qu'on propose de rendre le cours facultatif. Et qu'on dise, ah, by the way, on vend un livre à 10$ qui répond aux exigences du ministère adapté à la perspective de l'Église.
Oui.
Ça, j'ai un gros malaise avec ça.
Extrême gros malaise avec ça. On juge parfois dans les médias et dans notre société d'autres religions pour d'autres façons de faire.
Ouais.
Puis là, lorsqu'on parle de la religion chrétienne catholique, ça passerait.
Je
suis pas d'accord du tout avec ça.
Puis on a sorti sous tente des écoles puis des hôpitaux. C'est pas pour qu'ils rentrent par la grande porte. Je m'excuse, là, mais moi, donc... C'est correct. Si l'Église veut dire, ah, nous, on est d'accord, on n'est pas d'accord, c'est bien correct. C'est une institution comme une autre. Mais qui propose de rendre à des parents qui ont peut-être des craintes légitimes, là, qui ont peut-être des doutes légitimes sur le contenu du cours et qui devraient se rassembler puis poser des questions au ministère puis se mobiliser s'ils sentent le besoin de se mobiliser, que l'Église vienne récupérer un peu ces inquiétudes-là pour dire le cours devrait être facultatif, devrait pas être obligatoire et les gens devraient pouvoir faire ça à la maison. Ça, pour moi, c'est un retour en arrière. En passant à des cours facultatifs, il y en a, hein. Histoire, géo, chimie, physique, musique, en secondaire 4-5, là, secondaire 5, là, t'en as plein de cours facultatifs. Mais t'as suivi des cours de base de géo, t'as suivi des cours de base d'histoire dans le cursus, t'as suivi des cours de base de musique puis d'art plastique aussi, tu sais, puis des cours de sciences physiques qui rassemblent la chimie puis la physique. Alors, il y a une base qui est obligatoire et après, en secondaire 5, à 16-17 ans, les élèves font un choix d'option de cours. Le cours d'éducation sexuelle, là, les 5 heures au primaire puis les 15 heures au secondaire, c'est même pas proche d'être la base d'un de ces cours-là en termes de quantité d'heures. C'est à peine 15 heures.
Et c'est de se mettre la tête dans le sable en pensant que même les enfants au primaire, peut-être le deuxième cycle, par exemple, ne parlent ou ne pensent pas à la sexualité ou ne commencent pas à se poser des questions. Alors, faut arrêter de penser qu'on les protège en ne leur parlant pas de ça, parce que des fois, c'est en parlant, justement, qu'on laisse tomber des tabous, des gènes aussi, de se dire « Ah, oh, ben j'ai déjà pensé à ça. » Puis finalement, la prof, elle en a parlé. Puis c'est aussi, parce que moi, j'ai posé la question, pourquoi ce ne sont pas des sexologues qui vont dans les classes discuter avec les enfants?
Ben oui.
La réponse qu'on a eue par rapport à ça, c'est que les professeurs développent une relation de complicité avec leurs étudiants, au primaire comme au secondaire, et que des fois, c'est plus facile de passer un message à l'intérieur du cours par ce professeur-là, au lieu que ça soit une personne extérieure qu'on ne connaît pas, qui va venir juste 2-3 fois dans l'année jaser. C'est discutable, ça aussi.
Ouais.
En même temps,
il y a des avantages, des inconvénients.
Exactement.
Ouais,
oui. Mais des fois, je me dis, bon, ben, au moins, ils ont une formation, ces professeurs-là. Il faut qu'il y ait une formation parce que le professeur, lui, doit être à l'aise de passer ce message-là. C'est pour ça que des fois, dans certaines écoles, il manque de professeurs volontaires, là. Il y a des écoles qui se retrouvent avec d'autres situations de dire, bon, ben là, on va faire appel à quelqu'un ou s'est laissé au coin, etc.
Ben oui, les profs ne veulent pas se retrouver avec le fardeau de données. Ben, avec le fardeau, pas juste de donner les enseignements puis les heures, machin, mais après ça, d'avoir des parents qui se plaignent parce que leur enfant a entendu parler de telle affaire, puis ça aussi, ça va venir avec le fait que le prof donne des cours d'éducation sexuelle.
Mais il faut donner une chance à ce programme-là d'arriver enfin.
Ben oui, t'as raison.
Il faut qu'il arrive enfin. Il faut qu'on le teste. Je dis pas que les cobayes, c'est les étudiants, mais parce qu'il y a quand même, il y a des gens qui ont réfléchi à ce programme-là. Mais il faut partir la machine, parce que moi, je suis une ancienne de la formation personnelle et sociale. J'ai eu ces cours-là.
Oui.
Mais quand même, ça avait son utilité. Et donc là, il faut revenir à quelque chose, au moins de base.
Puis je dois dire, moi, d'emblée, je suis biaisé, je l'avoue. Là. Je vous dis tout de suite, là, j'ai un biais, c'est-à-dire que pour moi, la religion et l'Église, c'est deux affaires complètement différentes. La religion, c'est un ensemble de valeurs, un ensemble de croyances qu'une personne partage avec une autre personne, deux personnes qui sont de la même religion. Mm-hmm. Et c'est personnel. La pratique religieuse est personnelle aussi. Puis
tu sépares les deux.
C'est-à-dire que pour moi, la religion, c'est un ensemble de valeurs. Puis l'Église, c'est une institution. Puis l'institution est très politique. Mm. Tu comprends?
Ouais.
Moi, j'ai appris les prières quand j'étais petit parce que ma grand-mère était très pratiquante.
Okay.
Puis elle m'apprenait, je connais encore le Je crois en Dieu par cœur. Je suis la seule personne de ma génération qui connaît le Je crois en Dieu. Mes chums, ils connaissent pas le Je crois en Dieu, tu sais. Puis j'apprenais l'acte de contrition, puis l'acte d'amour et de charité. Ma grand-mère m'apprenait ça. Puis à Noël, on allait à l'église, puis les mariages, puis les funérailles, ça se fait à l'église, puis à part qu'on allait à l'église aussi, tu sais. Bon, il y en a pas à chaque semaine comme ma grand-mère. Puis à un moment donné, on s'est rendu compte que c'était surtout pour faire plaisir à ma grand-mère qu'on allait à l'église. Ma grand-mère qui est aujourd'hui décédée. Ça fait partie de la tradition familiale quand même. Mais pour moi, j'ai un gros malaise avec le fait que l'institution politique se mêle du système d'éducation en disant « Oh, la sexualité, un instant, c'est la job des parents. » Qu'ils aient raison ou qu'ils aient tort, j'ai d'emblée un malaise avec le fait que l'institution se mêle de ces choses-là. C'est pour ça que je te dis, je suis biaisé à la base, tu sais.
Non, non. Puis je pense que, en tout cas, on verra ce que ça va donner, le cours d'éducation à la sexualité. Mais, comme tu dis, l'Église n'a pas sa place. Ils n'ont pas d'affaire à donner leur opinion par rapport à ça. Et s'il vous plaît, n'allez pas sur Amazon acheter leur feuillet de 10$.
On a des gagnants pour notre concours de tout à l'heure. On a des gagnants pour le salon de l'habitation qui a lieu le week-end prochain au Centre des congrès de Québec du 18 au 20 janvier, salon de l'habitation. Les deux personnes ont eu la bonne réponse à la question qui était « Quel est le surnom d'Isabelle Lacasse en remplacement de Marc Boilard ce week-end? » Lacasse Noisette, mesdames, messieurs. Bonne réponse. Alors, les gagnants seront les deux premières personnes. Il y a plusieurs personnes qui ont écrit « Casse-noisette ». Attention, c'est « La casse-noisette ».
Ah oui, merci ça, d'être précis.
Ça, c'est très important.
Faut pas oublier le « là » devant.
Et comme il y a beaucoup de personnes qui ont la bonne réponse, ben, je prends les deux premiers.
OK, d'accord.
Les deux premiers à avoir écrit « La casse-noisette » ou « Isabelle, la casse-noisette », ça marchait aussi. Là. Okay. Les deux réponses sont acceptées. Vous mettez la main sur une paire de billets pour le Salon de l'habitation le week-end prochain au Centre des congrès de Québec.
Que Québec se lève. On prend une petite pause. On vient ensuite. Restez là.
Que Québec se lève. Présenté par les orthésistes du pied de Québec. Vos pieds vous font souffrir? C'est simple, rapide, efficace et sans frais. 375 rue Soumande ou piedquebec.com.
OFM 93, c'est la grand-messe du rock. Les meilleurs bands. Les meilleurs tours de rock de tous les temps. Samedi et dimanche, dès 10h. Oh, avec François Jacques, yeah! Alias Jackie Pop. C'est la grand-messe du rock au FM 93.
Notre métier, professionnels de la route. À l'aide d'un programme rigoureux et d'équipements adaptés aux standards de l'industrie, nous sommes là pour vous l'enseigner. Notre formation en transport par camion du Centre de formation en transport de Charlebourg vous permettra, à votre tour, de parcourir le monde autrement.
Séance d'information au CFTC le 16 janvier à 19h. Tous les détails au cftc.qc.ca.
C'est la foire du patin de loisirs à l'entrepôt du hockey. Trouvez des patins de loisirs pour tous à des prix dérisoires. Comme des patins de loisirs pour hommes à seulement 59,99 ou pour juniors à 39,99. C'est jusqu'au 20 janvier seulement à l'entrepôt du hockey Québec et l'ancienne Lorette.
Merci de votre confiance. Les radiologistes et toute l'équipe de Clinix Imagerie et Intervention vous souhaitent une bonne année à tous. Que 2019 vous apporte bonheur, joie, santé et paix. Clinix, La Cité, Ménil et Val-Bélair. ClinixImagerie.com.
Il y a du nouveau chez Défi Laser. Cette année, Défi Laser devient Laser Game Evolution. Des nouveaux gilets, jusqu'à 6 équipes et 3 modes de tir. Aussi, un nouveau centre ouvre à Lévis pour la relâche 2019. Réservez maintenant. Défi Laser devient Laser Game Evolution.
Maison Adam.
C'est la grande vente de liquidation des surplus d'inventaire chez Maison Adam. José vous offre le très grand téléviseur Dell 75 pouces 4K HDR de Samsung à seulement 1521$ avec 1002$ de rabais et payé en juillet 2019. Pour faire le bon choix et être bien servi, passez voir José Adam et son équipe d'experts à la Maison Adam au 710 rue Bouvier.
Maison Adam. Bienvenue dans la technologie.
Il n'a jamais été aussi simple de se déplacer. Voici le Lyft, votre application de transport par excellence. Le Lyft vous connecte à un taxi, une ligne d'autobus, une ligne de métro. Vous choisissez comment vous rendre à destination. Vous y allez et vous en revenez facilement. Utilisez tout simplement l'appli Le Lyft et c'est parti. Téléchargez gratuitement le Lyft, l'appli pour les déplacements au Canada, en association avec Éducalcool.
Et si votre prochaine salle de bain comportait un magnifique comptoir de quartz? Et si ce comptoir était un cadeau?
Eh bien, c'est exactement ce qui arrive chez Orléans Cuisine Design.
Pour tout projet de cuisine et salle de bain, signé avant le 28 février 2019, Orléans Cuisine Design vous donne le comptoir de quartz pour la salle de bain et 500$ d'accessoires pour la cuisine. Vous faites faire seulement la cuisine, vous obtenez 500$ d'accessoires.
Orléans Cuisine Design sur le boulevard Saint-Anne et sur orleanscuisinedesign.com.
Jusqu'à 10h, vous écoutez Que Québec se lève.
Que Québec se lève au FM 93.
FM 93, ça me parle.
Samedi le 12 janvier 2019. Bonjour à tous, il est 8h31. Voici vos nouvelles avec Kevin Dupont.
Oui, bien Paul, le dossier du réseau de transport structurant de Québec vient d'être formellement transmis par le gouvernement du Québec au palier fédéral. Depuis la fin de l'année 2018, le projet détaillé a d'abord été déposé par la Ville de Québec au gouvernement du Québec et finalement, il est donc désormais entre les mains du gouvernement Trudeau. Le réseau structurant coûtera, on vous le rappelle, 3 milliards de dollars, entièrement financé par les deux paliers de gouvernement supérieur. De son côté, la Ville de Québec injectera 300 millions de dollars pour divers travaux d'aménagement en lien avec ce mégaprojet. Les habitants de Saint-Bernard-en-Beauce seront privés d'eau potable pour encore une année après une contamination qui aurait rendu plus de 300 citoyens malades l'été dernier. Depuis, il est recommandé en tout temps aux citoyens de Saint-Bernard de faire bouillir l'eau potable avant de la consommer. La mise en place d'un système efficace de traitement de l'eau pourrait permettre aux résidents de boire de l'eau du robinet selon la direction de la santé publique de Chaudière-Appalaches. Rappelons qu'en juillet dernier, 21 personnes avaient été infectées par une bactérie, dont 5 bébés de moins de 2 ans. Et un propriétaire d'immeuble à logement qui interdit à ses locataires de fumer du pot à l'intérieur ne les prive d'aucun droit. C'est la conclusion à laquelle en est venue la régie du logement en décembre dernier concernant un locataire qui affirmait se voir ainsi retirer son droit maintenant que la consommation de cannabis est légale. Un juge administratif a indiqué que puisque la consommation était illégale au moment de la signature du bail, les propriétaires ne retirent aucun droit aux locataires. Ce droit n'existait tout simplement pas.
Aujourd'hui à Québec, il fait frette en tabarslac. Ça, c'est selon l'échelle de Charon de la météo. Alors, c'est une échelle très précise. Des fois, c'est frais. D'autres fois, c'est froid. Puis, t'as frette. Puis, t'as frette en tabarslac.
Ça, c'est comme le haut de l'échelle.
Ouais, c'est, là, on est frette en tabarslac. Le maximum est à moins 15 cet après-midi. Sous un ciel variable, c'est dégagé la nuit prochaine, minimum moins 20. Je vous épargne le vent. Demain, c'est semblable. Demain, c'est plein soleil, pas un nuage dans le ciel. Moins 14 au mercure. Il y aura du vent aussi. Donc, on va ressentir un petit peu plus froid que ça encore. Même chose pour lundi, principalement du soleil, très froid. En fait, il va faire froid essentiellement jusqu'à mercredi, parce que mercredi, c'est de la neige. Puis d'habitude, quand il neige, le mercure remonte un petit peu. Moins 5 mercredi. Écoute, ça va être... vous allez me trouver en bedaine sur la grande allée tellement... tellement on va être bien à moins 5 après les grands froids d'en fin de semaine. Présentement, c'est moins 20 et on ressent avec le vent moins 30.
Dans la Ligue nationale de hockey, l'attaquant Rick Nash annonce sa retraite du hockey après 15 saisons dans le circuit Bateman. Lui est âgé de 34 ans. Il a joué 11 matchs seulement la saison dernière avec les Bruins de Boston. Il faut rappeler qu'il avait également évolué avec les Rangers de New York et les Blue Jackets de Columbus un peu plus tôt dans sa carrière. Dans la NFL, c'est les demi-finales d'association qui débutent aujourd'hui. Les Colts d'Indianapolis seront dès 16h35 à Kansas City pour y affronter les Chiefs. Et dans un autre duel, les Cowboys de Dallas vont affronter les Rams de Los Angeles. Le botté d'envoi a lieu à 20h15 ce soir. Et au baseball, le receveur québécois Russell Martin a été échangé des Blue Jays de Toronto aux Dodgers de LA. L'athlète de 35 ans avait commencé sa carrière dans les ligues majeures avec les Dodgers, notamment en 2006. En retour, les Jays ont obtenu deux joueurs des ligues mineures.
Que Québec se lève.
Que Québec se lève. FM 93. Ça me parle.
Avant de passer à mon prochain invité, quelques réactions que vous avez eues dans les dernières minutes aux nombreux sujets qu'on a abordés. À part les nombreux Isabelle Lacasse-Noisette qui sont rentrés. Le surnom d'Isabelle Lacasse, ma co-animatrice du week-end. Mm-hmm. Concernant Caroline Néron, quelqu'un nous dit, avant d'aller de l'avant dans de nouveaux projets, ou en tout cas dans le redressement de sa compagnie, là, elle devrait commencer par payer ses employés. C'est une réflexion que j'ai eue. Mm-hmm. Ça, je veux dire, qu'est-ce que tu fais avec les employés? Parce que souvent, quand c'est un syndic de faillite là qui récupère la compagnie, ben, ils vont prendre des ententes avec les créanciers de 10 cents dans la pièce, 15 cents dans la pièce. Donc, 10 à 15, elle va réussir à payer 10 à 15 % des dettes. Les créanciers finissent par accepter parce que c'est ça ou zéro.
Ouais.
Ça fait qu'ils prennent des ententes comme ça, mais les employés, tu peux pas les payer 10 cents dans la pièce.
Non.
Tu peux pas payer 10 % des salaires qu'elle doit. Je vous rappelle qu'elle doit 360 000 $ en salaire à ses employés. C'est l'équivalent de 2000 $ par tête de pipe.
Oui. C'est
maintenant,
beaucoup d'argent.
On le sait pas si elle doit de l'argent à certaines succursales ou certains types d'emplois. Ça, on le sait pas. Mais la moyenne là, des employés, ça fait 2000 $ par tête de pipe. C'est pas mal de monde.
Ouais.
Cela dit, il y a un programme fédéral de protection des salariés qui existe. Alors, si l'entreprise fait faillite, ben les gens peuvent se retourner vers un programme fédéral pour être indemnisés.
Ah bon? Okay.
Est-ce qu'ils indemnisent à 100 %? Je peux pas te le dire.
OK.
Mais ça viendrait amoindrir ça déjà. Mais c'est quelque chose que je comprends pas, par exemple. Ça. Comment une compagnie peut omettre de payer des salaires longtemps comme ça? Tu sais, il me semble, à un moment donné, comme employé, tu dis, là, en plus, on t'a pénurie de main-d'œuvre, là, je comprends que c'est plat de changer de job, mais un employeur qui te paye pas, qui dit, ah, non, l'entreprise va très bien, y a pas de problème, mais on peut pas te payer, cette paye-ci.
Ouais, ben, j'avoue.
Qu'est-ce qui se passe, là?
Parce que le montant est élevé, là, quand même. Alors, c'est des gens qui, ça fait plusieurs, parce que c'est pas nécessairement 2 000 $ par chaque personne. Il y a peut-être des gens qui ont été payés, mais d'autres vraiment pas.
Il y en a peut-être que c'est 5, 6 000, là.
Exact.
Puis, donc, c'est des accumulations de paye impayé. En tout cas, c'est des détails qu'on n'a pas. Au 25-2-6, une personne illustre. Très souvent, l'entrepreneur pense qu'avec 5 piastres de gaz, il va se rendre à Montréal, mais non, il doit remettre encore un autre 5 piastres. Il emprunte, et ainsi de suite. Finalement, le banquier met le haut là et tout le monde est surpris. Mm. Ben, c'est une façon quand même d'illustrer que effectivement, les entrepreneurs doivent investir de l'argent dans leurs entreprises en espérant un retour. Ouais. C'est souvent comme ça que ça se passe. Alors, jusqu'à quel point t'investis quand t'as pas encore de retour? C'est ce que bien des gens qui travaillent dans des industries plus traditionnelles reprochent aux géants du web, aux géants comme Uber, qui investissent des marchés, mais genre j'avais la discussion avec Marc à un moment donné qui a une agence de rencontres sur Internet.
Oui.
Puis il me disait, tu sais, Tinder, là, ils ont de l'argent à l'infini. Fait qu'eux autres, là, c'est pas grave s'ils sont pas rentables pendant 10 ans. Il y a pas une compagnie qui peut ne pas être rentable pendant 10 ans puis investir à l'infini. Ils ont les poches sans fond.
Ah oui.
Sauf qu'à un moment donné, quand ils ont inondé le marché puis qu'il y a plus d'autres compétiteurs parce que ceux qui essayaient de survivre n'ont pas survécu, ah ben là, ils vont mettre de la pub ou ils vont mettre des abonnements. Ou bon, ils vont marchander puis là, ben, ça va devenir payant. Tu comprends?
Ouais.
Alors, ça, c'est sûr que peut-être que Mme Néron a investi, puis à un moment donné, puis emprunté.
En espérant toujours avoir un retour de ses investissements.
Puis à un moment donné, ben, il y a quelqu'un qui a mis le frein en disant, c'est parce que là, on s'en va par le gouffre. Quelqu'un nous dit, c'est encore une surcharge qu'on veut mettre sur le dos des profs, le cours d'éducation sexuelle.
Il y en a beaucoup qui disent ça. Beaucoup de professeurs sont mécontents de ça. Je peux comprendre. C'est sûr qu'ils ont une charge de travail assez grande déjà. D'où mon idée de dire des fois, est-ce que ça aurait été mieux qu'une sexologue, par exemple, ait 3-4 écoles, puis elle fait le tour pour donner les cours? Je sais pas. C'est un point d'interrogation.
Puis tu vois, je te dis ça, mais moi, je me souviens de l'intervenant en toxicomanie qui est venu une fois de temps en temps dans notre école secondaire.
Ouais.
Puis comme élève, je me souviens très bien, il en avait eu deux, un gars puis une fille. Le gars peut pas dire qu'il était particulièrement sharp, là. T'sais. Il faisait pas grand-chose. Il nous donnait des surnoms pendant 45 minutes. Puis la demi-heure qui restait, il nous disait pas prendre de drogue, là. T'sais, c'était pas extraordinaire. La fille était meilleure. Elle arrivait avec un diaporama PowerPoint. Puis elle nous expliquait
j'espère que c'était pas Marc Bollard qui donnait des surnoms pendant 45
ouais,
minutes.
Ouais, c'était un de ses chums, d'après moi, un surnommiste, lui aussi. Mais l'affaire, c'est que pour les élèves, là, c'est comme une période de c'est une période de congé parce
c'est
que
ça.
Là, ben, tu sais, la personne n'est pas nécessairement apte à faire la discipline comme le prof le fait.
Tandis que si tu aimes ton professeur, par exemple, cette année, puis c'est lui qui pense cette matière-là, ça risque de te marquer davantage puis de comprendre mieux la matière.
Ouais.
Mais c'est discutable. Je comprends pour les professeurs, c'est encore une autre affaire, tu sais.
Ouais, c'est ça. Puis d'un autre côté, l'utilité du cours d'éducation sexuelle, tout comme l'utilité du cours d'éducation financière, pour moi, c'est des incontournables.
Mm-hmm.
C'est des incontournables. Alors, est-ce qu'il faut trouver un moyen d'alléger la tâche des profs, puis je sais pas, là, de donner une compensation quelconque? C'est vrai que c'est complexe, mais ça peut pas être le cours qui écope. Il faut qu'on trouve une solution pour que ces cours-là soient dispensés de la bonne façon dans les écoles. Et enfin, une personne au 25-226, ça va me permettre d'aller rejoindre notre prochaine invité qui est très patient au téléphone, parce qu'il y a quelqu'un qui dit « Uber a perdu 10 milliards en 2017 ». C'est l'auditeur qui le dit, j'ai pas les chiffres sous les yeux, là. Mais il dit « toujours pas une scène de profit ». Hein, quand je vous dis que des fois, il y a des entreprises, d'énormes entreprises qui investissent, qui inondent des marchés, mais ils ont comme des moyens infinis. C'est pas grave, longtemps d'être déficitaire. Je sais pas si c'est les vrais chiffres, ce que l'auditeur dit, mais l'image reste qu'il y a beaucoup d'entreprises pour lesquelles c'est comme ça. Mon prochain invité a décidé, ne reculant devant rien, que lui, il fondait une entreprise qui va concurrencer Uber. On en entend parler dans les médias depuis 2 jours.
Oui,
vraiment,
sans cesse.
De manière extraordinaire. C'est Raphaël Godreau qui est cofondateur de l'entreprise Eva, d'autopartage ou de transport de personnes alternatifs. Bonjour Raphaël.
Bonjour, ça va bien?
Oui, ça va très bien. D'abord, parle-moi de l'idée de départ qui a mené à la fondation de votre compagnie. Vous êtes parti de où, là?
Ben, en fait, d'où on est parti, on était toutes les deux, on se posait des questions. En fait, c'était en à peu près septembre 2017. Il y avait des problèmes, on voyait dans les médias qu'il y avait des problèmes au niveau du renouvellement du projet pilote d'Uber. Uber menaçait de quitter. Et nous, on se disait, il me semble que c'est un service technologique qui est supérieur. Tu sais, les gens aiment utiliser Uber. Puis la fidélité d'utilisation est super bonne. Mm-hmm. Mais le problème qu'il y a avec ce service-là, c'est que c'est pas vraiment de l'économie collaborative. Uber se dit un partage entre un membre conducteur qui est un travailleur autonome et un membre passager. Mais le problème, c'est qu'en gros, c'est de l'agrégation. C'est une compagnie qui ramasse 25% qui arrive de l'extérieur. Et nous, on s'est dit, une technologie comme ça, c'est dans nos moyens de développer. On va le faire. Puis pourquoi pas essayer? Fait que depuis ce temps-là, mon ami est descendu à l'Université Laval. On n'a pas dormi de la nuit. Puis on a lancé Eva. Puis depuis ce temps-là, ben bon, c'est pris des bureaux, on a développé la technologie, puis on s'est lancé là à fond dans ce projet-là.
Mais donc, Raphaël, Uber perçoit 25% des revenus là des courses de ses chauffeurs. Vous, vous prenez 15% plutôt que 25%. Est-ce que c'est la seule différence qui fait de vous une entreprise plus collaborative qu'Uber?
Ben, en fait, non. C'est que nous, l'organisation de la compagnie, c'est une coopérative. Donc, les membres votent, par exemple, sur les tarifs à chaque année. Ensuite, à la fin de l'année, quand il y a des profits, les membres peuvent décider s'il y a des restos. Donc, il y a des retours aux conducteurs lorsqu'il y a profit enregistré, dépendamment là, des dépenses de la coopérative qui est faite au cours de l'année. Donc, c'est vraiment la structure de l'entreprise aussi là, qui donne cette organisation-là, qui est vraiment une coopérative entre les membres des travailleurs. Donc, les gens qui font la technologie, les conducteurs qui sont vraiment ceux qui proviennent de ce service,
ouais.
Et puis là, les consommateurs, les utilisateurs, les passagers.
Mais Raphaël, je disais il y a à peine 2 ou 3 minutes, qu'Uber, la stratégie de Uber était d'inonder le marché, mais vraiment d'inonder les marchés partout où ils passent. Comment comptez-vous faire en sorte qu'Eva, votre compagnie, qui va concurrencer Uber, réussisse à sortir la tête de cette inondation-là?
Ben en fait, c'est que nous autres, on joue gros sur la technologie avec laquelle on a développé notre application. Les gens, lorsqu'ils l'utilisent, ne voient pas nécessairement la différence en termes d'expérience utilisateur. Mais selon nous, ça fait grande partie de l'avenir. Là, c'est que nous, on utilise la chaîne de blocs. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler
du blockchain.
Oui, c'est la technologie, dans le fond, qui est utilisée, par exemple, par Bitcoin. Mais en dehors là, de toute la consommation d'électricité, cette technologie-là, elle a eu le temps de se développer beaucoup. Et ensuite, ça fait 10 ans que le Bitcoin a été créé. Là. Puis maintenant, c'est possible de faire des applications qui sont totalement décentralisées. Donc, nous, on crée vraiment une infrastructure que les membres utilisent. Et puis, cette technologie-là, elle est décentralisée. Ça veut dire que nous, on n'a pas de serveur. C'est plusieurs serveurs un peu partout dans le monde là, qui exécutent ça. Donc, nous, à l'échelle internationale, on mise beaucoup sur le développement de cette technologie-là, mais pour là, les utilisateurs, la seule différence, c'est que leurs données sont sécures. Donc, nous, on vend pas les données des utilisateurs.
Mais ça va vous prendre une fortune d'investissement en marketing pour simplement que les gens vous connaissent, non?
Oui, ça va prendre beaucoup d'argent pour mettre en marche là, un plan de marketing pour concurrencer une entreprise comme Uber. Ça, c'est une certitude. Mais on pense tout de même là qu'il y a de la place dans le marché pour un joueur là qui est socialement socialement correct envers ses conducteurs et puis ses consommateurs. Mm-hmm.
Là, vous allez attaquer les marchés de Québec, Montréal et Gatineau. Et je lisais que vous avez eu des discussions avec François Bonnardel avant son élection. Je pense qu'il était déjà favorable à votre projet. Est-ce que rapidement, lorsqu'il a été élu, vous vous êtes contacté puis vous vous êtes rencontré pour avoir le go?
En fait, oui. Ça s'est fait assez rapidement, là, à notre grande surprise. Ça a pris, là, depuis les élections... Ça s'est fait vraiment rapidement et puis dès qu'il est arrivé, là, on a pu contacter. En fait, il y avait une réponse maintenant au niveau du ministère des Transports. Parce que pendant que c'était le gouvernement libéral, il y avait juste on avait de la misère là, à assurer une communication. Et puis nous, on était un peu dans le néant parce qu'on travaillait sur une technologie. Puis là, on se disait est-ce que finalement on va pouvoir se lancer au Québec en premier? Est-ce qu'on doit lancer notre service en Ontario, puisque le Québec là, nous ouvre même pas la communication.
Est-ce que ça vous est arrivé, Raphaël, dans le processus de craindre la réaction de l'industrie du taxi traditionnel? Parce que quand Uber est arrivé, laisse-moi dire que ça manifestait, puis les taxis n'étaient pas très contents.
Puis ça chiale encore.
Ça chiale encore. Est-ce que ça vous est arrivé de vous dire, si bon, là, on va se mettre à dos l'industrie traditionnelle?
En fait, nous autres, on voit pas notre service comme mutuellement exclusif avec l'industrie du taxi. Je veux dire, nous, on veut même intégrer là, l'industrie du taxi, comme par exemple, quand il n'y a pas de membres conducteurs qui sont en ligne. Nous, le point de vue qu'on s'est donné, c'est vraiment qu'en ce moment, il y a une entreprise américaine qui a le monopole au Québec pour ce type d'activité-là. On s'est dit, nous, on veut créer notre entreprise ici qui va pouvoir opérer dans les mêmes activités. C'est sûr que on est conscient aussi de la situation là, dans laquelle l'industrie du taxi se porte. Et puis nous, ce qu'on essaie d'apporter, c'est une solution là, pour l'avenir.
Ça veut dire qu'un chauffeur de taxi ou un chauffeur d'Uber pourrait aussi être un chauffeur EVA?
Oui, en fait, nous, les conducteurs, on est en période de test depuis octobre dernier. Et puis les conducteurs là qui nous ont aidés, qui sont déjà enregistrés dans la plateforme pour tester, il y en a à peu près là déjà une vingtaine. Et là depuis hier, les inscriptions montent beaucoup. c'est des conducteurs Uber, déjà des conducteurs Uber. Donc, étant donné que c'est les mêmes restrictions pour devenir conducteur Uber et EVA, les deux sont éligibles. Puis nous, on a fait notre application, notre ingénierie, pour que le tout là, soit compatible. Par exemple, quand les gens ont l'application Uber ouverte, ben, ils vont recevoir en tâche arrière-plan des notifications pour faire du EVA en même temps.
Oh, mais Raphaël, là, je viens de comprendre comment vous devez le faire, votre marketing. Les chauffeurs Uber qui sont en ce moment, là, qui ont passé les tests, parce qu'il y a une réglementation qui a quand même été imposée, faut qu'ils passent certains tests, qui répondent à certaines exigences. Les chauffeurs d'Uber, eux autres, dans le fond, s'ils nous écoutent en ce moment, là, ce qu'ils entendent, c'est... Uber me prend 25 % EVA 15 % puis je peux passer de l'un à l'autre en un claquement de doigts.
Exactement. Ils peuvent faire les deux en même temps. Ils perdent pas leur temps en faisant du Uber parce que ils peuvent faire les deux. Donc, il n'y a pas d'appel sur EVA. Ils peuvent faire du Uber, pas d'appel sur Uber. Ils peuvent faire du EVA. Puis, ils peuvent référer des gens là, s'ils aiment le service en plus.
OK. Merci, Raphaël, d'avoir pris du temps pour nous aujourd'hui. C'est fort intéressant.
Ça nous fait plaisir, puis je vous souhaite une super agréable journée.
Merci à toi aussi, Raphaël Godreau, cofondateur de l'entreprise EVA, qui compte concurrencer Uber. Mm-hmm. Jusqu'à la toute fin de l'entrevue, je comprenais pas comment il allait faire ça, parce que c'est une entreprise qui a infini d'argent. C'est comme il y a tellement d'argent qu'ils peuvent être déficitaires là, pendant un méchant bout de temps.
Mais des fois, ça donne on a envie d'encourager une entreprise québécoise. Alors, il y a, oui, y a tout l'effet de la curiosité. Je comprends.
Je suis d'accord, mais à long terme.
Je comprends.
Tu sais, encourager la compagnie, parfait, oui, mais ça reste pour moi un impact qui sera probablement pas nécessaire pour assurer la pérennité de cette compagnie-là. Mais là, tu y passes 30 secondes et tu te dis OK, t'as un peu. Un chauffeur de taxi.
Il peut avoir plein de plateformes dans son
brancher,
taxi, branché.
Il pourrait faire du taxi, du Uber puis du EVA,
ben
finalement.
Oui. Ben oui.
Ça fait que quand il n'y a pas d'appel, il est plugué sur toutes les plateformes, puis il fait ses affaires. Ben. Quoi que je ne sais pas, par exemple, un chauffeur de taxi, je sais que vous êtes nombreux à nous écouter, les chauffeurs de taxi au 25226, je devrais savoir, par exemple, si vous n'avez pas d'appel officiellement, par exemple, au 5191, là, si la centrale ne vous réfère pas d'appel... À quel point vous pouvez circuler dans la ville, faire du Uber? Est-ce que vous faites-vous taper ses doigts par la coop?
Peut-être.
Ou est-ce que, à un moment donné, les déplacements, ça peut-tu venir jouer sur le fait que tu te déplaces d'un endroit à un autre, puis là, tu sors d'une zone? Parce qu'il y a des affaires de zone aussi, là.
Mm-hmm.
Au 25226, tu vois, il y a Alain, qui est un auditeur régulier, qui nous dit qu'ils n'ont pas le droit. Mais est-ce que c'est parce que c'est la coop qui l'interdit ou parce qu'il y a vraiment des facteurs qui font en sorte que tu sors de la zone ou c'est comme si tu faisais une course non déclarée à la coop?
Ça m'étonnerait pas. Je pense que quand tu as tes heures de travail, par exemple, avec la compagnie de taxi, tu dois travailler pour la compagnie, tu comprends?
Ouais, c'est ça.
Puis là, en dehors de ces heures-là, si tu décides de faire du Uber, là, c'est autre chose.
Ouais, OK, on prend une courte pause, on revient avec vos réactions après.
Que Québec se lève.
De retour, après la pause.
Que Québec se lève, présenté par les orthésistes du pied de Québec. Vos pieds vous font souffrir? C'est simple, rapide, efficace et sans frais. 375 rue Soumande ou piedquebec.com.
Myriam Segal, Luc Lavoie.
Écoute, Marc, le 30 septembre dernier, là, j'ai été pris dans un guet-apens. Puis là, j'ai été critique puis méchant. Alors, je t'offre aujourd'hui mes plus sincères excuses.
Monsieur Bergevin?
Oh, mais ben, accepté.
Luc Lavoie, la question qui tue. Est-ce que ça fait mal
s'excuser? Dans ce cas-là, non.
C'est Lavoie, le midi. Lundi au vendredi, 11h.
L'équipe du casse-croûte Pierrot souhaite à sa fidèle clientèle une bonne année 2019. Pour vos fringales de fin de soirée, n'oubliez pas que le casse-croûte est ouvert 24 heures et que le service de livraison est disponible jusqu'à 5h30 du matin en tout temps. Pour info, 529-4273, casse-croûte-pierrot.com.
Depuis 1983, Laube-Rivière a aidé plus de 120 000 personnes en apportant soutien et réconfort à ceux qui en ont besoin. Des services de base au programme de formation jusqu'à la réinsertion sociale. Aujourd'hui, Laube-Rivière a besoin de vous. Rallumez des vies en répondant généreusement à leurs sollicitations postales ou faites votre don à laubrivière.org. Pour rallumer des vies, donnons. Laube-Rivière remercie ses partenaires sous la présidence d'honneur de la Caisse des Jardins du Québec. Collaboration FM 93.
Aux yeux de tous les parents, les enfants sont uniques. Malheureusement, les enfants qui souffrent d'une maladie orpheline le sont encore plus. Et la médecine est limitée pour eux. JOIA, qui signifie joie, s'est donné pour mission d'offrir à ses enfants une multitude de soins et d'activités en pleine nature afin qu'ils s'épanouissent pleinement. Soyez généreux. Vos dons leur permettront de renouer avec leur pouvoir d'émerveillement. Visitez lesenfantsgioia.com.
Un ami m'appelle pour dîner? On va à l'atelier. J'ai quelque chose à fêter? Je vais à l'atelier. C'est pas compliqué. Je suis toujours rendu à l'atelier. Vous faites quoi mercredi? Moi, je profite du jazz et huîtres de l'atelier. Dès 17h, on s'installe bien confortablement. C'est ambiance trio jazz et on profite des fameuses huîtres de l'atelier à 1$. C'est tellement parfait. Vous comprenez pourquoi je suis toujours rendu à l'atelier. Le Bistrot L'Atelier sur Grande Allée.
Si la musique dans les pubs de 1-800-GOT-JUNK met de bonne humeur,
c'est parce qu'on aime aller dans votre grenier
et dans les coins sombres de votre sous-sol.
On fait disparaître la junk.
N'importe où.
N'importe quand.
Il vous suffit de pointer et ça disparaît. Et si nos camions brillent et nos uniformes sont propres,
c'est parce qu'on est fiers de ce qu'on fait.
On est les authentiques.
Et les leaders dans notre domaine.
Il vous suffit de pointer et ça disparaît.
Appelez au 1-800-GOT-JUNK ou visitez le 1-800-GOT-JUNK.com.
Jusqu'à 10h, vous écoutez Que Québec se lève.
Au FM 93.
FM 93. Ça me parle.
Alors, c'est interdit par les coops. C'est les coops de taxi qui interdisent à leurs chauffeurs de faire du Uber ou, en l'occurrence, du Eva.
C'est logique, par exemple. Ben, protège cette entreprise-là aussi.
Je comprends, mais il reste que moi, si j'étais un chauffeur de taxi... Même si les chauffeurs se sont dressés devant Uber parce que c'était l'envahisseur, je les comprends très bien d'ailleurs, j'aurais fait la même affaire à leur place, je me dis, si tu penses égoïstement, là, toi t'es un chauffeur, t'es dans ton auto, puis tu te dis, je pourrais être plugué sur le 5191 par exemple, la coop, je pourrais être plugué sur Uber, je pourrais être plugué sur Eva, ben, est-ce que ça viendrait pas juste maximiser le nombre de courses que tu peux faire, ce qui finalement maximise tes revenus? Tu sais, je veux dire, il me semble, c'est ouais, ça le but ultime, là.
Gars, reprends-le dans le métier qu'on fait présentement. Si tu disais, bon, ben là, je travaille au FM 93 le samedi, dimanche matin, ouais. Et j'ai un temps libre le mercredi après-midi que je peux aller faire, j'ai le compétiteur, je vais aller le faire.
Ouais, t'as raison.
Je trouve que ça fonctionne pas.
Les boss aimeraient pas ça.
Non,
t'as raison.
Les boss aimeraient pas ça. Tu garderais tes emplois.
Ouais, t'as raison. Parce qu'il y a aussi l'autre affaire que je trouve intéressante, c'est qu'avec la réglementation, les chauffeurs de taxi, les chauffeurs d'Uber maintenant doivent faire inspecter leur voiture et doivent suivre des formations. Puis ça, c'est ce que demandaient évidemment les chauffeurs de taxi parce qu'ils disaient, coudonc, hormis les permis qui ont perdu une valeur importante quand Uber est débarqué puis qu'eux autres, ils n'ont pas besoin de permis, si la voiture, maintenant les voitures d'Uber sont inspectées aussi, sont en fonction des demandes des chauffeurs de taxi. Donc si ta voiture, là, juste l'auto, si ta voiture est réglo pour faire du taxi, elle est pour faire du Uber.
Ouais, ouais.
Forcément.
Comme toi, ta voiture là est pas réglo.
Elle est pas réglo.
Tu peux pas faire ça, ok, non? Va pas te chercher un permis, Eva, l'application.
Non, je passerai pas le test. Hey, il y a d'autres façons. Il y a d'autres façons de faire de l'argent, ça a de l'air.
Ah oui?
Ouais, t'achètes un penthouse de luxe à Montréal, dans le Vieux-Montréal. T'achètes ça genre 2, quelques millions. Puis tu le revends 4,5 millions 5 ans plus tard. Pouf! 2 millions de profit.
Extraordinaire.
C'est ce qui est arrivé à l'ex-première ministre du Québec, Pauline Marois, et son mari, M. Blanchette, qui ont acheté en 2013 un chic penthouse d'une valeur de 2,5 millions. C'est le mari qui a acheté le chic penthouse et qui l'ont revendu 4,6 millions de dollars, 2,1 millions de dollars de profit en 5 ans.
Ça, c'est une affaire. Ça, c'est bon. C'est un bon deal.
Aucune demande de permis de construction a été faite à la Ville de Montréal. Mais ça a l'air que les valeurs de luxe, les habitations de luxe prennent la valeur rapidement. Puis que, pouf, alors grâce aux deux chambres à coucher, aux trois salles de bain, à de très hauts plafonds, un grand îlot en marbre Kalakata dans la cuisine. Je sais même pas c'est quoi du marbre Kalakata. Ah,
mais oui, du marbre Kalakata, tout le monde connaît ça, Paul, franchement.
Kevin, ses murs chez eux sont dans son... Ses murs de son 5,5 sont en marbre Kalakata.
Mais je pense que ce qui fait augmenter aussi la valeur, je sais pas si c'est marqué là-dedans, là, mais les centaines de casseroles, tu sais, ça doit valoir quand même un certain montant. Là.
Non, mais sont plus bonnes depuis qu'elle fait ses dessus, sont rendus bossés, les casseroles. As-tu, Kevin, chez vous, as-tu aussi une cuisinière au gaz Wolf à 5 brûleurs?
Bien évidemment, j'en ai deux. Oui.
As-tu un four Gageneau?
Toujours.
Ah, OK. Puis tu dois avoir évidemment un réfrigérateur double et 4 tiroirs de congélateur Sub-Zero.
Et ça prend vraiment de la place. Honnêtement, pour les déchets, là, ça doit être parfait, Paul. Pour congeler tes déchets, tu devrais avoir...
Oui. Pensez-vous que je peux acheter le congélateur de Pauline Marois, mais sans acheter le penthouse? Ah ben non, mais là, je peux plus.
Va falloir que tu parles au nouveau propriétaire américain.
Ouais, qui est un richissime médecin américain. Qui a acheté ça, mais ça a l'air, lui, il a acheté ça pour avoir un pied à terre à Montréal.
Ah bon, c'est beau, la vie.
Il habitera même pas là. Il voulait un pied à terre à Montréal, et selon Mme Kaufman, l'agente immobilière de la société Sotheby's, la société de propriété de luxe, elle a dit, ah oui, mais pour ces gens-là, 4,6 millions, là...
C'est rien.
C'est rien, là, tu sais. Alors moi, j'ai une antiquité à vendre, mon char. Je l'ai acheté 15 cents, puis ça fait pas tout à fait 5 ans. Alors, si je suis la logique, techniquement, je pourrais le vendre 4-5 000.
Ben oui.
S'il y a quelqu'un qui est prêt à me donner 5 000 pour mon char, moi, je le vends. 5 000, je le vends.
Mais Paul, il en a pas parlé encore, mais il commence à avoir des petites annonces de gens qui disent, sais-tu, moi, j'ai une voiture à vendre, tu serais peut-être intéressé.
J'avais oublié, mais je voulais absolument vous lire le courriel d'une Isabelle qui nous écrit au studio à commercial FM93.com qui dit, bon matin, je vous ai entendu parler ce matin que votre véhicule est en défaut. Ça tombe bien, le mien est à vendre.
Yes!
Oh, wow!
Ah, fait qu'un beau Honda Civic 2014 automatique évalué à 14 300 par CAA, elle me le laisse à 1300.
1300 ou 13 000?
13 000, excuse-moi. Qu'est-ce que j'ai dit? 14 000? Non, c'est ça. Un peu. On va dire les choses comme il faut. 14 300, c'est l'évaluation de CAA. 13 000, elle me fait un rabais de 1300. Un rabais de la valeur de mon char actuel.
Ben quelle générosité.
C'est gentil, Isabelle, mais mon char est pas assez en défaut pour que je le change encore. Je compte me rendre jusqu'à 25 ans pour qu'il soit officiellement reconnu comme étant...
C'est idiot, cette histoire-là.
Bon, madame, s'il vous plaît, qu'il soit officiellement reconnu comme...
Vestige?
Une antiquité. Ouais, une antiquité, c'est 25 ans.
Que Québec se lève.
Que Québec se lève.
De retour dans quelques instants.
FM 93.
Que Québec se lève. Présenté par les orthésistes du pied de Québec. Vos pieds vous font souffrir? C'est simple, rapide, efficace et sans frais. 375 rue Soumande ou piedquebec.com.
Le Québec vibre au rythme du Canadien.
Ce soir, 18h, le Canadien reçoit l'Avalanche.
Il passe au centre, il attaque, il se déploie. Voilà Tatar maintenant. Il est au cercle gauche, il s'arrête. Chassé croisé, remet à Petrie, tire de l'enclave et go! Jeff Petrie!
Le hockey du Canadien vous est présenté par Essor Assurance. Essor et les Canadiens de Montréal, le tandem parfait.
Le réseau Cogeco, radiodiffuseur officiel du Canadien de Montréal. Au FM 93.
Pour une maison, un jumelé, un condo ou un logement sur la Rive-Sud, c'est Construction Régent Morin. Les modèles à visiter, plans sur mesure, services de décoration. Obtenez un rabais de 10 000 sur terrain sans voisin arrière avec signature en janvier. Visitez régentmorin.com.
Tu cherches un ou une partenaire pour réaliser tes fantasmes? Inscris-toi sur jalf.com, le site de rencontre pour adultes le plus hot au Québec. Seul ou en couple, inscris-toi gratuitement sur jalf. JALF.com.
C'est le temps de se prendre en main avec les Studios Unis. En janvier seulement, profitez de 3 cours de karaté ou de boxe pour 19,95. De plus, le kimono ou les gants de boxe sont offerts gratuitement avec un abonnement de 3 mois. En janvier seulement, visitez studiouni.com.
Il n'a jamais été aussi simple de se déplacer. Voici le Lyft, votre application de transport par excellence. Le Lyft vous connecte à un taxi, une ligne d'autobus, une ligne de métro. Vous choisissez comment vous rendre à destination. Vous y allez et vous en revenez facilement. Utilisez tout simplement l'appli Le Lyft et c'est parti. Téléchargez gratuitement le Lyft, l'appli pour les déplacements au Canada, en association avec Éducalcool.
Et si votre prochaine salle de bain comportait un magnifique comptoir de quartz? Et si ce comptoir était un cadeau? Eh bien, c'est exactement ce qui arrive chez Orléans Cuisine Design. Pour tout projet de cuisine et salle de bain, signé avant le 28 février 2019, Orléans Cuisine Design vous donne le comptoir de quartz pour la salle de bain et 500 $ d'accessoires pour la cuisine. Vous faites faire seulement la cuisine, vous obtenez 500 $ d'accessoires. Orléans Cuisine Design sur le boulevard Saint-Anne et sur orleanscuisinedesign.com.
Courez la chance de gagner la maison Fondation Maurice Tanguay Novo Climat ou 500 000 $ en argent. Il vous suffit simplement d'acheter votre billet au coût de 10 $ seulement chez Ameublement Tanguay, Normandin, les Brunet participants, chez La Tulipe ou sur maisontanguay.com. La maison Fondation Maurice Tanguay Novo Climat est présentée par Mercedes-Benz de Québec pour le bonheur des enfants handicapés. Une collaboration de TVA, Journal de Québec, J5 et Salut Bonjour Week-end.
FM 93, ça me parle.
Ça me parle de ce qui m'intéresse, ce qui se passe dans ma ville.
93.
Ça me parle avec Sylvain Bouchard, Doc Mayou, José Arsenault, Myriam Segal, Luc Lavoie, Éric Duhem, Dan Pou, Paul-Raphaël Charon, Marc Boilard.
93.
C'est mes enjeux, mes intérêts, ma vie. Ça vient me chercher, ça m'interpelle. Ça me parle.
FM 93, ça me parle.
La planète n'arrête pas de tourner parce que c'est le week-end. Restez informés en écoutant Que Québec se lève avec Paul-Raphaël Charon et Marc Boilard. Jusqu'à 10h, vous écoutez Que Québec se lève.
Que Québec se lève au FM 93.
FM 93, ça me parle.
Il faut absolument que j'apporte le correctif, mais c'est inacceptable. Même s'il est 9h03 et nous sommes samedi le 12 janvier 2019, ça dit Paul-Raphaël Charon et Marc Boilard. Non, messieurs, dames, non! Marc est parti se dorloter, se faire chauffer la couenne sur les plages de la Floride. D'ailleurs, on pourrait l'appeler demain. Il est en vacances, donc on pourrait le déranger. On va l'appeler demain juste pour qu'il nous accueille un peu.
On pourrait le déranger avec... à 7h pile, juste pour dire.
Ouais. On l'appelle à 7h sur son cellulaire, là, juste pour qu'il se rappelle qu'il est en vacances, mais qu'ici, il fait frette.
Ouais.
Et d'ici là... C'est Isabelle Lacasse qui est avec moi ce matin. Bonjour Isabelle.
Salut.
C'est un plaisir de travailler avec toi. Écoute, on a une gang de majorettes dans notre studio
qui
sont super contentes de t'accueillir, elle aussi. Merci d'être là, Isabelle. C'est vraiment le fun de travailler avec toi.
C'est la même chose pour moi. Vraiment très agréable. Kevin et Paul, vraiment.
Ah oui, c'est surtout le fun avec Kevin.
Non, c'est le fun avec toi aussi.
D'ailleurs, Kevin, je te laisse le crachoir, évidemment, pour le tour de l'actualité.
Oui, bien, triste nouvelle du côté de Ottawa. Il y a 3 personnes qui ont été tuées et 23 autres qui ont été blessé hier lorsqu'un autobus impérial à destination de Kanata a heurté un abribus. L'accident s'est produit à 15h50 en pleine heure de pointe à la gare de Westboro, en banlieue ouest de la capitale. 2 des victimes étaient dans l'autobus, l'autre était dans l'abribus. Hier en soirée, le centre de traumatologie de l'hôpital d'Ottawa disait avoir reçu 9 patients dans un état grave. La police enquête sur la cause de l'accident. D'ailleurs, la chauffeuse d'autobus a été arrêtée et interrogée par les enquêteurs. Elle a été relâchée en fin de soirée et ne fait face à aucune accusation pour l'instant. Une automobiliste de 26 ans a été arrêtée à la suite d'un délit de fuite survenu hier en Beauce. L'événement s'est produit à l'intersection de la 25e rue et de la 30e avenue à Saint-Georges-de-Beauce. Selon la SQ, la jeune femme était au volant d'un camion qui aurait percuté un automobile, blessant le conducteur de la voiture grièvement. Un des passagers du camion a subi d'ailleurs des blessures mineures. Les autorités affirment que la conductrice du camion conduisait en état d'ébriété, qu'elle n'avait pas de permis de conduite en sa possession et qu'une fois arrivée au poste de police, elle aurait commis des entraves et des voies de fait envers les policiers. Et un multirécidiviste en matière de violence conjugale veut punir Facebook qui refuse de lui transmettre des données. L'avocat de Steve Genet a plaidé hier matin au Palais de justice de Québec dans le but que le géant du web soit condamné à payer 50 000 $ pour outrage au tribunal après avoir omis de se présenter en cour hier matin. Facebook ne répond pas à une ordonnance du tribunal qui l'oblige de fournir les commentaires, partages et réactions à une publication faite sur les réseaux sociaux par un dénonciateur.
C'est un matin grasse matinée. Vraiment, là, être capable de rester à la maison, prendre un café et passer de la position horizontale dans le lit à la position horizontale sur le divan, là, franchement, si vous avez cette chance-là ce matin, c'est un luxe.
On dirait quasiment un numéro du Cirque du Soleil, ce que tu décrivais.
C'est de la gymnastique du repos. Parce que vraiment, c'est un froid polaire ce matin à Québec. Il fait pas froid, il fait frette. Moins 15, c'est le maximum qu'on va atteindre aujourd'hui, c'est bien pour dire. Le plus chaud de la journée, mesdames, messieurs, c'est moins 15. Je vous épargne le vent. Heureusement, c'est sous un ciel variable, donc il y aura quand même du soleil au courant de la journée. C'est plus encourageant quand on regarde dehors puis qu'il fait soleil, tu sais. Mais de l'intérieur, idéalement. La nuit prochaine, minimum moins 20 avec des passages nuageux. Demain, même chose, plein soleil. Max, moins 14, mais avec du vent, c'est plus froid que ça. C'est pareil aussi pour lundi. En fait, là où ça va commencer à s'adoucir un peu, c'est mercredi. 5 à 10 cm de neige, donc le mercure monte un peu avec un max de moins 5 pour le milieu de la semaine. Présentement, avec le vent à Québec, on ressent moins 30.
Dans la Ligue nationale de hockey, le Canadien de Montréal va tenter de ce soir de renouer avec la victoire. Il accueille l'Avalanche du Colorado, le Canadien qui occupe présentement le 9e rang dans l'Est, tout juste derrière les Sabres et les Islanders. Hockey junior, les Remparts ont eu le dessus 2-1 face aux Tigres de Victoriaville. Alexis Sergueïev et Pierre-Olivier Lacombe ont marqué dans la victoire. Le prochain match des Remparts, c'est demain 15h du côté de Drummondville. Et dans le monde du baseball, les Blue Jays de Toronto ont fait signer un contrat d'un an à 8 joueurs qui auraient pu être admissibles à l'arbitrage, dont Marcus Stroman, Aaron Sanchez et Kevin Pillar. Le joueur vedette des Red Sox de Boston, Mookie Betts, a accepté un contrat, quant à lui, d'un an d'une valeur de 20 millions de dollars avec l'équipe.
On a appris cette semaine que la caisse de Jardins du Vieux-Québec allait cesser ses activités le 25 janvier, donc dans à peine quelques jours, le 25 janvier, la Caisse des Jardins du Vieux-Québec, la seule qui restait dans le secteur, allait fermer. C'est d'ailleurs le sujet de la chronique de François Bourque d'hier dans Le Soleil. Donc, évidemment, c'est pas sans déplaire aux commerçants qui perdent leur point de service pour tout ce qui est dépôt, aller chercher de la monnaie et compagnie. D'ailleurs, il y a un des commerçants qui est cité dans le journal qui dit, ben, on avait Post Canada qui était là, on l'a perdu. Il y avait une société des alcools. On l'a perdu. Il y avait, tu sais, il y a 5-6 ans, il y avait plusieurs commerces qui sont plus là. Des pharmacies, il y a pas grand chose d'informatie. Il y en a qui ferment. Alors, c'est comme si le secteur du Vieux-Québec, là, qui a toujours été très commercial et touristique, est vraiment comme en train de devenir presque exclusivement commercial et touristique. Parce que pour les gens qui habitent dans le Vieux-Québec, ben, c'est difficile parce que là, les restos, c'est bien beau, mais c'est pas ça des services de proximité. La boutique Souvenir dans le Petit Champlain, c'est pas un service de proximité.
Non.
C'est un service pour les touristes, tu sais. Et la Caisse Desjardins justifie ce choix-là en disant que, ben, il y a une diminution importante du nombre de transactions au comptoir et que la baisse est attribuable à des changements dans les habitudes de la clientèle. Parce que c'est sûr que les gens utilisent de plus en plus accéder dans le code Desjardins. Les plateformes en ligne de toutes les banques, finalement, là.
De temps en temps, le guichet automatique, par exemple, si t'es touriste dans le coin puis t'as besoin de monnaie, pis tu viens d'arriver, par exemple, puis que tu veux un peu d'argent, bon, tu vas aller chercher de l'argent au guichet automatique, mais tu iras pas au comptoir,
non,
par
c'est
exemple.
Ça. Là, ou les personnes plus âgées qui sont pas à l'aise avec accéder, compagnie, et même qui sont pas à l'aise avec les guichets, parce qu'il y en a, ben, aller au comptoir. Le guichet va rester là. Ça, honnêtement, c'est la bonne nouvelle. Parce que, je comprends très bien les commerçants. Je le sais, j'ai travaillé dans un commerce où fallait aller à la caisse, tu sais, chercher des rouleaux de change, puis aller faire des dépôts, puis ça, faut que ça se fasse au comptoir, tu sais. Alors ça, c'est vrai que c'est plate. Maintenant, pour les citoyens, une fermeture de comptoir, pour moi, ça change plus grand-chose, là. Puis c'est pas, je veux pas être antipathique, mais aller faire ces transactions au comptoir, là.
Mais ça reste de l'ordre, des fois, peut-être de la nostalgie, parce que tu dis, ça fait X nombre d'années que je vais dans cette succursale-là, et comme je suis résidente du coin, je vois très bien que tous ces commerces-là qu'on a besoin, par exemple, dans la vie, en parenthèse, de tous les jours, ben, ça disparaît. Donc, c'est plus dans ce sens-là, parce que je pense que si on faisait un vox pop de tous les résidents autour, ceux qui utilisent fréquemment le comptoir, la réponse serait très peu souvent.
C'est ça, absolument.
Mais de voir que j'ai plus cet accès-là, si le jour où j'en aurai besoin, c'est plus dans cet ordre-là que ça chatouille, finalement.
Et là où je trouve ça plus difficile, c'est que c'est les personnes plus âgées qui vont écoper, parce que c'est non seulement ceux qui utilisent le plus le comptoir, mais c'est aussi ceux qui ont plus de chances d'avoir de la difficulté, ont le moins de mobilité, là, tu sais.
Ouais.
Plus de chances d'avoir de la difficulté à se déplacer aux quatre coins de la ville pour aller faire leurs courses, tu sais.
Ouais, ouais.
Alors c'est ça, c'est vrai que c'est difficile. Maintenant, heureusement que le guichet est encore là. heureusement. Parce que Desjardins a la fâcheuse manie depuis un bout de temps de fermer les guichets un peu partout, là. Mm. Puis ça, ça m'agace. Ça, ça m'agace beaucoup parce que je comprends que les habitudes des gens changent, c'est vrai. Moi, le premier, là, je fais presque toutes mes transactions par Internet, par accédé ou avec ma carte. Mais je dépose encore des chèques au guichet, puis je vais encore faire des retraits au guichet. Puis, j'avais déjà interviewé Guy Cormier, le PDG là, de Desjardins.
Oui.
Puis il me disait, oui, mais là, l'entretien d'un guichet, ça coûte tant. Puis la durée de vie d'un guichet, c'est à peu près tant. Donc, on retire la flotte des guichets dont la durée de vie achève. Puis là, ils veulent les remplacer par des super guichets automatiques, intelligents, la grosse patente. Puis je me disais, d'abord, la durée de vie d'un guichet automatique, je m'excuse, là, je pense qu'il disait 15 ans. Sous toute réserve, il me semble que c'était 15 ans. M'excuse, là, mais un guichet automatique, là, ça n'a pas besoin d'être un MacBook Pro, là. On va dire, non, mais il y a 4 pitons de chaque bord, puis, tu sais, tu rentres ta petite feuille dans le crack.
Tu connais pas la machine, Paul, tu sais pas.
T'as raison.
Hein?
Puis l'autre affaire, c'est que l'entretien d'un guichet, c'est pas les mêmes coûts qu'entretenir un comptoir. Tu comprends? Fait que je peux être indulgent avec les fermetures de comptoir. Puis je te dis ça dans le Vieux-Québec, mais en région, je trouve ça encore plus rough.
Oui.
Moi, j'ai tout le temps derrière la tête l'espoir que Desjardins redevienne une vraie coop. Puis écoute, je fais attention à ce que je dis, mais d'un autre côté, parce que légalement, c'est encore une coop.
Mm-hmm.
Mais entre vous et moi, là, je sais pas c'est quand la dernière fois que vous avez eu une ristourne qui avait du bon sens, vous, là, mais... Puis c'est un problème qu'il n'y a pas de bout, Desjardins, parce que les gens vont... Puis moi, le premier, j'y vais pas à l'assemblée annuelle de ma caisse, là.
Mais non, il va pas.
Qui va à l'assemblée annuelle de la caisse? Personne. Un très petit échantillon des gens qui sont membres d'une caisse.
Mm-hmm.
Mais c'est là que les décisions se prennent. Fait que Desjardins, ils se braquent tout le temps derrière le fait que, ah oui, mais le vote des membres. Mais les membres, t'as pas quorum. Il y a 1% des membres qui votent, tu sais, ouais. Même pas. Fait que... Eux autres, ils se cachent derrière le fait qu'ils ont fait une assemblée générale, mais après, ils ferment des caisses partout en région. Il y a des villages, là, je m'excuse, là. Il y a des villages que si la caisse pop ferme, là, il n'y a plus grand-chose, là.
Non, puis c'est surtout que tu dois faire de nombreux kilomètres pour trouver ton guichet automatique pour avoir un peu d'argent. Parce que même si, effectivement, on paie beaucoup avec nos cartes, tu sais, c'est vrai qu'on n'a plus autant d'argent dans nos portefeuilles. Il reste que pour les petites choses, des fois, on a quand même besoin d'argent. C'est intéressant d'avoir accès à un guichet pas tellement loin de chez nous.
Puis je me serais attendu de la part de la coop, hein, parce que tu te dis la coop est au service de ses membres. Puis ce que les membres veulent, ben la coop l'exécute. Normalement, c'est un peu ça, la logique. Ben moi, je me serais attendu à ce que, plutôt qu'ils ferment des guichets partout, puis que tu sois obligé de prendre ton auto pour aller au guichet maintenant, ben qu'ils laissent une couple de guichets, qu'ils les entretiennent, tu sais, avec l'argent des membres, justement, pour que ça soit encore possible d'aller au guichet à pied, tu sais.
Ouais.
Là, ben,
il devrait y avoir des associations avec des commerces qu'on sait qui fermeront pas. L'épicerie, la pharmacie, par exemple, où ça existe déjà, là, t'es dans des stations d'essence, t'as un guichet automatique qui est là, mais des fois, c'est un guichet où les frais, ça coûte à peu près 4$, là, si tu veux te sortir un 20$, ça a quasiment pas de bon sens.
Là,
oui, exactement. Mais tu sais, comme une vraie collaboration avec, je sais pas, là, Desjardins, Jean Coutu, puis tu t'en vas, le guichet est là. Puis s'ils veulent plus de guichet, ben, qu'on puisse, avec notre carte, sortir de l'argent à la caisse.
Pourquoi pas avec
la personne de la caisse?
C'est pas bête.
La caissière, pourquoi pas?
Mais donc, évidemment, les commerçants du Québec qui vont devoir faire un bout de chemin pour aller faire le dépôt puis pour aller retirer leur argent. C'est des choses qui arrivent.
Mm.
Au 25-226, il y a quelqu'un qui me dit « Coudon, tu ne déposes pas tes chèques par Internet? » Je sais que ça se fait. Moi, j'ai toujours dit que j'étais une vieille personne dans le corps d'un jeune. Hein?
OK.
Il y a bien des affaires là, où je suis pas le rythme de ma génération. Puis les gens plus âgés que moi vont pas mal plus vite que moi, honnêtement. Là. Mais je le sais que c'est possible. Je fais une confession publique ce matin. Je sais pas comment.
D'accord.
J'ai cherché d'en accéder. Je sais pas. J'ai checké dans l'application. Je sais pas comment déposer un chèque. Je sais que tu peux le prendre en photo puis qu'il y a une méthode.
As-tu lu le manuel?
Elle sait pas comment.
Kevin, d'après moi, va falloir lui donner un petit cours après l'émission.
Un petit cours 101, hein?
J'aimerais ça. Je veux répondre à Marielle qui m'accuse de faire du Desjardins bashing, un nouveau terme que je connaissais pas. Elle dit, si votre coop est si importante, allez donc à l'Assemblée puis exprimez-vous. Ben, tu sais quoi? T'as raison, Marielle. Mm-hmm. C'est vrai. T'sais, c'est vrai que je parle à travers mon chapeau parce que j'y vais pas à l'Assemblée générale. Sauf qu'il y a un problème qui est plus grand que ça, dans le sens où, mettons que tout le monde se dit, OK, là, ma coop est importante, je vais aller à l'Assemblée générale, puis Je passe présentement le message sur les ondes publiques. Oyez, oyez, tous les auditeurs du FM 93. Vous trouvez que Desjardins est important? Allez à l'Assemblée générale. Combien de personnes de plus vont y aller?
Mais non, je sais pas.
Personne. Puis c'est pas un reproche que je vous fais. Moi-même, j'ai de la misère à y aller.
On
ne
se déplace plus au comptoir de Desjardins. Ben, on va pas se déplacer à l'Assemblée.
Alors, tu comprends? Il y a peut-être aussi un problème avec le modèle.
Peut-être.
Hein, parce qu'à un moment donné, c'est beau aussi de reprocher aux gens de pas faire l'effort, mais... Pour moi, le malaise est égal envers le fait que je me déplace pas à mon Assemblée générale et le fait que Desjardins, qui voit bien qu'il y a personne qui se déplace aux Assemblées générales, se servent de ces assemblées-là pour dire « il y a pas de problème à ce qu'on ferme tel guichet, tel comptoir, telle caisse ». T'sais, on s'entend, puis Marielle, on va être d'accord, peut-être que je plante un peu Desjardins, là, parce qu'il y a des affaires qui me choquent, mais la réalité, c'est que le modèle est pas efficace pleinement en ce moment, ça c'est certain. T'sais. Mm-hmm.
OK, quand j'entends ce thème que je suis chez moi puis que je t'écoute avec Marc et tout ça, je me dis tout le temps, oh my God. Mais là, de l'entendre live en studio comme ça avec les écouteurs, c'est encore pire, ce thème-là. J'adore ça.
C'est pas parce que Marc est en vacances et que c'est la très talentueuse Isabelle Lacasse qui le remplace qu'on va perdre nos bonnes habitudes. Alors, tu veux me parler, Isabelle, c'est une série ou un film? Je sais même pas, écoute.
C'est une série, j'avais hâte de vous en parler. Est-ce que vous êtes bon dans le ménage, les gars?
OK, attends.
Boy, ça, c'est une première question, question piège.
Je ne répondrai qu'en présence de mon avocat, mais il faut voir les étoiles s'illuminer dans les yeux d'Isabelle.
C'est un phénomène.
Même hier, en meeting, on passait à travers la liste de sujets qu'Isabelle avait préparé. Puis quand on est arrivé à ce sujet-là, écoute, les lumières, c'est haute, là, qui sont allumées dans les yeux d'Isabelle. Elle m'a dit, ça, je suis assez énervé de te parler de ça, là. Incroyable.
Bon, alors, c'est une série de 8 épisodes maintenant.
Okay.
Ça vient d'arriver le 1er janvier sur Netflix. Ça s'appelle Tidying Up with Marie Kondo. Marie Kondo, c'est une Japonaise qui est millionnaire parce que ça fait déjà plusieurs années qu'elle
elle
gagne...
doit vivre dans un méchant beau condo. Oh,
oh oui!
excusez, j'ai pas été capable.
Et elle, son cheval de bataille, c'est de faire d'aller chez les gens et de faire en sorte de les aider dans leur ménage parce que avec la surconsommation, on achète bien trop d'affaires, on voit plus par exemple les vêtements qu'on a dans notre garde-robe.
On accumule
beaucoup trop.
Ça c'est vrai que je fais
mais
ça.
Mais je recule plusieurs années avant. Moi, j'ai une gang de filles, on se voit souvent, ma gang de girls, et il y en a une qui dit "Hey, j'ai acheté un nouveau livre, c'est une japonaise, ça s'appelle Marie Kondo. Elle a sa théorie, ça s'appelle le KonMari. Puis j'ai fait le ménage de tout mon appartement, puis là, je respire, je me sens bien, c'est léger.
C'est comme le feng shui, mettons? Un genre de feng shui, mais qui s'appelle le KonMari.
Exact.
OK,
t'sais, si
OK,
tu veux.
OK.
Bref, faire une histoire courte, on s'est toutes passé ce livre-là et c'est devenu une expression dans ma gang de filles. On dit pas « j'ai fait, mettons, j'ai épuré ». Tu sais, c'est un beau mot, hein, « j'ai épuré » chez
ou,
nous.
Le terme technique là en décoration intérieure, « j'ai reviré mon salon de bord ».
Ouais, non, nous autres, on s'est fait un Marie Kondo. Tu comprends? Oh. Ça fait 6 ans qu'on se dit hey, « je me suis fait un Marie Kondo là, dans ma chambre, ça fait tellement du bien ». Et on comprend ce que l'autre veut dire. Ben maintenant, vous allez aussi me comprendre si vous regardez cette nouvelle série sur Netflix. La beauté de ça, c'est que cette Japonaise va chez les Américains, elle ne parle pas anglais.
OK, elle parle pas anglais.
Elle parle pas anglais, la madame. Elle dit « Hello, hello, how are you? Marie Kondo, hello, hello. » Elle arrive.
Marie Kondo!
Et elle arrive avec sa traductrice qui traduit.
Okay, ben oui, c'est
donc,
ça.
Des fois, c'est un peu cacophonique dans l'émission parce que là, t'entends la traductrice puis l'autre, c'est à côté. Bon, bref. Et là, elle va sauver les familles américaines. Ça n'a pas de bon sens. Il y a du monde qui ramasse des affaires. Et sa technique à elle, vous essaierez ça si vous êtes dans votre ménage du mois de janvier, là, par exemple. Il y en a beaucoup qui font le ménage à ce temps-ci.
Mm-hmm.
Par exemple, vous avez trop de vêtements. Vous avez 3 garde-robes, là, avec des vêtements pas possibles. Vous prenez tous vos vêtements dans toutes les garde-robes. Et là, vous mettez ça, mettons, sur un lit. Vous faites un tas immense,
tu fais
OK?
Tu fais juste parler du fait de sortir tous les vêtements que j'ai dans mon appartement, incluant ceux de ma blonde, les mettre sur le lit, là. J'angoisse.
Bon, ben c'est ça qui arrive. C'est ça qu'on voit dans l'émission. Puis là, elle va dire, est-ce que ce vêtement-là t'apporte de la joie, Paul, ou pas?
Oh boy!
Et c'est ça. Does it spark joy? Ça, c'est sa phrase. Spark joy? Yes?
Spark
no.
joy?
Yes?
No?
No? No.
Marie Kondo.
Fait que si tu dis non à la question, tu garoches pas ton petit chandail là, que tu mettras plus jamais à côté.
Non, c'est ça.
Faut que tu l'embrasses, tu dises merci à ce chandail et que tu le déposes dans ton sac vert que tu vas redonner, mettons, à un organisme.
J'imagine la personne qui a un walk-in, ça doit prendre au moins 2-3 jours certains de poser une question à chaque vêtement. Là.
C'est ça. Il y a, dans le deuxième épisode là, de cette série-là, elle va dans une famille, là, les enfants sont grands, sont partis, tout ça. Il y a tellement de choses dans la maison. Là. Ça a pris, je pense, 35 jours à faire
des séries qui sont
des
faites
ménages, là.
Juste sur le monde qui accumule. Là.
Oui,
il y a des séries,
ça existe.
En anglais, c'était horrible. Orders,
oui.
Buried alive. Donc, des ramasseurs oui. enterrés vivants. Là.
Exactement.
Mais là, ça ne doit pas être aussi pire que
c'est
ça.
C'est pas aussi pire. Puis, tu sais, elle n'est pas là pour relooker la maison, tout ça. C'est vraiment de te libérer de tout ce que tu as acheté. Puis, elle est toute menue, tout ça. Puis, tu arrives. Hello, hi. T'sais. Bref.
C'est sur Netflix?
C'est sur Netflix. Ça s'appelle Tidying Up with Marie Kondo. Alors, il y a 8 épisodes. Ça a commencé le 1er janvier dernier. Et c'est un plaisir coupable total de regarder cette émission-là.
J'en reviens pas qu'elle s'appelle Kondo.
Hey, en plus, j'ai pas dit, quand tu plies ces chandails, là, c'est ça l'affaire. C'est ça l'affaire du Marie Kondo, j'ai oublié de le dire.
C'est la manière de le plier.
Tu plies pas là tes t-shirts un par-dessus l'autre. Tes plis, mettons, un en arrière de l'autre. Ça se dit mal peut-être à la radio, mais bref, quand tu ouvres ton tiroir, tu vois tout bien enligné, tout ce que tu as.
Au lieu de les empiler, tes couches, tes
mets de côté,
places comme
mettons,
si c'était des filières dans un classeur.
Exact.
Là,
faut que tu les plies en petit rectangle. Elle montre tout ça, Marie Kondo, comment fait ça? Rectangle, thank you, spark joy. Yes, no, yes, no. C'est très cute, j'adore
ça. Hey, j'ai aussi une chronique télé pour toi, Isabelle.
Oui.
Parce que cette semaine, on a appris que la série Demain des hommes, écrite par Guillaume Vigneault, qui retrace la vie de jeunes joueurs de hockey de la Ligue junior majeure qui jouent pour une équipe fictive, l'équipe de Montferrand, les Foreurs de Montferrand. Les Foreurs, c'est ça?
Ou les Draveurs.
Excuse-moi. Les Draveurs de Montferrand. Donc, la série Demain des hommes aurait pas de deuxième saison. Puis,
c'est triste parce que c'était une bonne série.
C'est une très bonne série. Oh, j'ai le cœur brisé. Oh non, mais ça me manquait juste le violon pour que je verse une larme. Non, mais pas de farce, j'étais un peu triste parce que c'était vraiment une bonne série. Puis j'étais resté avec l'impression que c'était presque sûr qu'il y aurait une deuxième saison. Mm. Je sais pas pourquoi, ça n'avait pas été annoncé ni rien, mais moi j'étais convaincu qu'il allait avoir une deuxième saison. Mais non, c'est donc l'auteur Guillaume Vigneault qui a annoncé sur sa page Facebook que Demain des hommes ne reviendrait pas à Radio-Canada. Dominique Chaloux, qui est la directrice générale de Radio-Canada, si je ne me trompe pas, a expliqué, puis ça m'a surpris, elle a expliqué pendant une conférence téléphonique que donc la série avait bien fonctionné sur Tout.tv Extra, mais pas plus, pas moins que d'autres séries comme Cheval Serpent et Plan B. Moi, j'ai commencé Cheval Serpent, j'ai pas aimé ça tant que ça. J'ai écouté Plan B, la deuxième saison, j'ai manqué la première, mais Plan B, j'ai trouvé ça excellent.
Ouais.
Plan B, c'est cette entreprise qui permet de reculer dans le temps pour reprendre des erreurs de notre vie. Là. Bon, bref, et là, elle dit, Dominique Chaloux, on avait un choix à faire entre Demain des hommes et Faits divers.
Okay.
Il devait, je sais pas pourquoi il fallait que je choisisse entre les deux. Probablement des questions de budget.
Oui, ils ont des enveloppes budgétaires pour faire X nombre de séries pour remplir une grille automne, hiver, printemps, etc. Puis après ça, ben là, tu dois faire des choix par rapport à l'enveloppe budgétaire que tu as pour tes séries télé.
OK, c'est ça.
Et tu vois, bon, là, ça, c'est sa raison. Des fois, il y a d'autres raisons politiques et d'autres, il y a toujours d'autres raisons aussi qu'on n'évoque pas dans un communiqué, absolument.
Ah bon? Okay.
Et, mais là, même Faits divers est écourté quand même, là. Et c'est
six
pas une
épisodes.
Saison. C'est ça, c'est pas.
Mais je suis obligé de te dire, là, jamais j'aurais comparé deux séries télé pour dire j'aime mieux une telle qu'une telle parce que c'est comme comparer des pommes avec des oranges. Mais là, d'un autre côté, par ses propos, Dominique Chaloux fait en sorte que dans ma tête, j'ai pas le choix. Elle dit on avait le choix entre Faits divers et Demain des hommes. Puis je suis obligé de te dire que ce choix-là, moi, comme téléspectateur, me déçoit là beaucoup.
Avez-vous vu la pétition qui circule comme quoi il y a des gens justement qui réclamaient une deuxième...
Oui. Kevin, tu sais comment je ridiculise tout le temps les manifs, les pétitions, là? Je me suis dit, je vais partir une pétition. Sais-tu pourquoi? Je regardais ces réseaux sociaux, puis ça m'a permis un constat d'ailleurs. Il y a tellement eu une forte réaction au fait que cette série-là revienne pas. Il y en a plein des séries qui reviennent pas, puis d'autres qui reviennent, puis bon, puis on les écoute pas, mais en dépit des codes d'écoute, qui étaient corrects sans plus là, pour Demain des hommes.
C'était pas transcendant, la série, lorsqu'elle est passée à la télévision.
C'est
là, ça. T'sais?
Mais en même temps, elle était passée sur Tout.tv avant. Fait que moi, je prétends que, d'ailleurs, c'est mon cas, là, qu'il y a beaucoup de monde qui l'avait écouté sur Tout.tv avant.
Puis on donne jamais les chiffres
à télé.
De Tout.tv extra. Non. On donne pas les Radio-Canada dévoile pas les chiffres.
T'as les chiffres des enregistrements du Illico.
Ouais.
Mais ou ben du machin Bell.
Ouais.
Mais t'as pas les, effectivement les chiffres de Tout.tv. Puis ce que je constatais, c'est que les gens qui écrivaient shit, ça revient pas. Dans mon cercle, en tout cas, je sais pas si c'est pareil pour vous, mais c'était des gens, c'était beaucoup des hockeyeurs, des sportifs, des messieurs. C'est plein de stéréotypes ce que je dis, mais ça me dérange pas. C'était plein de gens que je connais. Pis c'est pas du monde qui écoute beaucoup de télé québécoise. Alors, c'est ce que j'aimais de cette série-là. J'avais l'impression qu'elle rejoignait des gens qui avaient un peu délaissé la télé québécoise. Puis je me disais, crime, c'est bon pour l'industrie, c'est bon pour la culture d'avoir une série comme celle-là qui va les rechercher, ces gens-là.
Mais aussi, je parlais de pétition, mais même hier, j'ai vu un groupe Facebook, une manifestation. C'était organisé le 10 mars prochain au casse-croûte de Montferrand. Fait que je souhaite vraiment bonne chance à tous et celles qui vont le chercher sur leur GPS parce qu'on se rappelle, c'est une ville fictive.
Oui, c'est ça, parce que Montferrand, ça n'existe pas. Mais bref, tout ça pour dire que... Ah, c'est ça, puis comme Dominique Chaloux dit, ben, choisir entre Faits divers et Demain des hommes, on n'avait pas le choix. Ça m'écœure un peu parce que je suis obligé de te dire que Faits divers, honnêtement, là, moi, c'est une série qui m'a déçu pas mal. La première saison m'a déçu. Puis la deuxième saison, j'ai trouvé mauvaise.
Mm.
Puis c'est pas mon genre de faire des mauvaises critiques à la radio juste pour planter une émission de TV. C'est juste que là, ben, j'ai le choix entre l'émission que j'aimais beaucoup puis celle que j'aimais beaucoup moins. Franchement, tu sais, il a fait divers, honnêtement, là, pour une série policière, là. Il y en a d'autres des séries policières et elles sont excellentes, là.
Mais c'est surtout aussi qu'on, par rapport à ces deux choix-là, on va pas chercher le même public. Alors, tu sais, on compare, on dit, on avait le choix entre cette série et l'autre série, mais si, tu parles à deux genres différents.
Absolument.
Alors, c'est ça qui est dommage parce que des fois, il y a des séries qui peuvent se comparer, comme tu disais, des séries policières. Des fois, tu peux en avoir dans l'autre deux séries un peu policières. Tu dis, bon, on a choisi finalement de garder celle-là pour une autre saison. Mais là, je trouve qu'on compare des pommes avec des oranges.
Mais Radio-Can a aussi comme mandat, tu sais, de sortir un peu des sentiers battus par moment. Ça fait, tu sais, comme ils ont fait avec des émissions comme Les Invincibles, comme Série Noire, c'était pas des succès de code d'écoute, là, mais il y avait une niche pour ça. Ça rassemblait une certaine...
Il y avait des fans pour ça.
C'est ça, il y avait des fans. Demain des hommes, ça avait des fans.
Oui.
Les gens qui ont écouté la série étaient peut-être moins nombreux qu'ailleurs, mais c'était des vrais, c'était des endurcis. Ils ont adoré cette série-là. Fait que j'aurais aimé un peu de courage de Radio-Canada de dire, ben, on va la ramener celle-là parce que, justement, ça ouvre les horizons. Ça ramène, finalement, des gens qui les ont abandonnés un petit peu. T'sais.
Guillaume Vigneault a terminé son texte en disant que, ben, finalement, il va falloir se rabattre sur la version anglophone avec sous-titres français.
Oui, parce que ça va être à CBC, t'as exact. Raison.
Une petite pause. On vient ensuite. Restez là.
Que Québec se lève. Présenté par les orthésistes du pied de Québec. Vos pieds vous font souffrir? C'est simple, rapide, efficace et sans frais. 375 rue Soumande ou piedquebec.com.
Étoile 93.3. Pour signaler un problème sur la route. Pour intervenir en onde. Pour réagir. Composez Étoile 93.3. 93.3.
Vous êtes propriétaire? Vous avez des dettes à taux élevés? Je peux vous aider à tout consolider, et ce, au meilleur taux d'intérêt. Pensez à moi, Marc-Olivier Tanguay, courtier hypothécaire des centres hypothécaires Dominion Summum. 418-655-3686, marcoliviertanguay.com.
Maison Adam.
C'est la grande vente de liquidation des surplus d'inventaire chez Maison Adam. José vous offre l'ensemble d'enceinte pour cinéma maison 5.1 Canton à seulement $697 avec $302 de rabais et payé en juillet 2019. Pour faire le bon choix et être bien servi, passez voir José Adam et son équipe d'experts à la Maison Adam au 710 rue Bouvier.
Maison Adam. Bienvenue dans la technologie.
Oli Mel présente Oli et Mel.
Mel?
Oui, Oli.
C'est toute la gamme de charcuterie, saucisses fumées, bacon, Oli Mel, 100% sans nitrite.
Ben oui.
Ce serait une bonne résolution de faire ses lunchs avec ça.
Tu dis? D'ailleurs, on parle de résolution de nouvelle année avec Julien.
Salut!
Vos résolutions sont-elles déjà prises?
Ah ben oui.
Wow.
J'ai même pris de l'avance pour pas y tenir.
Mais prenez-en de plus facile en adoptant les délicieuses charcuteries 100% sans nitrite de Oli Mel.
Ah ben, je vais prendre celle-là.
Bon, pis c'était quoi l'autre?
C'était rire quand mon beau-frère fait un jeu de mots.
Oli et Mel, des passionnés de charcuterie.
Le personnel et la direction des restaurants Quesada Burrito et Taco de Beauport et Vanier vous souhaitent une excellente année 2019. En janvier, on célèbre le retour du poulet borracho préparé avec de la tequila et du jus d'orange. Quesada, les joies du Mex.
Ça mord! Ça mord! La pêche aux petits poissons des chenaux à Sainte-Anne-de-la-Pérade est à son meilleur et les pourvoyeurs vous attendent de jour comme de nuit pour profiter de l'ambiance unique du village sur la glace. Pour les enfants, une panoplie d'activités extérieures. Initiez votre famille ou retrouvez-vous entre amis le temps d'une partie de pêche dans le confort d'un chalet chauffé bien équipé. Aucun permis n'est requis. Tout le matériel est fourni. Les petits poissons des chenaux à Sainte-Anne-de-la-Pérade, un incontournable cet hiver. Programmation et réservation, lespetitspoissons.ca. Invitation, Cogeco Média.
Et si votre prochaine salle de bain comportait un magnifique comptoir de quartz? Et si ce comptoir était un cadeau?
Eh bien, c'est exactement ce qui arrive chez Orléans Cuisine Design.
Pour tout projet de cuisine et salle de bain, signé avant le 28 février 2019, Orléans Cuisine Design vous donne le comptoir de quartz pour la salle de bain et 500 $ d'accessoires pour la cuisine. Vous faites faire seulement la cuisine, vous obtenez 500 $ d'accessoires. Orléans Cuisine Design sur le boulevard Saint-Anne et sur orleanscuisinedesign.com.
Si la musique dans les pubs de 1-800 Got Junk met de bonne humeur,
c'est parce qu'on aime aller dans votre grenier
et dans les coins sombres de votre sous-sol.
On fait disparaître la junk
n'importe où,
n'importe quand.
Il vous suffit de pointer et ça disparaît. Et si nos camions brillent et nos uniformes sont propres,
c'est parce qu'on est fiers de ce qu'on fait.
On est les authentiques
et les leaders dans notre domaine.
Il vous suffit de pointer et ça disparaît.
Appelez au 1-800-GOT-JUNK ou visitez le 1-800-GOT-JUNK.com.
Jusqu'à 10 heures, vous écoutez Que Québec se lève.
Que Québec se lève au FM 93.
FM 93, ça me parle.
9h32, nous sommes samedi le 12 janvier 2019. Bonjour à tous, bienvenue au FM 93. On va faire un dernier tour de l'actualité avec Kevin Dupont.
Il y a une célébration citoyenne qui aura lieu le 29 janvier prochain à l'Université Laval pour souligner le deuxième anniversaire de l'attentat à la Grande Mosquée de Québec. Pour éviter de longues heures passées au froid comme ce fut le cas l'an dernier, les organisateurs ont préféré tenir l'événement à l'intérieur. Ça aura donc lieu à l'atrium Jean-Guy Paquet du pavillon des Jardins des 19h. Les organisateurs attendent des centaines de personnes, dont le maire de Québec, Régis Labeaume. François Legault et Justin Trudeau ont également reçu une invitation. Un nouveau joueur pourra offrir des services de covoiturage à Québec, Montréal et Gatineau. Le ministre des Transports du Québec, François Bonnardel, a annoncé avoir autorisé la coopérative québécoise EVA à intervenir sur le même territoire que la multinationale Uber. En ce sens, il a modifié le projet pilote actuellement en cours qui encadre les pratiques de Uber face aux traditionnels taxis. Comme le géant américain, EVA permet de lier des conducteurs et des passagers à l'aide d'une application. Et la paralysie partielle des administrations fédérales américaines est entrée aujourd'hui dans sa 22e journée, ce qui bat le record établi sous la présidence de Bill Clinton en 1996. L'adoption du budget par le Congrès est toujours dans une impasse alors que les démocrates rejettent catégoriquement la demande de financement du président Donald Trump pour construire un mur à la frontière mexicaine. Quelques 800 000 employés fédéraux, dont plus de la moitié sont toujours au poste et ont été privés de leur premier chèque de paye hier.
Maximum moins 15 aujourd'hui à Québec. D'ailleurs, une auditrice qui m'a écrit pour dire... Tu viens exactement de décrire ma matinée, c'est-à-dire de mon lit, de l'horizontale dans mon lit à l'horizontale dans ma chaise longue plus café plus piscine. Oh, Linda nous a écrit de la République dominicaine. Oh. J'hésite entre merci puis va chez Dion. Alors salutations Linda, profite-en parce que chez nous il fait frais, c'est affreux. Donc moins 15 c'est le maximum aujourd'hui. Heureusement, il y a du soleil, mais c'est la seule bonne nouvelle. L'année prochaine, ciel dégagé aussi, minimum moins 20. Et c'est pareil pour demain et lundi. Donc, essentiellement du soleil, mais des températures très froides. Le mercure se promène là, autour de moins 13, moins 14. Il vente, donc moins 20, moins 25. Surtout le matin et la nuit, c'est encore plus froid. La journée la plus chaude de la semaine, c'est mercredi, puisqu'on atteint 10 cm de neige, max moins 5. Et présentement, c'est moins 19 avec le vent, moins 20. 29 à Québec.
Dans la Ligue nationale de hockey, aucun joueur du Canadien de Montréal ne va participer au match des Étoiles à San Jose le 26 janvier prochain. La Ligue a annoncé hier les derniers joueurs élus pour participer à la classique annuelle. Il s'agit entre autres de Gabriel Landeskog, Jeff Skinner, Leon Draisaitl et Christopher Le Temps. Rappelons que le gardien du Canadien, Carey Price, a déclaré forfait lundi en raison d'une inflammation au bas du corps. Et rappelons que le Canadien va jouer ce soir contre l'Avalanche du Colorado. Dans la NFL, c'est les demi-finales d'association. Les Colts d'Indianapolis seront dès 16h35 à Kansas City pour y affronter les Chiefs. Et dans un autre duel, les Cowboys de Dallas vont affronter les Rams de LA. Le botté d'envoi a lieu à 20h15. Et au baseball, le receveur québécois Russell Martin a été échangé des Blue Jays de Toronto aux Dodgers de Los Angeles. L'athlète de 35 ans avait commencé sa carrière dans les ligues majeures avec les Dodgers en 2006. En retour, les Jays ont obtenu deux joueurs des ligues mineures.
Que Québec se lève.
FM 93, ça me parle.
Avant de parler à ma prochaine invitée, deux, trois petites réactions que vous avez eues à nos dernières discussions. D'abord, au 25-2-6, on a dit, concernant la fermeture de la caisse pop du Vieux-Québec, dont on parlait tantôt, allez donc dans une vraie banque comme la Banque TD. Il y en a partout, même en Floride, partout aux États-Unis. Moi, Desjardins, plus jamais, nous dit un auditeur par texto. Un autre dit, la Caisse populaire Desjardins est née des petites et grandes paroisses du Québec. Malheureusement, la mémoire n'est plus. C'est Benoît. Ben, il y a ça. C'est vrai, tu sais, dans le fond, Desjardins est né dans les plus petites paroisses et dans les plus grandes, a aussi contribué au développement des régions. C'est,
absolument.
Mais, tu sais, sur le plan économique aussi, là, Desjardins, pour moi, est redevable à l'égard de ses membres, puis ça a des conséquences économiques importantes de fermer une caisse pop dans un village, par exemple. Là, on parle du Vieux-Québec dans l'Arctique. Donc, c'est pas pareil, là, mais je pense à certains villages où il y a une caisse pop qui ferme, puis là, ben, faut que tu ailles chez le village voisin.
Ouais.
Ça a des vraies conséquences économiques, là. Ensuite, il y a plusieurs auditeurs qui me proposent qui m'expliquent comment faire un dépôt de chèque sur Accéder. Il y a même notre directeur de l'information, Yvon, qui a dit, m'a t'elle montré, moi? Et pour l'histoire, ce matin, on avait un petit problème de mot de passe de Wi-Fi.
Oui.
Isabelle, t'arrivais pas à te connecter sur le Wi-Fi de la station, puisque t'es là comme juste pour la fin de semaine.
Ouais.
Puis on s'est dit, on appelle-tu Yvon, peut-être qu'il va voir ça. Je me confesse, ma réaction, ça a été, ben non, c'est sûr qu'Yvon, il saura pas ça. Tu sais, moi, je prétendais qu'Yvon, il était poche avec les technologies, puis finalement, écoute, il sait mieux que moi comment utiliser l'application d'accéder.
T'es bon, tu le dis au micro.
Ah oui, je suis honnête, je suis très pourri avec avec les technologies. Et Catherine, enfin, qui dit, vous venez de m'apprendre que Demain des hommes ne revenait pas, vraiment, vraiment déçu. Entre ça et Fait divers, franchement, ben, on est d'accord, Catherine. Puis même, c'est pas pour chialer sur Fait divers, là, mais entre les deux, je trouve qu'ils ont peut-être pas fait le bon choix. En tout cas, c'est mon avis, pas obligé d'être d'accord. La Fédération des établissements d'enseignement privé du Québec passe en mode offensive pour lutter contre le phénomène des sextos. Mm-hmm. Les fameux échanges de photos à caractère sexuel qui ont cours dans nos écoles secondaires. Comment compte-t-il battre c'est vraiment un fléau, là. Comment compte-t-il lutter contre ça et essayer d'éradiquer le phénomène? Mais c'est la question que je vais tout de suite poser à Nathalie Brousseau, qui est directrice générale de la Fédération des établissements d'enseignement privé du Québec. Madame Brousseau, bonjour.
Bonjour. Mon prénom, c'est Nancy. Mais c'est correct, j'ai failli m'appeler Nathalie.
Ah, c'est vrai. Bon, ben, écoute, je me suis pas si trompé que ça. Alors, Madame Nancy Brousseau, mille excuses, Madame Brousseau. Madame Brousseau, la question donc est simple, mais la réponse, elle, ne le sera pas. Comment comptez-vous tenter d'éradiquer les échanges de sextos dans les écoles?
Oh, c'est une grande question. Mmh. Et ouais. On était tous rassemblés à Drummondville cette semaine autour de cette question-là. Et on était entourés du Centre canadien de protection de l'enfance, qui sont de très bons conseils. Et on avait aussi avec nous la police de Saint-Jérôme et le DPCP de cette région qui ont trouvé une solution miracle, ou presque.
Ouais, c'est ça.
Alors, est-ce que vous voulez que je vous raconte ça?
S'il vous plaît, oui, parce que ça a l'air d'être la formule là, qui marche le mieux à date.
Oui. Ben, écoutez, c'est sûr que le Centre canadien de protection de l'enfance, eux, ils sont là pour travailler avec nous sur... ils nous informent de la situation, ils nous donnent des statistiques, par exemple, ils nous ont informé qu'un ado sur quatre est impliqué dans ce type de choses, donc faut pas se cacher la tête, faire l'autruche, là.
Mm-hmm.
C'est là partout. C'est un problème mondial et vraiment, depuis 2015, c'est en croissance. Tous les enfants ont accès à un appareil, à Internet. Et donc, la première chose à faire, bien sûr, c'est beaucoup de prévention. Hein? Il faut leur dire de ne pas partager de photos, de ne pas réclamer de photos non plus. Puis à ce moment-là, c'est sûr qu'on s'évite un paquet de problèmes.
Puis même si je sais qu'il y a un protocole aussi qui va être qui devrait être établi, là, c'est le cas de cette situation-là à Saint-Jérôme, mais vous avez tellement raison de mentionner la prévention. C'est pas si simple. Tu sais, des jeunes d'une école secondaire, là, ça fait des mauvais coups depuis la nuit des temps. Mm-hmm. Puis ça se le dit entre eux, puis tous les jeunes le savent, mais ils sont bons pour pas que les autorités en place le sachent, tu sais.
Mais vous savez, c'est aussi, là on dit que c'est des mauvais coups, mais en quelque part, c'est un nouveau schéma de séduction là entre nos adolescents. Ouais. Parce que le cas type, c'est des jeunes de 15-16 ans qui s'envoient des photos intimes entre eux, sans avoir aucune intention de diffusion plus large que ça, mais à un moment donné, ça dérape. Il y a rupture, les relations entre ces jeunes-là sont souvent pas si longues que ça, et c'est là où ils perdent le contrôle de leur image. Alors, c'est sûr que la première chose à faire, c'est de la prévention. Mais on n'est pas dupes. On sait que même si on fait de la prévention à l'école, à la maison, en société, il va quand même y avoir des cas de sextage. Et c'est là où est-ce que ça nous prend une solution. Parce que, savez-vous, la production, la possession, la distribution de photos de jeunes mineurs nus, ben ça tombe sous le code pénal de la pornographie juvénile qui, lui, a 30 ans, ce code criminel-là. Alors, on était pris à appliquer un code qui a 30 ans des jeunes qui sont dans une toute nouvelle réalité. Et c'est là que le projet Sexto vient changer toute la donne.
Je suis content de vous l'entendre dire parce que quand il s'est passé le cas très très médiatisé au séminaire des pères maristes, j'étais le premier à dire il y a quelque chose qu'on fait pas comme il faut, dans le sens où les autorités ont réagi de la manière qu'ils ont réagi, ça c'est tel que tel, mais personnellement moi je me disais c'est un problème de jeunes qu'on regarde avec nos yeux d'adultes, puis il va falloir adapter notre façon d'intervenir parce que on se doute pas à quel point c'est populaire ce phénomène là, puis tu peux pas nécessairement appliquer le code pénal à des jeunes, faut d'abord déterminer, écoute, c'est quoi l'intention? C'est-tu un jeune qui a fait ça sur un coup de tête sans penser aux conséquences, ou c'est quelqu'un qui était fondamentalement malveillant? Et c'est un peu ça, d'ailleurs, qui est à la base de cette formule d'intervention-là que vous allez tenter d'appliquer.
Tout à fait, puis votre réaction est fantastique, tu sais, parce que nous, notre rôle, c'est d'être des éducateurs. Donc, c'est un peu la même réaction qu'ont eu les policiers à Saint-Jérôme quand ils ont eu les premiers cas il y a quelques années. Et eux, ça fait 3 ans là qu'ils appliquent la méthode qu'on appelle Sexto. Alors, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est tout un protocole là d'intervention où l'école, les policiers, le DPCP travaillent de concert. Et effectivement, la première chose à se poser comme question, c'est est-ce que c'est un geste malveillant ou est-ce que c'est un geste qui est plutôt impulsif lié à un acte de jeunesse? Et savez-vous, depuis 3 ans, là, 9 cas sur 10 qu'ils traitent, ce sont des actes impulsifs. Ben alors, oui, la différence dans la méthode Sexto, c'est la suivante. Quand c'est un acte malveillant ou quand on utilise la méthode traditionnelle judiciaire pour traiter un cas comme ça, ça prenait entre 10 à 18 mois pour clore l'enquête. Et là, dans la méthode Sexto, ça prend, écoutez bien ça, 4 jours.
Mais ça veut dire que vous travaillez, par exemple, vous savez, des jeunes viennent vont voir, par exemple, un professeur, ou en tout cas, vous savez qu'il y a ces sextos-là. Vous envoyez ça, vous faites une capture d'écran, vous envoyez ça à la police. Comment ça fonctionne?
Oh, non. Non, ça, c'est des choses qu'on a apprises, évidemment. T'sais, on n'a pas à faire de capture d'écran parce qu'à ce moment-là, on fait nous-mêmes la production puis de la possession de matériel pornographique. Alors non, il faut pas faire ça du tout. Mais la chose qu'il faut travailler avec nos jeunes, c'est l'ouverture, c'est la bienveillance. On se rend compte, le Centre canadien nous a sensibilisés à ça. Les jeunes, là, ils font silence quand leur arrive. Ouais. Ils ont très honte. Puis là, ils veulent pas le dire à leurs parents, ils veulent pas le dire à l'école. Donc, il faut vraiment ouvrir un dialogue entre parents et enfants, entre intervenants scolaires et les enfants pour leur dire, écoutez, si ça vous arrive, là, parce que ça les dépasse, hein, quand ça arrive, là, c'est vraiment, ça va très, très rapidement avec l'Internet. Alors, ils viennent, là, dépasser par les événements, c'est pas long, parce que tout le monde se retrouve avec la photo, ça peut être très rapide. Et là, il faut vraiment qu'un adulte intervienne et rapidement, là, prenne le contrôle de la situation pour les rassurer et leur dire, écoutez, ça va bien se passer. Là. Puis dans quelques jours, en tout cas avec la méthode Sexto, en quelques jours, on va passer à d'autres choses.
Parce que ce que je semble comprendre, c'est que lorsque 9 fois sur 10, c'est des cas où le jeune a posé un geste impulsif, quand c'est le cas, il passe dans une espèce de, on va appeler ça une justice alternative, mais donc il rencontre un policier, s'engage à supprimer toutes les images de tous les appareils, et s'il récidive, là, il est formellement accusé de la manière plus traditionnelle. Mais la question que j'ai envie de vous poser, Mme Brousseau, c'est est-ce que vous faites une distinction entre les jeunes qui envoient des photos d'eux-mêmes, des jeunes qui envoient des photos d'autres jeunes qu'ils ont reçus et des jeunes qui sollicitent des photos nues d'une autre personne? C'est trois gestes différents, mais qui sont tous les trois des gestes graves.
Oui, et effectivement, on fait la différence. Dans les trois cas, c'est des gestes criminels. Hein? Même quand on s'auto-exploite, ça tombe sous production de matériel de pornographie juvénile, ensuite possession, ensuite distribution. Mais on considère les jeunes qui s'auto-exploitent comme des victimes, même si elles prennent des photos d'elles-mêmes et contreviennent au code criminel. Pour nous, ce sont des victimes et on les considère comme ça. Okay. C'est sûr que la personne qui sollicite des photos ou la personne qui distribue des photos, ben, elle va être considérée autrement. Là. Ouais. Donc, on va s'assurer que ces gestes-là sont bien compris et ne sont pas répétés.
Ouais. Et l'une des critiques de certains groupes à l'égard de votre protocole, là, qui m'apparaît quand même assez efficace, mais l'une des critiques, c'est qu'il n'y a rien dans le protocole qui prévaut pour des situations où des présumés agresseurs seraient en contact à l'école avec de présumées victimes. C'est d'ailleurs une des situations qui avait posé problème au séminaire des permaristes. Là. Les jeunes garçons avaient été isolés dans une aile en particulier. Là, il y avait la rentrée scolaire qui arrivait. On disait, les victimes vont revenir à l'école, les présumés agresseurs aussi vont se croiser. Comment faire pour éviter ça? Qu'est-ce que vous répondez à ces critiques-là?
Oui, ben ça c'est pas le rôle de la police de décider ça, ça va être le rôle du DPCP, alors ou le rôle de la justice, d'un juge qui va dire bon ces personnes-là ne doivent pas être en contact, etc. Mm-hmm. Puis c'est le rôle de l'école aussi. Ouais. Alors c'est sûr que nous là dans la loi on est contraint d'avoir un climat sain, d'avoir un climat exempt là de d'intimidation. Bon, enfin il faut que le climat d'apprentissage soit idéal pour nos jeunes. Alors c'est à l'école de définir qui peut être avec qui, si c'est pas un juge qui s'en mêle. Et comme les parents sont dans la boucle depuis le tout début dans la méthode Sexto et à travers le poste de police, ben, en quelque part, on peut s'entendre sur les modalités.
Mm-hmm. Mais en même temps, Mme Brousseau, vous conviendrez comme moi qu'une école secondaire, c'est grand, oui puis non, là, dans le sens où que deux jeunes se croisent pas, même si c'est la responsabilité des écoles, que deux jeunes se croisent pas si la cour l'a exigé, c'est à peu près impossible à appliquer pour eux, non?
Oh, vous avez raison. Ce que Saint-Jérôme vit depuis 3 ans, c'est que dans les cas où c'était pas malveillant, dans les cas où c'était impulsif, il y a pas de problème à la cohabitation par la suite. En tout cas, eux ne nous relatent pas de problème. C'est les cas où c'est vraiment malveillant. Et là, à ce moment-là, la justice s'en mêle. Et nous, on va collaborer avec la justice puis on va appliquer les règles. Ça, c'est certain. Là, s'il y a de la sextorsion, du leurre, là, nous, on c'est prend ça très, très au sérieux. Puis on a des codes de vie aussi. Hein? Puis on va appliquer nos codes de vie et ce que les juges nous diront d'appliquer. Ça, c'est certain.
Merci beaucoup, Mme Brousseau, d'avoir pris du temps pour nous ce matin. C'est très éclairant.
Ben, ça fait plaisir.
OK, merci. Bonne journée. Nancy Brousseau, directrice générale de la Fédération des établissements d'enseignement privé du Québec, qui tente donc une nouvelle méthode qui, honnêtement, moi, je suis optimiste, honnêtement, à l'égard de cette méthode-là. Il suffit que les autorités soient capables de bien déterminer si le geste, donc, est impulsif ou profondément malveillant. Mais je pense que le nerf de la guerre, il est vraiment là. Puis après, ben, qu'on applique des conséquences qui sont plus adaptées, c'est-à-dire un geste impulsif. On rencontre le jeune avec la police, là, ça, faut pas négliger que c'est intimidant, moi, t'as dit, sûr, pour un jeune de 15 ans, 14 ans, rencontrer le policier, qui l'oblige formellement à supprimer les photos et qui lui dit, si jamais tu renvoies une photo de toi nue ou que t'en sollicites ou que t'en reçois puis tu la transmets, c'est des accusations criminelles.
Ouais,
là.
Ouais.
Ça, pour moi, c'est plus adapté.
Et le délai est plus adapté aussi. Ah ben alors, quand tu sais qu'il y a un processus, puis ça ne va pas prendre 18 mois, mais ça ne prend que 4 jours, selon ce qu'on dit, ben déjà, c'est plus encourageant.
Absolument. On s'arrête 3 minutes, on revient.
Que Québec se lève.
De retour, après la pause.
Que Québec se lève. Présenté par les orthésistes du pied de Québec. Vos pieds vous font souffrir? C'est simple, rapide, efficace et sans frais. 375 rue Soumande ou piedquebec.com.
OFM 93, c'est la grand-messe du rock. Les meilleurs bands. Les meilleurs toons rock de tous les temps. Samedi et dimanche, dès 10h. Avec François Jacques. Yeah! Alias Jackie Pop. It's my life, it's now or never. C'est la grand-messe du rock au FM 93.
Maison Adam.
C'est la grande vente de liquidation des surplus d'inventaire chez Maison Adam. José vous offre le grand téléviseur Dell 65 pouces 4K HDR de LG à seulement 901$ avec 522$ de rabais et payé en juillet 2019. Pour faire le bon choix et être bien servi, passez voir José Adam et son équipe d'experts à la Maison Adam au 710 rue Bouvier.
Maison Adam. Bienvenue dans la technologie.
Durant la vente du million d'ameublement Tanguay, obtenez vous aussi plusieurs chances de devenir millionnaire. Plus vous achetez tôt, plus vous augmentez vos chances d'être l'un des 8 finalistes. Un seul achat suffit. De Amana, réfrigérateur inox à 999$ ou cuisinière inox à 699$. Duo laveuse-sécheuse de Samsung, 1499$ chacun. Livraison gratuite partout au Québec. Pendant la vente du million chez Ameublement Tanguay, tout devient possible.
Du 3 au 20 janvier chez Ashton, profitez du rabais météo. Plus il fait froid, plus il y a de rabais sur la poutine. N'oubliez pas, obtenez un rabais minimum garanti de 10% en tout temps. Allez-y, gâtez-vous. Chez Ashton, juste du frais, juste du vrai.
C'est le temps de se prendre en main avec les Studios Unis. En janvier seulement, profitez de 3 cours de karaté ou de boxe pour 19,95. De plus, le kimono ou les gants de boxe sont offerts gratuitement avec un abonnement de 3 mois. En janvier seulement, visitez studiouni.com.
Courez la chance de gagner la maison Fondation Maurice Tanguay Novo Climat ou 500 000 $ en argent. Il vous suffit simplement d'acheter votre billet au coût de 10 $ seulement chez Ameublement Tanguay, Normandin, Les Brunets Participants, chez La Tulipe ou sur maisontanguay.com. La maison Fondation Maurice Tanguay Novo Climat est présentée par Mercedes-Benz de Québec pour le bonheur des enfants handicapés. Une collaboration de TVA, Journal de Québec, J5 et Salut Bonjour Week-end.
Cineos Health est actuellement à la recherche de femmes ménopausées ou stériles âgées entre 45 et 75 ans pour une nouvelle étude clinique à Québec. Vous êtes non-fumeuse et ne prenez pas de médicaments? Participez et recevez jusqu'à 4125$. Inscrivez-vous à monétudecineossanté.com, monétudecineossanté.com ou appelez-nous au 1-866-262-7427. 1-866-262-7427. Contribuez avec nous à la médecine de demain.
Que Québec se lève.
Que Québec se lève.
FM 93.
FM 93.
Ça me parle. La chronique sport.
Les sports.
Avec Kevin Dupont.
Mon dernier match. Mon dernier tour de glace. C'est maintenant la fin. J'accroche mes patins.
Ouais, ben ça a été annoncé hier. Rick Nash, l'attaquant qui a passé de nombreuses saisons dans la Ligue nationale, a finalement décidé d'accrocher ses patins. Il a pris sa retraite, mais pas sa retraite du hockey parce qu'il était trop vieux, ni parce qu'il n'y avait plus de place dans une formation. C'est parce que il n'était pas revenu au jeu, il s'était pas rétabli d'une commotion cérébrale. Lui, ça faisait depuis le mois de mars dernier qu'il souffrait d'une commotion, puis on pensait qu'il allait revenir tranquillement, pas vite. Je me rappelle même au mois d'octobre, en 2018, il disait j'ai des chances, j'y crois vraiment de revenir, et finalement, il n'y avait aucune option qui était valable pour lui de revenir. Même l'équipe médicale des Browns, ils ont dit, garde, oublie ça, si tu reviens au jeu puis que tu as une autre commotion, ça peut être dangereux. Je trouve ça quand même...
C'est peut-être, honnêtement,
dommage.
Je veux pas comparer une fin de carrière à cause de la commotion d'un bon joueur versus d'un joueur moins bon, parce que c'est tout le temps une tragédie pour moi, là, le fait d'avoir tellement mangé de coups à la tête que tu peux plus pratiquer ton métier pour moi, c'est inacceptable. Mais comme on se dit tout le temps qu'il faut à un moment donné que la Ligue réagisse puis que les gens soient sensibilisés à ça, je me dis, la fois que c'est un joueur vedette, parce que Rick Nash, il y a eu des hauts et des bas, mais c'est un joueur vedette.
Ouais. Faut dire qu'à la fin, c'est ça, il y avait des bas, si
oui,
on veut, dans
ça,
sa
mais,
saison.
Mais il reste que c'est un joueur étoile. Là. Mm-hmm. Je veux dire, c'était dans les meilleurs joueurs de son équipe à chaque année. Puis qu'un joueur de sa trempe dise, j'aurais voulu continuer, mais j'ai trop mangé de commotion. Ça a comme plus de rayonnement un peu, là.
Surtout.
Alors je me dis, ben, c'est très triste, mais si ça peut allumer les lumières de certains dirigeants, ce serait le fun.
Surtout hein. À 34 ans, tu sais, c'est quand même un gars qui,
ben oui.
Au moins, il restait 4-5 ans à faire dans la Ligue nationale d'hockey, puis c'est pas le seul, là. Je pense, honnêtement, le meilleur exemple, c'est Marc Savard des Bruins de Boston.
Ah oui,
ce gars-là avait été sonné, je pense, à 6 ou 7 reprises. En 2011, il avait été frappé par Matt Cook, un attaquant des Penguins de Pittsburgh.
Une des pires pestes de la Ligue nationale, un joueur qui était un danger public.
Un coup salaud, Marc Savard est resté étendu sur la patinoire et depuis 2011, n'a jamais remis les patins. C'est-à-dire qu'il y avait un contrat jusqu'à l'an passé, il lui restait encore 7 ans d'année contractuelle.
Hey, as-tu regardé ses statistiques?
Oui, il a quasiment 700 points en 800 matchs. C'est un gars qui aurait pu peut-être s'approcher dans les meilleurs joueurs dans la Ligue nationale.
Absolument.
Et lui est obligé de prendre sa retraite non officielle du hockey à 33 ans. Donc, c'est pas la première fois que ça arrive, ce genre de geste-là. Puis, je le répète, mais ce genre de geste-là devrait être puni, oui, par une suspension, mais tant que le joueur blessé ne revient pas au jeu,
ouais.
Celui qui a fait la mise en échec ne revient pas au jeu non plus.
Ça, honnêtement, c'est pas la première fois qu'on l'entend, cette solution-là. Là. Mais je trouve qu'avec les reprises vidéo, les arbitres puis les préfets de discipline et compagnie, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment capables de savoir si le geste est intentionnel ou non. Là, t'sais. Ils décernent des suspensions comme ça. Puis ces suspensions, je trouve qu'elles n'ont jamais été suffisamment sévères. S'il faut que la suspension se soit aussi longtemps que le joueur n'est pas revenu, là, pas sûr que je serais contre ça, moi.
Mais moi, vous connaissez mieux le hockey que moi, là, les gars, c'est sûr, mais je reviendrai même encore un peu en arrière, mais là, vous allez me dire, c'est pour le spectacle, peut-être, mais il faudrait encore repenser le hockey, du bon hockey, là, sans qu'on arrive dans la bande puis qu'on se plaque un et l'autre.
Parce que oui, déjà,
les mises en échec,
je veux dire, les bagarres ont déjà été diminuées
oui,
par rapport
déjà.
À ça.
Fait que, est-ce qu'il y aurait encore du chemin à faire? Je pense que oui, puis je pense pas que ça altérerait notre bonheur de regarder un match d'hockey. En tout cas, peut-être que vous êtes pas d'accord avec moi, je sais pas,
non.
Moi, je trouve que si on enlevait encore plus de bagarre, c'est ça, mise en échec. Tu sens le gars, là, le patinant, il est dans le coin de la patinoire, l'autre, là, il prend de la vitesse, pas mal.
Mise en échec, je pense pas que tu peux l'enlever. Tu peux enlever les mises en échec de ce sport-là. Le problème, il est derrière le fait que il y a encore des joueurs qui sont des agresseurs. Je pense à Tom Wilson des Capitals de Washington.
Ouais.
C'est un danger public, le
gars.
C'est
un récidiviste.
Mais non seulement c'est un danger public qui accumule les suspensions, mais en plus, il y a du talent. Ça fait qu'il est capable de marquer des buts une fois de temps en temps.
C'est pas 5 ou 6 000 $ enlevés aux joueurs par la Ligue.
Non. Les amendes sont pas suffisantes. Mais ce que je veux dire, c'est que le gars, c'est un dangereux. Mais il joue quand même sa première ou sa deuxième ligne des Capitals de Washington parce que il est apprécié par le coach. Puis les autres équipes, ils le regardent puis ils se disent tous, on voudrait l'avoir dans notre équipe. Il est là le problème.
Ouais.
C'est que ces joueurs-là...
On valorise ça encore. Là.
C'est ça. C'est pas des infréquentables. Il faut que ces joueurs-là deviennent des infréquentables. Hmm. Il faut qu'ils mettent leur équipe dans le trouble quand ils sont suspendus. Tu comprends?
Ouais.
Alors, quand la suspension, ou bien qu'ils se mettent eux autres suffisamment dans le trouble, écoute, Tom Wilson avait copé d'une suspension de 20 matchs, chose comme ça. C'est beaucoup 20 matchs.
Ben
J'étais content
de
cet exemplaire. Ben, il y a un arbitre qui a décidé finalement à une dizaine de matchs que, on va y en avoir encore 2-3, mais il se rendra pas à 20. 20, c'est trop. Ben, voyons!
Mais surtout, mais en tout cas, dans tous les cas, c'est dommage pour Rick Nash. Malheureusement, je lui souhaite une bonne retraite. Surtout à 34 ans, il lui reste beaucoup d'années. Surtout,
il
profite du temps et de la santé.
De la santé,
pas trop de séquelles, parce que c'est ça. Laisse des traces. Parlant de laisser des traces, nous autres, on fait juste paver le chemin pour notre collègue Jackie Pop depuis 7h ce matin. Nous, on fait juste paver le chemin pour Jackie Pop et la grande messe du rock qui commence dans 3-4 minutes maximum, il s'en vient avec le meilleur rock en ville. C'est jusqu'à 6h ce soir. Et nous, on est de retour. Isabelle Lacasse, Kevin Dupont et moi-même, Paul-Raphaël Charron, avec vous demain dès 7h. Bye-bye!
C'est pas parce que c'est le week-end qu'on ne veut pas être informé. Les meilleurs moments de Que Québec se lève sont disponibles maintenant sur fm93.com. La grand-messe du rock suit à l'instant.
Que Québec se lève, présenté par les orthésistes du pied de Québec. Vos pieds vous font souffrir?